Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message « La restauration de l'arbre épouse » prêché le 22 avril 1962 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Merci frère Harmon, que Dieu te bénisse. Bonjour mes amis, c'est un privilège d'être de retour au tabernacle pour adorer en ce beau matin de Pâques la glorieuse résurrection de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais dire que j'ai été vraiment, de tous les messages que j'ai entendus notre pasteur prêcher, le meilleur c'était ce matin. Je suis rentré à la maison et je l'ai dit à ma femme, j'ai dit « Chérie, ce matin, tu as raté quelque chose en ne te levant pas tôt. C'est le meilleur que j'ai entendu sur la résurrection de toute ma vie. Je n'ai jamais rien entendu de meilleur sur la résurrection que ce que notre pasteur nous a donné ce matin. Quel message saisissant et tout allait droit au but. Cela montre ce qui arrive quand l'onction saisit un homme. Vous voyez, cela fait alors quelque chose. Alors nous sommes heureux que Dieu nous ait donné ce merveilleux pasteur. Maintenant, je veux vous remercier tous, sans exception. Nous sommes ici depuis un certain temps maintenant, en faisant des allées et venues à différentes occasions. Mais maintenant, je vais partir sur le champ de mission, comme vous le savez. Cette semaine, je vais partir chez les Indiens Cris en Colombie-Britannique. Et puis de là, à Fort-Saint-Jean. Et puis, cet été, si le Seigneur le veut, pour être sur la côte ouest, dans l'est, et là-bas sur la côte ouest, et jusqu'en Alaska, à Anchorage, en Alaska, et par là-bas. Et puis peut-être de là, je suis en train de tâter le terrain à propos de l'Afrique et du reste du monde pour l'hiver prochain. Alors il va probablement s'écouler un certain temps avant que je revienne ici au tabernacle. En tout cas, ce ne sera pas avant août ou dans le courant de l'automne que je pourrai revenir. Je veux vous remercier tous de votre bonne collaboration, de tout ce que vous avez fait, et nous regrettons de ne toujours pas avoir de place pour les gens ici en matinée. Nous avons maintenant un projet de construction, comme vous le savez, pour construire une plus grande église pour ces services. Et alors maintenant, cela va probablement se réaliser très prochainement. On va commencer les travaux d'agrandissement de l'Église. Maintenant, soyez. Aussi, je veux vous remercier tous, sans exception, pour les cadeaux, les cartes d'anniversaire, les cartes de Pâques, les cadeaux que vous avez donnés à Billy et à d'autres, et ceux pour moi, Frère Woods et beaucoup d'autres. Je les apprécie tous. Et chacun vient en disant, vous ne savez pas l'attention que cela produit. Quelqu'un qui vient en disant, maintenant nous voudrions voir Frère Branham, nous voudrions voir ton père, et ainsi de suite. Il répond, la feuille est pleine. Alors, vous ne savez pas comme ça peut être embarrassant, vu que vous ne pouvez en rencontrer qu'un certain nombre. C'est tout ce que vous pouvez faire. Je souhaiterais pouvoir passer un long moment avec chacun, qu'on puisse s'asseoir. J'espère le faire un jour. Mais ça ne pourra pas être sur cette terre parce qu'il y a des gens qui viennent ici du monde entier. Vous voyez, du monde entier. Cette semaine, il y a eu ici des gens de plusieurs nations qui ont eu un entretien et pour qui on a prié cette semaine. Des nations réparties dans le monde entier. Si c'était seulement notre petite assemblée locale ici à Jeffersonville, c'est avec plaisir que je pourrais prendre 2 ou 3 heures avec chacun. Je ferai un tri et mettrai les autres de côté. Mais voyez, pendant qu'il y a peut-être, disons, 5 appels, peut-être 2 appels provenant de notre agglomération, il en arrive 100 ou 200 du monde entier en même temps que ces deux-là. Donc, il y en a eu littéralement des milliers pour lesquels je n'ai rien pu faire du tout. Vous voyez, les amis, on reçoit des appels du monde entier pour venir ici, aller là-bas, et on nous fait parvenir des billets d'avion et tout le reste. Venez prier pour les malades, mais on ne peut pas le faire. Alors, les gens sont déçus. Je le serai aussi. Mais en ce matin de Pâques, j'aimerais faire une confession, dire que je ne sais que faire en ce sujet. Il y en a vraiment trop, vous savez, vers qui aller, des milliers et des milliers de personnes de toutes les parties du monde. J'ai effectué mon 7e voyage autour du monde, comme vous le savez, et je suis en contact personnellement avec plus de 10 millions de personnes de toutes les parties du monde. Alors, vous pouvez imaginer comment c'est la pression que cela produit. Et bien, des fois, il y a de petites pressions, et je sais que cela vous arrive aussi, et on ressent un sentiment d'impuissance. Mais pensez à ce que je ressens, au sentiment d'impuissance quand des mères malades disent au téléphone, « Oh Dieu, eh bien, attendez un instant, Frère Branham, Seigneur Jésus, je te prie de l'envoyer. » Et je viens de raccrocher le téléphone avec quelqu'un d'autre ici et ici, ici, du monde entier. Vous savez comment c'est? Ce n'est pas facile quand il y a quelqu'un à l'autre bout du fil qui a un bébé malade ou un mari malade ou une femme mourante qui prie pour que vous veniez. Maintenant, vous pouvez imaginer, pas étonnant que je sois un névrosé. Ça suffit pour le devenir. Mais voici ce que j'ai fait plutôt que d'avoir un complexe. J'ai essayé de rester calme en gardant les yeux fixés sur le calvaire et en allant de l'avant selon qu'il me pousse à le faire. Et beaucoup de mes erreurs, je prie que Dieu me pardonne pour les choses où peut-être j'aurais dû aller quelque part et je ne l'ai pas fait. Je suis humain et je suis sujet à l'erreur. Il y a une petite chose amusante qui a été dite ce matin ici dans la cour de derrière quand je sortais après le service du lever du soleil. J'ai un précieux ami ici, âgé, il est probablement ici quelque part, il vient de Chicago, il s'appelle Stewart, il a environ Ed Stewart, je pense qu'il a 75 ans ou davantage, et il est venu me retrouver là-dehors, il met ses dîmes de côté en pièces de 10 sous, et il m'a donné tout un paquet de pièces de 10 sous, à peu près grand comme ça, et oh, je ne sais pas, bien sûr, ce sera versé pour une œuvre missionnaire à l'étranger. Et son bon ami, le mien aussi, frère Skagg, Leonard Skagg de Lowell, dans l'Indiana, se trouvait là. Je ne le savais pas auparavant, c'est un franc-maçon. Il portait sur lui un bouton de franc-maçon et nous étions en train de parler de l'ordre des francs-maçons. Et alors, le vieux frère Stewart m'a dit, « Je vous aime bien, frère Branham, et j'aimerais vous parler. » Pardonnez-moi l'expression. Mais il a dit, « Vous êtes plus difficile à aborder qu'un harem turc. » Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, je suis bien content que le Seigneur ne soit pas aussi difficile à aborder. Eh bien, je ne fais pas exprès d'être ainsi. J'aime les gens, mais imaginez simplement. Je suis rentré chez moi et je racontais ça à ma femme. Nous étions assis à table et nous avons bien ri de la difficulté d'aborder un harem turc, vous savez. Alors, j'espère que ce n'est pas aussi difficile que ça, frère Stewart, si vous êtes encore ici. Mais pour être sûr, cette petite pointe d'humour nous a tous fait bien rire. Donc, je souhaiterais pouvoir voir chacun. J'aime chacun, c'est vrai. Qu'il soit ami ou ennemi, c'est pareil. Et maintenant, je vous demande vraiment de prier pour moi pour ces réunions à venir. Je vais parmi les Indiens. Vous savez, vous, quand vous êtes à Rome, vous devez être un Romain, et quand vous êtes avec des Indiens, vous devez vivre comme les Indiens. Mon ami missionnaire, qui est un de mes compagnons de chasse quand j'étais là-bas, sur la route d'Alaska, un très brave jeune homme et sa femme d'une bonne famille, les bras dévorés ici à l'intérieur et tout autour des oreilles et tout. Je me suis demandé ce qu'il avait. Avait-il de l'eczéma? Cela promenait des puces et des punaises dans les endroits où il devait, de la manière dont il devait vivre là-bas. Vous devez donc vivre là avec les gens pour les gagner à Christ. Ils sont l'héritage de Christ. Ce sont des gens pour lesquels il est mort et quelqu'un doit aller vers eux. Le chef a assisté à l'une de mes dernières réunions dans le Nord et le Saint-Esprit dans la réunion ou au campement sur le terrain, je crois que c'était au motel, l'a appelé par son nom, a dit qui il était, ce qu'il avait fait. Et oh là là, ça a réglé la question pour lui. Il savait que des humains ne pouvaient pas faire ça, que ça devait venir du Tout-Puissant. Alors ce chef a embrasé la côte là-bas d'un bout à l'autre avec ça. Nous allons remonter la côte dans un petit voilier et tenir les réunions de lieu en lieu à Portland et plus loin, vers les uns et les autres, vers le voir les Indiens cris qui ont été négligés. Beaucoup des frères qui tiennent de grandes réunions n'ont pas pu aller dans ces endroits. Maintenant, chez les Indiens, on ne recevra pas un sou. Comme vous le savez, je ne prélève jamais d'offrande dans mes réunions. Et je ne prends pas d'argent. Mais c'est l'Église ici qui parraine ces réunions chez les Indiens. Une partie de l'argent de vos dîmes et autres servira à payer, à apporter ce message de salut et de délivrance à ces pauvres Indiens illettrés. Après tout, ce sont eux les Américains, vous savez. Nous, nous sommes les étrangers, vous voyez. Nous sommes arrivés, les avons dépossédés. Et nous voulons... Je ne peux pas leur redonner leur pays, mais je peux leur donner l'espérance en Christ qui, un jour, nous réunira comme des frères dans un pays où on ne se bat pas et on ne prend pas les terres des autres. Ce sera un pays où il y aura de la place pour tous. Je serai reconnaissant quand ce temps viendra, si tous mes bien-aimés sont sauvés et prêts à ce moment-là. Maintenant, tout en parlant, je vois beaucoup d'amis assis ici. Je crois avoir repéré sœur, je ne me souviens pas de son nom. Autrefois, c'était Lee. Pas vrai? N'êtes-vous pas Madame Lee? Votre fille est ici. Les filles, celle qui a été guérie, c'est très bien. L'une d'elles se trouvait au foyer du Bon Berger, ou pas, comment s'appelle-t-il? La sœur d'une institution catholique, la Dame de la Paix, c'est ça. Je mélange tous ces noms catholiques. Et donc, là-bas, elle faisait une dépression nerveuse. Et notre cher Seigneur Jésus, pendant que nous étions assis, j'étais assis au pied du lit, et sa précieuse maman et son précieux papa se tenaient tout près, et le Seigneur Jésus a déclaré que c'était fait, que c'était fini. La voilà, c'est complètement fini. Et bien sûr, nous savons que la sœur est très reconnaissante ce matin, et en promenant les regards, je vois des gens qui récemment se mouraient du cancer. Ils se sont traînés jusqu'ici en fauteuil roulant, avec des béquilles. Et les voici normaux et en bonne santé ce matin. C'est comme ça dans le monde entier. Ce n'est pas moi, par moi, c'est par lui, notre Seigneur qui est ressuscité des morts, qui est vivant à jamais. Que notre Seigneur soit loué et béni à jamais. C'est ma sincère prière. Voulez-vous prier pour moi? Vous tous, priez pour moi. Bon, je compte là-dessus. Et quand j'arrive là-bas, voyez ici, c'est chez moi. Cela ne va pas trop mal par ici. Mais quand vous arrivez là-bas, vous êtes vraiment au front. Ici, c'est la formation. Hier, j'ai entendu quand notre église m'a acheté un nouveau break et je pourrais voyager. L'heure que j'ai est presque au bout, donc j'ai mis la radio et j'ai écouté les informations. Et alors, nous revenions hier soir de l'endroit où Joseph et moi étions allés prier. Nous revenions de Greensmill, alors j'ai mis la radio. C'était des nouvelles, et on racontait que ce moniteur suivait un jeune homme pendant sa formation, et on racontait qu'il était là, les poches remplies de sable et tout, qu'il devait bien baisser la tête parce que des mitrailleuses tiraient à balles réelles juste au-dessus de sa tête, pendant qu'il rampait sous des fils de barbelés et tout. Il suivait une formation draconienne. Eh bien, c'est ce que nous faisons ici. Mais au front, c'est très différent. Vous voyez, cette mitrailleuse est contrôlée par un temporisateur. Elle est programmée pour tirer à une certaine hauteur, mais au front, on peut la diriger plus haut et plus bas, vous voyez. Alors, c'est un peu différent là-bas, vous voyez ce que c'est. Alors, nous avons, eh bien, ici, c'est la formation, mais là-bas, vous êtes au front. Alors, maintenant, nous allons affronter l'ennemi. Alors, autrefois, on se battait, on chantait ici un petit chant, la lutte fait rage. Est-ce que quelqu'un se souvient encore de ce chant? La lutte fait rage aux soldats chrétiens, que chacun garde bien son rang. L'armure qui lui contre l'ennemi. Le bien et le mal sont en jeu. C'est vrai, vous voyez? La lutte fait rage, mais restez tranquille, courage et dans sa force, tenez bon. Si Dieu est pour nous, sa bannière sur nous, oui, nous chanterons la victoire. C'est vrai. Bon, j'avais beaucoup de choses à dire ce matin, mais j'ai écouté parce que certains sont debout et que c'est bondé. On a mis des petits haut-parleurs dehors. Il y a, je crois, une petite retransmission par radio pour que chaque voiture puisse... Le système de transmission nous permet d'aller jusqu'à un certain nombre de mètres du tabernacle. Donc, nous voulons apprécier la visite de tous ceux qui sont avec nous ce matin. Maintenant, avant d'aller plus loin, annonçons que, bon, immédiatement après ceci, je crois qu'il y a un service de baptême. Premièrement, il y a la ligne de prière. Nous allons prier pour les malades ce matin. Je crois que la venue de Dieu sur la scène est une preuve de ce dont nous parlons, de sa résurrection. Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il n'est pas vivant? Est-ce que ceci n'est que la fiction ou est-ce que c'est la vérité? S'il est vivant, il a fait une promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, lui, s'il vient parmi nous et prouve qu'il est ici, alors on n'a plus besoin de faire de suppositions, voyez? Souvenez-vous, toutes les religions du monde, elles ont leurs jours saints et leurs jours fériés et tout, mais aucune ne peut prouver que son fondateur, la mort l'a pris et voilà, c'est tout. Mais la nôtre, la religion chrétienne, notre fondateur est mort et est ressuscité. à Mexico récemment quand j'ai été interrogé par le journaliste à propos de la résurrection d'un bébé qui était mort ce matin-là à 9h et à 22h30 ce soir-là, 22h30 ou 23h, il avait été ressuscité des morts directement là, dans les bras de sa mère, sur l'estrade, devant des dizaines de milliers de gens. 30 000 personnes sont venues à Christ ce soir-là, voyez? Alors vous pouvez imaginer ce qu'il y avait là. Et ce petit enfant, j'ai eu une vision devant moi, et elle a dit qu'elle était son petit nom et tout, et la mère était là-bas, tout au fond, elle ne pouvait pas obtenir de carte de prière, elle ne pouvait pas entrer, mais elle n'a pas eu besoin de venir sur l'estrade et de passer par la ligne. Alors, quand elle l'a amené, le bébé, il pleuvait à verse. Nous pensons à nous qui sommes debout, pensez à eux. Ils étaient là à 9h du matin pour des services qui commençaient à 21h. Ce soir-là, il restait debout sous le soleil brûlant, s'appuyant les uns contre les autres pour se faire de l'ombre. Il était debout, pas assis, debout. C'est comme ça qu'ils font en Afrique et à différents endroits en Inde où se rassemblent un demi-million de personnes à la fois. Donc, cette petite femme ne pouvait même pas obtenir de carte de prière. Plus d'environ 300 huissiers tentaient de la retenir. Elle ne pouvait pas entrer dans la ligne de prière. Debout là, prier pour ce bébé. C'était une petite femme catholique. Et le Saint-Esprit a appelé et a dit, lui de l'amener ici. Et le bébé, sous une couette mouillée, là depuis le matin, le médecin l'avait déclaré mort. Maintenant, nous avons l'attestation à ce sujet du médecin qui l'avait déclaré mort ce matin-là à 9h. Et alors, c'était ce soir-là, il était presque minuit, et selon ce que la vision avait dit, je suis allé, j'ai imposé les mains au bébé, et le voilà vivant. Le médecin a témoigné. J'ai été interrogé par les journalistes, et alors, je n'ai rien contre la croyance de quelqu'un, pourvu que ce soit en accord avec la Bible, c'est bien. Mais l'homme qui m'interrogeait était catholique, et il m'a dit, « Croyez-vous que nos saints peuvent faire ça? » J'ai dit, « S'ils sont en vie, bien sûr, je sais que l'Église catholique croit qu'il faut être mort pour être un saint. » Donc, j'ai dit, « S'ils sont en vie, oui. » Il a dit, « Oh, on ne peut être un saint avant d'être mort. » J'ai dit, « Est-ce que Paul était un saint avant sa mort ou après sa mort? » À qui écrivait-il? À des morts, quand il a dit aux saints qui sont à Éphèse et aux saints qui sont à tel et tel endroit. Il n'écrirait pas à des morts, vous le savez bien. Et alors, il a dit, « Maintenant, vous essayez de juger votre corps au moyen d'une Bible. Nous sommes l'Église. » J'ai dit, « Bien, monsieur, d'accord. » Il a dit, « Nous sommes l'Église. » J'ai dit, « Alors, voyons l'Église faire ça. » Voyez, en fait, seul Christ peut faire ça, vous le savez. Il a dit, « Quelle est votre opinion au sujet de l'Église catholique? » J'ai dit, « J'aurais préféré que vous ne me posiez pas cette question, voyez. » Il a dit, « Eh bien, j'aimerais l'entendre. » J'ai dit, « La forme la plus élevée de spiritisme qui existe. » Il a dit, « Du spiritisme? » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Tout ce qui intercède avec les morts, la communion des saints, vous voyez? » Il a dit, « Eh bien, vous priez Christ, et il est mort. » J'ai dit, « Mais il est ressuscité, vous voyez? » Alors voilà, la bonne chose que nous savons, c'est qu'il est ressuscité. Nous ne sommes pas reconnaissants, inclinons la tête et remercions-le parce qu'il est effectivement ressuscité de la tombe pour notre justification. Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce matin pour Jésus et aujourd'hui en commémoration de sa glorieuse résurrection en ce matin de fête où il est ressuscité des morts et qu'il a triomphé de la mort, de l'enfer et de la tombe. Quand il était sur terre, il a montré qu'il avait triomphé de la maladie, des infirmités et de toutes sortes de démons et de puissances. Puis la mort s'est trouvée devant lui, le grand et le dernier ennemi. Et le matin de Pâques, il a prouvé qu'il était Dieu. Il est ressuscité même du dernier ennemi, qui n'a pas pu le retenir. La tombe l'a rendu. L'enfer a dû le renvoyer. Le ciel l'a accueilli. Ô Dieu, que nos cœurs l'accueillent aujourd'hui dans la puissance du Saint-Esprit, afin que nous soyons ces cadres, ces exemples, de ces serviteurs ici sur terre, alors que nous séjournons là. Accorde-le. Bénis tous ceux qui sont ici. Ô Dieu, ces précieuses personnes debout. Certains sont serrés ici depuis le lever du jour. Je te prie, Père Céleste, de déverser aujourd'hui sur eux l'infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons faire ou penser et exauce les désirs profonds de leur cœur. Ce que chacun est venu chercher ce matin, puisse-t-il repartir satisfait? Tu as dit que tu ne repousserais personne, mais que tu le remplirais de bonnes choses et le renverrais dans l'allégresse. Accorde-le, Seigneur, que ton omnipotence, que ton Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection, traite avec chacun de nous, jusqu'à ce que notre espérance ne soit bâtie que sur le sang de Jésus avec sa justice. Accorde-le, Père. Bénis les paroles que nous allons lire maintenant Nous te remercions du magnifique message de ce matin après être venu tôt à l'Église et de te voir prendre notre frère. Quel changement en lui, en quels instants, et de l'avoir apporté un message à cette génération de gens qui se meurent, dont nous faisons maintenant partie. Combien nous t'en remercions, Seigneur. Ô Dieu, nos cœurs frémissent de joie quand nous pensons à ces choses. Maintenant, garde-le sous l'onction, Seigneur, pendant tous les jours qui sont devant lui, Seigneur. Et bénis cette petite Église. Et aide-moi, Seigneur, alors que je vais apporter le message à d'autres personnes. Et puissions-nous ensemble, comme une seule personne, une seule famille, nous serrer les coudes et prier ensemble et vivre ensemble dans la sainte unité du Saint-Esprit jusqu'à ce que Jésus nous accueille dans le royaume. Car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Bien sûr, frère, en témoignage de notre appréciation et grâce au travail d'un jeune homme parmi nous, nous te présentons ce tableau, frère Branham, pour exprimer tout notre amour et notre appréciation. Merci, frère Neville et le tabernacle. Le jeune homme, c'est Jerry Steffi, c'est lui qui a peint ce tableau. C'est frère Jerry Steffi qui a peint ce tableau. Que Dieu bénisse ce garçon. C'est très bien, Jerry, si tu es ici ce matin. Quel dommage, j'aurais aimé avoir les moyens de payer l'école des beaux-arts à ce garçon. Je crois que Dieu est dans les arts, pas vous? Dieu est dans la musique, Dieu est dans les arts, Dieu est dans ceci. Et quel dommage de voir un talent comme ça qui ne soit pas développé. Puis il fera cela, puis il se développera. Et je prie que Dieu te bénisse, Jerry. Et merci, frère Neville, et merci à cette Église pour ce beau tableau et pour le poème qui l'accompagne. Je le lirai un peu plus tard. Frère Neville dit, tu veux que je le lise? Bon, très bien, frère Neville va lire le poème. Très bien, j'avais une petite idée à ce sujet. Ce n'est pas un homme de haute stature, ni aux manières hautaines. Il n'est pas du genre à claironner, alors qu'il chemine de jour en jour. Il ne désire ni richesse, ni gloire, mais personne ne peut prendre sa place. Il est exactement comme nous le voulons, notre cher frère Bill à nous. Il nous enseigne avec fidélité la parole non diluée. Pas de chichi, il n'aime pas les éloges, il suit seulement le Seigneur. Sa façon de parler est douce et tranquille, il n'élève pas la voix, sauf pour crier contre le mal. Et alors, il n'a pas le choix. Ce n'est pas à l'école ni à l'université qu'il a reçu son instruction, mais il sait ce qui est important et il n'est certes pas dupe. Car la connaissance qu'il reçoit est éternel et vient d'en haut. Il n'a pas d'autre credo que notre Christ, pas d'autre loi que l'amour souverain. Aucune grande annonce n'a été faite à sa naissance modeste et humble, mais pour nous, c'est le plus grand homme vivant sur la terre. Pour nous, l'avoir pour ami est plus qu'un privilège. Nous chérissons tout ce qu'il défend et le ferons jusqu'à la fin. Il dit qu'il n'est pas prédicateur, il est modeste comme nul autre, mais mettez-le à la chair et vous verrez tout de suite. Il a été préordonné comme prophète, les hommes peuvent l'appeler comme ils le veulent. Dieu nous a accordé une grande faveur en nous donnant frère Bill. Signé le petit troupeau. Merci frère Neville. Merci de vos pensées. Qui a composé ça? Je crois que c'est sa maman. Je ne suis pas digne de ces choses qu'on dise ça, mais cela vaut plus pour moi que tout l'argent du monde, vous voyez? Pensez un peu que quelqu'un vous considère comme son serviteur, vous voyez, comme le serviteur de Dieu. Ma prière, c'est que je puisse rester toujours fidèle à cela, que Dieu vous bénisse à jamais. Vous serez toujours dans mes pensées. Et moi aussi, je vous aime tout particulièrement. Bon, nous avons tellement de choses qu'on pourrait prendre toute une journée pour ça, sans jamais aborder la parole. Vous voyez, tellement de bonnes choses. J'ai reçu une vision du Seigneur dont j'allais parler, et il y a quelqu'un qui avait eu un songe, qui, d'après moi, était vraiment remarquable de la venue du Seigneur. Et je, la petite Rebecca, ma fille, là, au fond, je, même si je suis un petit peu moqué d'elle, il y a quelques instants, elle est sortie avec un de ses grands chapeaux sur la tête. J'ai dit, voyons, ma chérie, ça ressemble à un nid d'oiseau. J'ai dit, bien, plein de petits bouts de bois et autres, comme cela. J'ai dit, va l'enlever. Alors, elle a pris sa revanche sur moi. Quelques minutes plus tard, elle est revenue. Vous savez, comme elle a pris sa revanche, c'est qu'après être retournée, elle est entrée en tenant un énorme sac à main. J'ai dit, d'où vient cette chose-là? Elle a dit, papa, elle a dit, j'ai de grands pieds, alors je pense que je vais prendre un gros sac pour que ce soit assorti. Alors, oh, c'est... Elle a dit qu'elle avait rêvé deux fois qu'elle et moi étions en voiture et que je lui parlais de la proche apparition du Seigneur, le même songe, une seconde fois. J'attends la troisième fois, peut-être que le Seigneur m'en donnera alors la signification. Bon, il y aurait tellement de choses à dire, mais maintenant, allons directement à la parole. Tout le monde se sent bien, j'espère. Et si ce n'est pas le cas, je prie que Dieu vous fasse vous sentir bien avant que ce service soit terminé. Qu'il n'y a pas une seule personne faible parmi nous ce matin quand ce service sera terminé. Maintenant, nous devons nous souvenir que Christ est mort pour les impies, et c'était nous. Vous voyez? C'est nous. Et il est mort pour nous afin de pouvoir nous sauver. Maintenant, pouvez-vous entendre partout correctement, là-bas ou tout au fond? Pouvez-vous entendre correctement au fond? Est-ce que le son arrive au fond? D'accord. Très bien. Maintenant, je veux lire quelque chose dans sa parole. Premièrement, prenons maintenant le livre de Joël. Et je vais lire le verset 1, du verset 1 au verset 4. Et puis le 2 jusqu'au le chapitre 2 et le verset 25 et Genèse 27. Bon, j'apprécie vraiment. Maintenant, si vous devenez fatigué et que vous voulez sortir, allez-y, voyez. Mais ceci sera mon dernier message à l'Église, pour cette partie de l'Église, pour un certain temps. Et nous comptons avoir un service de guérison ce matin, et je veux que ce message, si Dieu le bénit, descende profondément dans nos cœurs, ainsi nous en recevrons la signification. Maintenant, nous sommes ici pour exprimer, pour dire les choses que nous croyons, et prouver par l'Écriture que c'est ce que l'Écriture dit, et alors que Dieu, à son tour, prouve que c'est vrai, le fasse devenir une réalité. C'est comme n'importe quel. Vous dites, ceci, c'est une graine de tournesol. Plantez-la pour voir ce que c'est. Alors, si c'est un tournesol qui pousse, ça règle la question. C'est un tournesol, voyez? C'est tout. Bon. Et si certains veulent changer de siège de temps en temps, quelqu'un peut s'asseoir, les autres se lever et attendre un petit moment, et je serai aussi bref que possible. Maintenant, souvenez-vous, priez pour moi, et soyez vraiment fidèles à l'Église. Restez ici même à l'église avec Frère Neville et vous qui nous rendez visite, eh bien, alors revenez sans autre. Et maintenant, je vais participer à ces réunions et je vais y participer sans appel précis, mais je ne peux tout simplement pas traîner par ici. Le monde se meurt, vous voyez. Et Paul a fait une fois cette expérience, il se rendait dans un autre pays quand il a reçu un appel macédonien sur la route. Maintenant, Dieu peut donner un appel macédonien à n'importe quel moment. J'annule tout quand Dieu donne un appel. Et je fais du mieux que je peux en allant dans ce coin-ci, semant des semences. Et par ici, je sème quelques semences. Et par ici, je sème quelques semences. Je sais que les oiseaux du ciel en mangent une grande partie et que certaines sont étouffées, et ainsi de suite. Mais il se peut aussi que quelques-unes lèvent, vous savez, dans un bon terrain. Alors, semons la semence, c'est le principal. C'est une lecture très étrange pour un message de Pâques. Joël, chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel. Écoute ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Maintenant, le verset 25 du chapitre 2. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans Genèse 20, la Genèse, le chapitre 20 de la Genèse et le verset 7, je veux lire ceci pour faire suite à comme contexte du sujet que je vais prendre. Je vais commencer au verset 6 pour avoir le fondement de ceci. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Maintenant, je tire de ce sujet ou de cette lecture biblique un sujet dont la conclusion s'intitule « Restaurer ». Maintenant, après la prédication de Frère Neville de ce matin, ce message remarquable, la dernière chose qu'il a dite en rapport avec ses dernières pensées, c'était « être restauré ». Et alors, cela m'a donné l'idée précisément de restaurer. Alors, je me suis précipité à la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout, et des commentaires bibliques, et je me suis mis à recopier certaines choses. Et puis, j'ai pris le dictionnaire Webster pour trouver la bonne définition de restaurer. Restaurer signifie rendre au premier propriétaire ou remettre dans son état premier ou condition première. Et on peut imposer la restauration de ce à quoi on a droit. C'est donc la signification que Webster donne au mot « restaurer ». Restituer au premier propriétaire ou remettre dans son état premier ou condition première. Et si on fait valoir des droits sur quelque chose pour qu'il y ait restauration, on peut l'imposer pour le faire revenir à sa juste place. Que Dieu bénisse maintenant ces faibles mots. Restaurer signifie ramener ou bien encore restaurer indique que des mesures exécutoires peuvent être prises pour qu'une chose soit ramenée à son propriétaire légitime, à la place qui lui revient. C'est pourquoi, d'une certaine manière, cette chose qui a quitté son propriétaire légitime peut aller se balader un peu n'importe où. Mais restaurer, c'est la ramener à son réel propriétaire ou la ramener au lieu normal où elle se trouvait la première fois. La ramener à son état normal pour se faire, s'il y a une loi, nous avons le droit de prendre des mesures exécutoires pour imposer cette restauration légitime afin de restaurer la chose. C'est comme si quelqu'un a volé un bien et qu'il retient ce bien captif. Alors, vous pouvez prendre la loi et aller vers cette personne. Et la loi imposera à cette personne de rendre ce bien à son propriétaire habituel, dans son état initial reconnu. Les mesures exécutoires. Oh, quel sujet! Comme j'aimerais avoir 2 jours là-dessus. Faire valoir. Donc, Frère Neville, nous a prêché. Moi, je vais simplement vous parler, vous enseigner une leçon d'école du dimanche, afin que ce soit une continuation, j'espère, de ce qu'il a dit. faire valoir. Alors nous avons le privilège de faire valoir auprès de Satan les droits que Dieu nous a donnés. Car Dieu a une loi. Et sa parole est une loi. Et Dieu, dans cette parole, a accordé certains droits à l'Église. Par conséquent, nous avons le droit de forcer Satan à reconnaître ses droits, de dire, « Rends-le-moi! » Et il doit le faire. En effet, nous pouvons prendre l'agent de Dieu, le Saint-Esprit, nous mettre directement à genoux et dire, « C'est ainsi dit le Seigneur! » Il doit lâcher ça, un point c'est tout. Parce que le Saint-Esprit est là pour l'obliger à le faire. La loi du pays est là pour faire appliquer cela. C'est du pays pour le pays. Mais la loi de l'Esprit de Dieu est là pour forcer Satan à céder ce qu'il a pris à Dieu illégalement et par tromperie. Les âmes qu'il a prises à Dieu. Les âmes des femmes, des enfants, les maladies du corps qu'il a placées sur les gens, alors que Dieu les a créés à son image pour être comme lui. Et l'Église a reçu les droits légitimes, légaux, par la Bible, de prendre le Saint-Esprit et d'imposer ceci à leur sujet. Je crois que je l'ai mentionné ici lors de la dernière réunion, je n'en suis pas certain. Mais un frère de Géorgie est venu à Louisville, et il a parqué sa voiture là-bas, et quelqu'un l'a volé. Et il avait là ses vêtements, les vêtements de sa femme, les vêtements de ses enfants. C'était frère Evans qui est ici. Ils sont généralement ici. Ils parcourent 1500 milles en voiture chaque jour quand nous avons un service ici. Ils viennent ici pour assister au service. Et le pauvre homme était ici sans rien, et à plus de 700 milles de chez lui, et il ne savait pas que faire. Il a annoncé à la police, mais il y avait un grand trafic à Louisville. Il volait des voitures, il les repeignait. Et là-bas, on n'a pas besoin d'avoir de titre de propriété pour la revendre. On peut vous faire un titre de propriété en quelques minutes pour le numéro que vous voulez lui donner. Il passait donc par des moments difficiles. Alors nous nous sommes mis à genoux. Voyez? Eh bien, Jésus n'aurait pas eu besoin de faire ça, car il était la parole. Mais nous ne sommes pas la parole. La parole du Seigneur est venue aux prophètes. Il n'était pas la parole, mais la parole est venue à eux. Par contre, Jésus était la parole. Voyez? Il n'avait pas besoin de prier. Il était lui-même Dieu. Voyez? Mais nous sommes ses prophètes, ses serviteurs, à qui vient la parole du Seigneur. Puis le prophète est confirmé par si c'est la parole du Seigneur ou pas, par l'accomplissement de ce qu'il dit. Et alors, nous avions ici un passage de l'Écriture où Jésus dit, « Là où deux ou davantage sont rassemblés en mon nom, et s'ils s'accordent, je serai au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent pour demander quoi que ce soit, s'ils ne doutent pas, ils auront ce qu'ils ont demandé. Cela leur sera donné. » Donc, il y a la loi. Maintenant, celui qui est ici pour faire appliquer cette loi, c'est le Saint-Esprit. Qu'en est-il des gens qui ne croient pas au Saint-Esprit, qui le rejettent? Voyez, vous rejetez votre propre paix et votre miséricorde, voyez? Donc, nous sommes mis à genoux, encore environ 5 hommes, avec Fred Sotman et beaucoup d'autres qui étaient là, 4 ou 5 hommes. Nous nous sommes agenouillés et j'ai plaidé cette cause devant Dieu. Ensuite, j'ai pris la parole ou la promesse et je l'ai envoyée au loin. Le glorieux Saint-Esprit, alors qu'il prenait la parole pour aller apporter la sommation, une vision est apparue et j'ai vu un homme qui se dirigeait vers Bowling Green, au Kentucky. Il portait une chemise jaune et il conduisait son camion. Le Saint-Esprit est venu sur lui, l'a repris dans sa conscience et il a fait demi-tour, à peu près mi-chemin. Je l'ai vu revenir et parquer cette voiture dans une certaine rue ici, de l'autre côté de la rivière. Je me suis levé et j'ai dit au frère, « Ainsi dit le Seigneur. » Alors, ils sont partis Ils sont allés sur cette route et la voiture était là avec la moitié de l'essence, le réservoir d'essence à moitié vide, alors qu'il avait été rempli juste assez pour l'amener à mi-chemin vers Bowling Green et le ramener. Ceci dit, ces hommes sont assis ici ce matin comme témoins. Qu'est-ce que c'est? Faire valoir. Rends-la. Voyez? C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Restitue-la. Ramène-la à son propriétaire légitime. Et si Satan vous a dérobé le privilège d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons le droit, ce matin, par le Saint-Esprit, de faire valoir le droit de Dieu. Ramène-les. S'il vous a affligé et rendu malade, nous avons le droit devant Dieu de faire appliquer les lois de Dieu. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Ramène-le. Lâche-le. Tu l'amènes là-bas pour le faire mourir et nous le réclamons. Ramène-le maintenant. C'est ça, les mesures exécutoires. Rétablir de nouveau cela dans son état normal. Un homme qui est malade, un bébé qui est malade, une femme qui est malade. Vous voyez, ils ne sont pas dans leur état normal. Alors nous avons le droit de faire valoir notre droit. Pas notre droit, c'est notre droit parce que Dieu nous l'a donné. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il était blessé pour notre péché. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Maintenant, nous avons le droit de le faire appliquer cette loi. Et le législateur, le Saint-Esprit lui-même, est ici l'agent de Dieu pour veiller à ce que cela se fasse bien comme ça. Amen. Maintenant, la seule manière pour lui de pouvoir travailler, c'est quand vous le laissez travailler, voyez. Vous devez croire cela. Il y a une loi. Oh, si jamais je peux arriver à mon sujet. Il y a une loi. Il y a une loi qui a été donnée pour tout. Vous savez, un poisson a une loi. Et ce poisson peut se tenir à la surface de l'eau. Il a une loi en lui. S'il lâche prise par rapport à cette loi qui est en lui, il peut descendre jusqu'au fond de la mer. Cela ne va pas l'affecter du tout. Cela ne va pas briser une seule cellule. Vous essayez de le faire. Cette loi n'est pas en vous. Vous ne pouvez pas le faire. Mais le poisson le peut. Il se vide de son air, si bien qu'il ne peut pas, que rien en lui ne peut éclater. Il est fait comme ça. Il le sait. Et il peut faire appliquer cette loi pour qu'elle l'emmène jusqu'au fond de la mer et ensuite qu'elle le fasse remonter. Oh! Il y avait une loi en Christ. Cette loi est dans l'homme. On peut l'enterrer dans la tombe la plus profonde ou la mer la plus profonde ou l'enfer le plus bas. Il y a une loi de l'Esprit de Dieu qui le ressuscitera. Voyez? Un oiseau a une loi. Bon, son corps est matériel, il est rattaché à la terre, il est posé ici sur la terre. Mais il a une loi en lui qui dit qu'en étendant ses ailes, d'une certaine manière, il peut s'envoler loin des regards. C'est contraire à la science. Ils prétendent qu'il est attaché à la terre, que la pesanteur doit le retenir là, mais il peut défier la pesanteur, la quitter en s'élevant et partir. Ce qu'il faut, c'est qu'il active cette loi qui est en lui, et il est construit pour posséder cette loi. Maintenant, je commence à me sentir religieux. Bon, nous avons une loi, la loi de la vie en nous. Tout ce que vous avez à faire, vous êtes fait, né et placé ici dans le corps de Christ en tant que fils et fille de Dieu. Vous n'avez pas à plier les chines devant le diable. Nous avons une loi. C'est la loi du Saint-Esprit. La seule chose que vous avez à faire, c'est de savoir comment lâcher prise pour que Dieu ait l'emprise. Si vous continuez à lutter là contre, voyez, ça ne marchera jamais. Par contre, lâcher prise et que Dieu ait l'emprise, voilà tout, voyez. Si le poisson disait, attendez, je vais bien prendre mon souffle, je vais respirer un petit peu d'oxygène et je vais voir si je peux descendre. Non, s'il fait ça, il va éclater, voyez. Si l'oiseau dit, je vais voir à quelle vitesse je peux courir ici en bas, peut-être que je vais décoller. Non, il ne va pas le faire, il va tomber, voyez. Il faut qu'il sache contrôler comment cette loi peut le contrôler. Et c'est comme ça avec nous. Ce n'est pas parce que nous battons, que nous tirons et que nous nous dépêchons et, oh, il faut que j'obtienne ceci, il faut que j'obtienne cela. Ce n'est pas ça. C'est de savoir que la loi de la vie est en nous. Et vous lâchez simplement prise pour que Dieu ait l'emprise. Alors, vous amène vers votre guérison, vous amène vers le baptême de l'Esprit ou quoi que ce soit qu'il ait promis. Tous les droits qu'il vous a donnés sont à vous et il s'agit de lâcher prise pour que Dieu ait l'emprise. Maintenant, si le policier s'apprête à amener l'individu qui a volé votre bien, qu'il s'apprête à l'amener au tribunal et que vous retenez toujours, eh bien, je ne sais pas vraiment s'il devrait faire ça ou pas. Il n'arrivera jamais à l'amener là-bas. Laissez-le donc partir. Faites comme ça. Laissez Satan partir. Que tous les doutes et tout s'enfuit de votre esprit. Alors, Dieu vous relèvera. Bon. Donc, c'est Pâques. Oh, j'aime Pâques. Oui, monsieur. Mais aujourd'hui, il y a trop de choses à Pâques. Il y a des lapins, les canards et les poussins roses et les jolis chapeaux et les nouvelles robes. Ça, ce n'est pas Pâques. Pâques, c'est la résurrection, la restauration, restaurer, rétablir. C'est le temps de restauration de Dieu. Regardez partout sur la terre. Dieu est en train de restaurer. Restaurer quoi? La nature. C'est vrai. Il restaure les fleurs. Il restaure les feuilles. Il restaure les fruits des champs. Qu'est-ce que c'est? Dieu est en train de restaurer. C'est Pâques. Cela veut dire ramener. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu un jugement, une revendication. Pâques revendique ou la fleur revendique son droit à se relever. Voyez? Et la loi de Dieu de la nature fait pression sur la terre pour que cette loi de Dieu dans la nature produise un Pâques, une résurrection. C'est magnifique. Le retour du soleil pour restaurer ce que l'hiver a tué pendant qu'il était éloigné de la terre. Dieu renvoie la terre autour du soleil, comme on nous l'a dit, depuis très loin ici derrière. La terre s'est éloignée du soleil, est allée ici derrière. C'est comme ça que fait un pécheur. Il s'éloigne du FILS. Eh bien, ceci, c'est le SOLEIL. Mais quand cette terre commence à revenir et quand elle est là-bas, la mort la frappe l'hiver, il tue toutes les choses vivantes qu'il peut par ici dedans. Et alors, quand la terre fait le tour et revient, les semences gisent dans le sol. Elles sont gelées, la pulpe en est sortie, tout est parti, mais il y a une petite vie qui a été préservée. Et dès que le soleil reprend sa position par rapport à la terre, alors il y a un Pâques, une restauration. Les fleurs apparaissent de nouveau, tout apparaît. Tout ce que l'hiver a tué, le soleil le restaure. Tout ce que la mort de l'hiver a tué, le soleil de la vie le restaure. Il en va ainsi maintenant pour les gens. Tout ce que le grand froid de l'hiver, la religion formaliste, avait tué là-bas, le Fils de Dieu, qui est en train de s'approcher de son Église en ces derniers jours, il le restaure et le ramène à la vie. « Je remplacerai », dit l'Éternel. Voyez, Dieu restaure ses fleurs, ses feuilles, sa nature, ses semences de la terre. Et alors, par conséquent, nous savons que Dieu va aussi restaurer son habitation. Il va restaurer son Éden. Il va restaurer tout ce que la mort a tué. C'est vrai. Maintenant, la seule façon pour que cela reste mort, c'est de le laisser au mauvais endroit. Mais si cela tombe au bon endroit, cela doit revenir à la vie. Alors, ô Dieu, laisse-nous tomber dans le bon canal, c'est vrai, pour une restauration. Tout ce que l'hiver tue, alors le soleil le restaure. Le retour du soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il contraint. Écoutez, il contraint la mort. Quand le soleil du printemps revient en ligne avec la terre, en fait, il contraint la mort à rendre ses morts par une résurrection. Pourquoi? Une restauration. Un restaurer de nouveau. Qu'est-ce qui fait ça? La venue du soleil. C'est la loi de Dieu. Dieu a placé la terre sous une loi. La loi de la gravitation. Tout ce qu'il y a dans la nature fonctionne d'après la loi de Dieu. Et la fleur a rempli son mandat. La semence a rempli son mandat. Et elle est morte dans la terre. Et ensuite, il y a une restauration. Et maintenant, elle gît là, morte. rien. Nous pourrions prendre une de sa lumière ici comme ceci et la diriger sur elle. Ça ne nous servirait à rien. Nous n'avons aucun moyen de le faire. Mais Dieu a une loi qui fait que lorsque ce soleil brille sur la semence, il contraint cette vie à sortir de la semence. La mort ne peut plus la retenir. Dieu a établi toutes ses lois pour qu'elles le servent, les naturelles et les spirituelles. Elles opèrent d'après sa parole, quelles que soient les conditions. J'aime ça. J'avais un passage de l'Écriture là-dessus. Oui, Dieu a mis toutes ses lois en mouvement. Pensez un peu. Maintenant, laissons cela pénétrer, parce que dans quelques minutes, nous allons arriver à un service de guérison. Voyez? Dieu a mis toutes ses lois en mouvement de manière qu'elles opèrent d'après sa parole à lui. Est-ce que vous saisissez? Voyez? Sa parole, ses lois doivent opérer d'après sa parole. Il a commandé au soleil, il a commandé à la lune, il a commandé à la terre, il a commandé à la nature. Et ils s'alignent tous et toutes les lois opèrent en harmonie avec la parole parlée de Dieu. Et la loi de la vie qui est en nous va aussi nous amener à une résurrection. Elle doit le faire. C'est impossible qu'elle ne le fasse pas. C'est pour ça la loi de la vie qui était en Christ, quand la parole a été prononcée et qu'elle a dit, « Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Je n'abandonnerai pas non plus son âme au séjour des morts. » Il n'y avait pas assez de temps. Il n'y avait pas assez de démons. Il n'y avait pas assez d'autres choses pour garder Christ dans cette tombe jusqu'à ce que son corps commence à pourrir. Parce que la loi de Dieu devait accomplir la parole. Et la loi de Dieu, par le Saint-Esprit, accomplit n'importe quelle promesse. Vous saisissez? Quelles que soient les conditions. Job a dit, « Après que ma peau aura été détruite de ma chair, je contemplerai Dieu. » Quelle que soit notre petitesse, notre bassesse, notre impureté, notre impiété, la gravité de notre maladie, de notre affliction, la loi de l'Esprit de Dieu. Par sa parole, l'oblige à lui obéir. Elle exerce la contrainte, elle dit, rends-le. Amen. Oh, si seulement nous pouvions réfléchir à ça un instant. Elle contraint, quelles que soient les conditions. Peu importe la condition, la loi de la parole de Dieu contraint la condition à s'aligner sur sa parole. Vous voyez? Elle est obligée. Alors, si une fleur gît là et qu'elle est morte, que les semences sont pourries, qu'elles ont disparu, que la peuple est sortie, cela n'a rien à voir avec ça. Elle ressuscite parce que Dieu a établi une loi pour qu'elle ressuscite. Quand Job gisait dans la terre, peut-être quand il a vu Jésus qui venait, c'était 4000 ans avant que Jésus arrive ici. Vous pouvez imaginer à quoi ressemblait un corps humain au bout de 4000 ans. Probablement qu'il ne restait pas assez de cendre à mettre sur le bout d'une cuillère. Mais Job a dit, « Pourtant, de ma chair, je contemplerai Dieu. » Je le verrai, moi. Et la Bible nous dit dans Matthieu 27 qu'après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, plusieurs des saints qui dormaient dans la poussière de la terre sortirent de la poussière. Pourquoi? Ce prophète avait parlé en accord avec la parole de Dieu et la parole avait été prononcée. Et la loi de Dieu, par l'Esprit, les a ressuscités. La Bible dit, ils entrèrent dans la ville et apparurent un grand nombre de personnes. Ce n'est pas seulement Jésus qui est ressuscité, mais les saints sont ressuscités avec lui. Pourquoi? Dans les psaumes, il est dit, « Élevez-vous, porte éternelle, élevez-vous, que le Seigneur de gloire entre. » Eh bien, quand il a vaincu la mort, le séjour des morts, la tombe, la maladie, qu'il est ressuscité le troisième jour, il est monté en haut et a amené captive la captivité. Qu'est-ce que c'était? Ceux qui étaient en captivité se sont réjouis d'avance de la promesse que nous avons maintenant. Oh, frères, ils n'avaient même pas encore le Saint-Esprit, mais ils eurent la foi et donnèrent un bon témoignage. Et par elle, ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection sans la promesse. Oh, mais ils se sont réjouis d'avance. En vertu d'un sacrifice de brebis qui ne pouvait pas divorcer du péché, qui pouvait seulement couvrir le péché. mais ils ont cru que quelqu'un allait venir. Et par leur foi, bien au-delà de l'ombre. Amen. Ils ont revendiqué cela. Et en restant fermes, ils errèrent dans le désert, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, persécutés, dénués de tout, maltraités. Oh! Ces gens qui se réjouissaient d'avance de cette résurrection et qui, à cause de ça, sont morts dans la foi avec leur témoignage. Et en ce matin-là de Pâques, par cette loi de Dieu, lui qui avait prononcé la parole par Job et les autres prophètes, ils sont ressuscités d'entre les morts. Oh là là! C'est ça. Quelles que soient les conditions, certaines personnes ont un tel sentiment de culpabilité qu'elles ne veulent pas être confrontées à un jugement. Oh, beaucoup de gens, ce n'est pas difficile de mourir. N'importe qui peut perdre l'esprit, une chose ou une autre, et faire quelque chose d'irréfléchi. Certains font incinérer leur corps, le font amener sur la mer et en jeter les cendres aux quatre coins, aux quatre vents de la mer. Cela n'arrête pas le jugement. Vous y viendrez quand même. Oui, monsieur. Voyez? Peu importe, quelles que soient les conditions, vous allez rencontrer Dieu quelque part. Vous devez venir vers lui. Vous devez le rencontrer, voyez? Parce que pourquoi? Il a prononcé une parole et a associé une loi à cette parole. Et la loi, c'est sa propre loi, sa propre vie derrière elle. C'est pour ça qu'il a juré par lui-même. Il n'y a personne de plus grand. Voyez, il devait prêter serment parce qu'aucune alliance ne peut être confirmée sans serment. Et la seule façon pour lui de le faire, avant cela, il a prêté serment par lui-même. Et lui-même est devenu le serment. Oh, frère! Quand Dieu est devenu homme, et il était le serment. Il a fait qu'il soit lui-même le serment. Et par sa propre mort, son ensevelissement et sa résurrection, il a prouvé que ses lois étaient justes. Il a dit, détruisez ce bâtiment, je le relèverai en 3 jours. Je, un pronom personnel, je le relèverai en 3 jours, je le relèverai. Détruisez-le et voyez ce qui arrive. Car il connaissait la loi de Dieu. Il savait ce qu'elle était. Il savait qu'elle devait opérer d'après la parole. Il savait que la parole de Dieu avait été prononcée par un prophète et qu'elle disait, « Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » Ça réglait la question. Alors, la loi de Dieu doit opérer d'après cette parole. Nous allons arriver à quelque chose de grand dans un instant. Voyez? Cela indique que la loi de la parole de Dieu, la loi de Dieu est conforme à sa parole. Maintenant, si le tribunal rédige un message concernant certaines choses, il y a une sanction si on fait ça. Bien, alors, c'est la parole du tribunal et la loi du tribunal fait appliquer la parole du tribunal. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est une loi. Et le Saint-Esprit est ici pour faire appliquer cette loi. Amen. Pour le croyant. Vous devez être destiné à faire cela. Il faut que ce soit un croyant. Vous devez avoir l'insigne du croyant. Quelqu'un dit, vous avez la puissance. Non, mais nous avons l'autorité, c'est ça. Pas la puissance, mais l'autorité. Nous n'avons pas assez de puissance pour faire quelque chose. Comme je l'ai dit il y a quelque temps, il y avait un petit policier ici à Louisville qui se tenait là. Il y avait plus petit que moi, un tout petit homme. Sa casquette lui tombait sur les oreilles. Et les voitures ou son uniforme pendouillait. Il s'est avancé au milieu de la rue, le petit pistolet à capsule. On aurait dit sur le côté, le petit bâton à la main, le petit sifflet. S'est avancé là, il portait des gants blancs. Et ses voitures, certaines d'entre elles de 350 chevaux, roulant à toute vitesse dans cette rue, comme l'éclair faisait vroom vroom. Eh bien, ce pauvre petit homme n'aurait pas pu arrêter. Avec sa force, il n'aurait pas pu arrêter un poney qui s'est échappé. Certainement pas. Mais il s'est avancé au milieu de la rue. Son gros insigne brillait. Il a sifflé. Il levait la main. Frère, c'est un moteur de 300 chevaux. Les freins ont sifflé et tout le reste. Ce n'était pas la puissance de l'homme. C'était l'autorité qu'il avait. C'est ça. Voilà l'Église. Il se peut que ce soit une bande d'exaltés, soi-disant, ou comment vous voulez les appeler, mais c'est l'autorité. C'est l'autorité qui est derrière elle. C'est ça qui compte. Quelles que soient les conditions, la loi de Dieu opère conformément à sa parole. Mais elle n'opérera pas conformément à votre credo. Elle opérera conformément à la parole. Oui, elle opère seulement conformément à la parole. C'est tout. Là, quelle que soit la condition. Abraham, comme nous l'avons vu il y a un instant dans notre texte, la femme d'Abraham devait être rendue. Pourquoi? Dieu avait donné une promesse à Abraham et ici, un roi l'avait prise pour l'épouser, pour en faire sa femme. Eh bien, qu'est-ce qu'il aurait fait? Mis à mort Abraham en un instant? C'est ce qu'Abraham a dit. Je t'en prie, dit que après avoir vu que Abimelech l'avait déjà attrapé, ce roi philistin là-bas, il a dit, maintenant, toi, je t'en prie, dis que je suis ton frère, parce que si tu es belle femme, il a dit, maintenant, s'il voit que tu es belle, je serai tué parce qu'il te prendra pour t'épouser. Ainsi, Abimelech l'a attrapé et son homme l'a fait entrer. C'était une belle femme. Et au fait, elle avait seulement 100 ans. Et elle, Dieu venait de montrer par eux ce qu'il allait nous faire à tous. Vous savez, j'ai déjà traité de cela en détail dans les sujets que j'ai abordés sur les bandes et tout en démontrant ça par la parole de Dieu. Exactement. Il a dit par Abraham et Sarah ce qu'il allait faire à la race entière. C'est vrai. Donc, elle était là et Abimelech l'avait prise pour être sa femme. Abimelech, et donc il était tout à fait prêt à ce moment-là à la prendre pour être sa femme. Et quoi? Dieu avait dit à Abraham, c'est par Sarah que tu auras ce bébé. Et voici un jeune homme qui l'apprenait. Là, il y avait Abraham qui avait près de 100 ans. Mais par cela, remarquez ce que Dieu a dit là. Oui, je sais que tu as un cœur pur. C'est pour ça que je t'ai empêché de pécher contre moi, mais rends cette femme. Car son mari est prophète. Demande-lui de prier pour toi. S'il ne le fait pas, je vais te rayer de la terre. Voilà. Quoi? La parole de Dieu doit subsister. Aucun homme ne pouvait toucher Sarah. Dieu avait fait une promesse. Sarah, un type de l'Église, la vraie Église, l'Église libre, la femme libre avec un enfant libre. Un type de l'Église, né de nouveau avec la promesse. Laissez-les dire ce qu'ils veulent, appelez cela de l'exaltation, du fanatisme. Ils ont essayé de la stopper depuis la Pentecôte, mais ils n'y arriveront jamais. Non, monsieur, car ne la touchez pas, c'est tout. Dieu va la prendre et en faire quelque chose. Aussi sûrement que je me tiens ici, nous allons arriver à l'âge dont il est question maintenant, dans quelques instants. Avec l'aide de Dieu, je vais vous prouver où nous en sommes. C'est vrai, ils ne vont jamais arriver à la détruire. Elle ne peut pas être détruite. C'est vrai. Enlève tes mains d'elle. Pourquoi? C'est là que la semence naturelle est venue. La semence naturelle devait venir. Si Sarah avait épousé cet autre homme, la semence naturelle ne serait jamais née. Alors, si Dieu a pareillement protégé le parcours de la semence naturelle, à combien plus forte raison a-t-il protégé la semence royale spirituelle? Satan, redonne-les. Lâche-les. Tu ne vas pas continuer à les étouffer là-bas, dans ces organisations et autres. Ce sont des gens libres. Laisse-les tranquilles. Oui, lâche-les, la semence royale. Donc, Dieu parle de restauration. Maintenant, ici, dans Joël, il parle de... J'ai déjà prêché une fois là-dessus, et je l'ai pris sous un autre angle. Il parle de... Je ne l'ai pas traité en détail comme j'ai l'intention de le faire aujourd'hui, et je n'aurai pas le temps de le faire comme il le faudrait. Mais Dieu parle ici, dans Joël, de... Dieu parle de son arbre fruitier qu'il avait planté. Dieu a planté un arbre fruitier. Il l'a planté le jour de la Pentecôte. Et il a amené cet arbre-là dans un but. Il voulait qu'il porte son fruit, parole, la parole de Dieu. Il voulait une église qui observerait sa parole tout au long de l'âge. Ève n'était pas arrivée à l'observer. Les Juifs n'étaient pas arrivés à l'observer. La loi n'y était pas arrivée. Rien n'y était arrivé. Alors Dieu s'est planté un arbre. Un arbre. Maintenant, souvenez-vous, il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Nous savons cela. Appelez-les comme vous voulez. J'ai mon idée, mais quoi qu'il en soit, l'un d'eux était un arbre souillé. Il a été souillé. Et l'autre n'était pas souillé. Cet arbre de la vie est venu de Dieu, du ciel. Il a dit, vos pères ont mangé de la manne, ils sont morts. Mais cet arbre, si vous en mangez, vous vivrez éternellement. Et l'ange a gardé cet arbre de la vie depuis le jardin d'Éden. Il l'a gardé en Éden. Cet arbre de la vie est en Éden, maintenant, spirituellement parlant. Cela s'entend. Remarquez, bon, quand Dieu a planté cet arbre, il devait porter 9 sortes différentes de fruits. 9 sortes différentes, ce qui veut dire 9 dons spirituels. 9 fruits de l'esprit pour accompagner les 9 dons spirituels. C'était l'arbre de Dieu. Il l'a planté dans la terre le jour de la Pentecôte. Maintenant, arrêtons-nous. On est toujours tellement limité par le temps. Je vais sauter quelques passages des Écritures ici et aller ici au psaume 1er. David a vu cet arbre il y a longtemps. Les chants qu'il a écrits pour avoir quelque chose de joyeux, c'est là-dessus qu'il a écrit en premier. Il a vu cet arbre et il était planté près des courants d'eau. Cet arbre, lui, il est comme un arbre, l'arbre de Dieu, planté où? Près des courants pluriels, des courants d'eau, singulier. Pas une eau méthodiste, baptiste, presbytérienne, luthérienne, et ainsi de suite. Non, 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 non. Des courants d'une seule eau. Neuf dons spirituels par le même esprit, neuf fruits de l'esprit venant par le même canal. Il est comme un arbre qui est planté près des courants d'eau. David l'a vu, et il en a parlé. Il a dit, « Heureux cet homme! » Remarquez, il a dit qu'il ne pouvait pas mourir. Son feuillage ne se flétrirait pas. Non, non. Peu importe ce qu'ils font, ils ne tueront jamais cet arbre. Pourquoi? C'est à cause de l'endroit où il est planté. En voilà la raison. C'est à cause de l'endroit où il est planté. Il est planté près des courants d'eau. Maintenant, remarquez. David a dit, ses racines ne mourront pas. Vous savez, prenez un arbre, un gros arbre. Moi, quand j'étais garçon, j'allais beaucoup dehors, et nous, les garçons, nous allions dehors, et il y avait un gros arbre sur lequel nous nous asseyions, un gros être. Et les vents soufflaient, et je me demandais, on aurait dit que ces vents, spécialement au sommet, on aurait dit qu'ils allaient renverser cet arbre. Mais vous savez, chaque fois que le vent souffle sur un arbre, il balance l'arbre, et cela libère les racines pour qu'elles puissent creuser plus profondément et s'accrocher encore mieux. Et c'est comme ça, avec les moqueries, les rires, les railleries à l'égard d'un chrétien. Ce que ça fait, la persécution secoue le chrétien, ça le fait prier davantage, creuser, s'accrocher encore mieux, afin de pouvoir supporter la tempête. Alors, qu'arrive-t-il si un homme est planté dans quelque chose comme près d'un courant ou les sources, neuf sources différentes l'alimentent? Oh là là! Quelle assise il a! Et un homme qui est planté près du courant, des courants d'eau, une seule eau, un seul esprit, il y a les dons de guérison, le même esprit, les dons de prophétie, le même esprit, tous le même esprit, mais beaucoup de dons, un donateur. Donc David l'a vu, il a été planté près de cet arbre. Alors il ne pouvait pas mourir. Maintenant, remarquez, pourquoi? Il avait la vie dans les racines. Où sont les racines? Où la vie de l'arbre? Elle reste dans les racines, certainement. Elle monte et porte son fruit. Bien, observez, ses racines avaient la vie en elles pour produire son fruit en sa saison. Maintenant, souvenez-vous, cet arbre ne va perdre son fruit. Maintenant, prenez un arbre et éloignez-le de l'eau. Avant longtemps, vous vous retrouverez avec des petites pommes. Elles seront toutes ratatinées et rongées par les vers. De ce fait, l'arbre va perdre sa récolte. C'est ce qui se passe avec les églises aujourd'hui. Vous vous êtes éloigné de ce courant. Vous vous êtes éloigné des dons de l'esprit. Ils ont seulement une église naturelle. Et ils s'éloignent des dons spirituels et des choses spirituelles. Et ils perdent leurs fruits. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des croyants qui vivent avec le monde, agissent comme le monde, volent, trichent, mentent, fument, boivent, jouent à l'argent, jouent au loto dans l'église pour payer le prédicateur. Et tout le reste, ils ont des soupers où on sert de la soupe, des soirées dansantes. Voyez, ils perdent leurs fruits. C'est tout à fait comme le monde. Et l'incroyant regarde et dit, il n'y a pas de différence entre cette personne et moi, c'est ce qui a provoqué la montée du communisme en Russie. C'est pour ça qu'ils ont fait disparaître l'Église catholique. Et là-bas au Mexique, quand j'y étais, j'ai vu ces mines de chaux ou ces endroits où ils ont brûlé ces bébés quand les religieuses avaient eu ces bébés. Même des corps humains d'adultes gisaient là dans les mines de chaux. Qu'ont-ils fait? Ils ont perdu leur récolte, vous voyez, et Dieu les a secoués de l'arbre. C'était tout, vous voyez. Mais l'homme qui est planté, pas celui qui est posé là, mais celui qui est planté près des courants d'eau, il donnera son fruit. Observez, son fruit en sa saison. Est-ce que vous lisez ça au psaume 1? Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il est comme un arbre qui est planté près des courants d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voyez, remarquez, il n'en est pas ainsi pour le méchant. Il ne se retrouvera pas avec lui au jour du méchant, du jugement. Voyez, donc, il donne son fruit en sa saison. Observez chaque son, le pronom personnel, et c'est son fruit, le fruit de Dieu, à la saison dans laquelle le prophète le donne. Ce sera à la saison du prophète, le fruit de Dieu, au temps de Dieu, d'après la saison du prophète. Voyez? Il donne son fruit en sa saison. Vous voyez, s'il n'y a pas deux fois son, donne son, le fruit de Dieu, vous voyez, à la saison où il est prévu que le messager vienne, il les donne. Maintenant, souvenez-vous de cela. Le messager qui donne le fruit de Dieu, le donne à la saison de Dieu, à la saison du porteur. Vous voyez, il donne son fruit en sa saison. Et il ne peut pas se flétrir. Pourquoi? Il a là-dedans un fruit prédestiné. Il ne peut pas être détruit parce qu'il est prédestiné. Maintenant, Éphésiens 5, 1, 5 plutôt, il est dit « Assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Qu'est-il arrivé? Il dit « Dieu, par sa prescience, nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ ». Dieu, par sa prescience, a prédestiné tout ce qui arriverait d'un bout à l'autre de la ligne. Par sa prescience, il l'a vu d'avance. Par conséquent, dès le commencement, il a pu annoncer la fin. Par conséquent, c'était un fruit prédestiné dans la racine de cet arbre. Et cet arbre ne pouvait pas se flétrir parce qu'il contenait un fruit prédestiné. Eh bien, c'est l'arbre dont Joël a parlé ici. Vous voyez, il ne peut pas mourir. Les vers l'ont dévoré, mais il n'a pas pu mourir. Dans sa racine, il avait la vérité prédestinée. Il avait la parole de Dieu, cet arbre. Et cet arbre est l'arbre qui avait été placé dans le jardin d'Éden. C'est la seule façon. Tous les arbres, par la femme, meurent. Nous mourons tous par la femme. Par la naissance, nous mourons tous. Donc, par la femme vient la mort, car cette naissance vient par la femme. Bien, alors ceci doit mourir à cause du péché. Mais la naissance, la nouvelle naissance qui vient par Christ, ne peut pas conduire à la mort. Ça, c'est un arbre, et il y a un autre arbre. Voyez, et cet arbre-ci, bien qu'il ait été persécuté, ridiculisé depuis le tout début du jardin d'Éden, il ne peut pas mourir. Il est prédestiné. Il a reçu des coups de bâton, a été frappé, et oh là là, on lui a tout fait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il ne peut pas mourir. Il ne va pas mourir. Il ne peut pas parce qu'il contient la parole de Dieu prédestinée. Il doit pousser, car son fruit est en sa saison à lui, sa saison prédestinée. En sorte que, peu importe, Joël a vu chacun d'entre eux dévoré jusqu'à la base. Mais il a dit, « Je rétablirai, dit l'Éternel, car la prédestination de Dieu se trouve dans les racines de l'arbre. Il doit pousser puisqu'il contient la parole de Dieu prédestinée. » Oh, quel arbre! Oh! Cet arbre-là, il a commencé à croître là-bas en Éden. Qu'est-il arrivé? Il y a un groupe d'enfants de Caïn qui était venu là, des bestioles qui étaient venues là, et il avait dévoré jusqu'à la tige. Et Dieu a prélevé une partie de la récolte, l'a placée dans l'arche et l'a amenée à bon port. C'est vrai. Dès le commencement, cela a été pareil tout au long d'un jugement à l'autre, Israël et ainsi de suite. Et alors, à la Pentecôte, où l'Église, pour l'arbre épouse, il a mis en place à la Pentecôte l'arbre qui était prédestiné à donner son fruit dans la saison. Maintenant, ça va bien, les fruits vont vraiment bien. Il a fleuri le jour de la Pentecôte. Voyons ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Jésus a dit, « Vous ferez aussi les œuvres que je fais. » Ils ont guéri les malades. Oh, le jour, voyons comment cela a commencé. Le jour de la Pentecôte, quelques jours après la résurrection, 50 jours après Pâques, il vint du ciel un vent impétueux. Maintenant, aujourd'hui, on agit différemment. Le ministre se lève et prend et dit, « Je vais inscrire votre nom dans le registre. » Voyez, on est licencié avec son col tourné vers l'arrière qui dit, « Avancez-vous ici pour prendre le pain cacheur. C'est alors que vous deviendrez membre de l'Église. » N'est-ce pas étrange? Le ministre dit, « Venez vous joindre à notre groupe. » Eh bien, les deux ont tort. Le jour de la Pentecôte, il vint du ciel, pas de la chair, pas sur la route, du ciel. Un quoi? Un sacrificateur? Non. Un ministre? Non. Qu'était-ce? Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues séparées, les unes des autres, se posèrent sur eux. Ils balbutiaient, ils ne pouvaient pas parler, ils étaient tellement remplis de gloire. Le Saint-Esprit les avait remplis. Ils sont sortis dans les rues en baragouinant, simplement, et en agissant comme même l'assemblée qui était très digne s'est tenue là et a dit, « Eh bien, ces hommes sont pleins de vin doux. Ils sont tous ivres. Regardez ces hommes et ces femmes, comme ils titubent et se conduisent bizarrement. » Or, c'est ainsi dit l'Esprit. C'est l'Écriture. C'est comme ça que l'Église a été organisée, pas organisée, mais établie. Une grande différence entre ces deux mots. Remarquez, les voilà. Bon, et vous savez quoi? Vous, les catholiques, la Sainte Vierge Marie était avec eux. Oui, alors si Dieu n'a pas voulu laisser Marie venir au ciel sans avoir reçu le Saint-Esprit, comment allez-vous y arriver avec moins que ça? Maintenant, pensez-y un peu. C'est vrai. Marie était parmi eux. Et elle a dû attendre là-haut jusqu'à ce qu'elle ait perdu toute sa dignité et son orgueil, qu'elle ait été remplie de l'Esprit, et les voici qui arrivent, agissant comme des gens ivres. La Bible le dit. Il disait, ces gens sont pleins de vin doux. Mais Pierre, le porte-parole, le ministre dans le groupe, s'est levé et a dit, ces gens ne sont pas pleins de vin doux, comme vous le supposez, car c'est seulement la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, celui que je lis aujourd'hui. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles sur la terre. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, Pierre a prêché à la Pentecôte d'après le même prophète que celui au sujet duquel je prêche aujourd'hui, planter cet arbre, et c'est là qu'il l'a planté. Oui, il a bien poussé, ils sont sortis là-bas et ont eu des dons spirituels, ils ont guéri les malades, ils ont prêché, ils ont été jetés en prison, ils étaient prêts à souffrir par amour pour la parole. Si vous étiez un mou et que vous alliez dans un autre pays, vous ne seriez pas être un très bon Américain si vous alliez là-bas. Si vous alliez maintenant au Japon, que vous vous glissiez derrière la ligne en disant, écoutez les gars, je suis pour vous. Vous savez, je suis pour vous, mais je suis de l'autre côté. Traître, vous devriez être fusillé. C'est vrai, vous êtes un traître, certainement. Et alors, c'est pareil pour un homme qui connaît la parole de Dieu et qui fait des compromis avec elle parce qu'une organisation lui dit qu'il doit faire comme ça. C'est un traître. C'est vrai. Mais ces hommes n'étaient pas des traîtres. Ils ne se souciaient pas, eh bien, de leur manière de se comporter, de leur manière de se conduire à l'Église, pousser des cris, pleurer, jubiler, baragouiner des langues comme ils se parlaient les uns aux autres sans comprendre. Les hommes d'autres nations et d'autres langues qu'il y avait là dans l'auditoire ont commencé à entendre ce qu'ils disaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, ils baragouinaient, mais d'autres personnes là-bas ont compris. Et ils ont dit, ces personnes sont certainement ivres. Mais Pierre a dit, ils ne sont pas ivres, mais ils sont remplis de l'Esprit. Alors tous, ils ont souffert le martyr, sauf Jean. Lui, on l'a fait brûler 24 heures dans une cuve de graisse, mais on n'a même pas pu le brûler, l'Esprit qui était en lui. Et par la suite, il est mort de mort naturelle. C'est le seul, Jean, le révélateur. Maintenant, c'est vrai. Remarquez maintenant ce qui est arrivé. Là-dessus, Dieu a planté un arbre pour qu'il donne 9 dons spirituels, des dons de son esprit. Le même esprit qui était en Christ est descendu sur l'Église. Elle avait la vie éternelle. Donc, les dons de l'esprit étaient dans l'Église et elle grandissait, donnait du fruit partout. Ils ne pensaient pas à eux-mêmes, ils n'organisaient rien, ils allaient simplement de l'avant, ils étaient des frères. Ils n'avaient pas, je suis content que cette petite chose ait été là-dessus, pas d'autre credo que Christ, pas d'autre loi que l'amour, pas d'autre livre que la Bible. C'est ce que je crois, voyez, et c'est comme ça qu'ils ont fait. Le monde est notre paroisse, voyez, partout. Alors, remarquez ces hommes, quand ils faisaient ça, combien l'Église était glorieuse. Et Dieu était avec eux, c'est ce que la Bible dit, et Jésus les a vus avant son ascension. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, voici les signes. Maintenant, aujourd'hui, à quel genre de signes reconnaîtront-on un croyant? Il serre la main du pasteur, il est membre d'une église, son nom est dans le registre parce que le nom de sa mère y était, ou bien que le nom de son père était dans le registre. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, voici les signes. Ça, c'est l'église naturelle. Nous parlons de l'église spirituelle. Nous parlons d'un arbre spirituel, pas d'un arbre naturel. Nous allons arriver à ces deux arbres dans un petit moment, voyez, un arbre spirituel. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui sont suspendus à cet arbre. Voici les signes qui accompagneront ceux qui reçoivent leur vie de cet arbre-ci. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et s'ils saisissent un serpent ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Voilà, d'après ce qu'il a dit, le genre de signe qui accompagnerait le croyant. Où est-il aujourd'hui? Il a donné au monde un exemple de ce que serait le signe du croyant. Il a dit, il vaudrait mieux qu'on suspendît à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jetât au fond de la mer plutôt que de scandaliser l'un d'eux, car leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Les anges. Remarquez, maintenant, les voilà. Cet arbre avait été planté. Il faisait un grand travail. Nous savons qu'ils sont allés partout. Le Seigneur, eh bien, le jour de la Pentecôte, 3000 hommes ont été rajoutés, baptisés et sont entrés dans l'Église. Et quelle grande communion fraternelle ils avaient. Et toute personne était dans le besoin. Tout le monde était gentil, avait bon cœur. Et ensemble, ils formaient tous une grande famille. C'était merveilleux. C'est alors qu'est venue par là une espèce de vilain scarabée aux dents voraces qui, au cours de son existence, passe par 4 stades, comme Joël l'avait vu. C'est un insecte destructeur qui passe par 4 stades qui est apparu pour détruire ce magnifique arbre de Dieu. Imaginez un peu, maintenant je vais lire un peu ce que Joël en a dit. Joël, chapitre 1. La première chose, alors là, il y a 4 scarabées différents, mais en réalité, c'est là un seul scarabée. C'est un seul scarabée à 4 stades différents. Maintenant, observez, cette espèce de scarabée est venue s'attaquer à ce grand arbre magnifique de Dieu. Nous l'appellerons un arbre, mais c'était l'Église. Le premier, c'était un gazan. C'est une petite chose, un tout petit insecte comme un ver. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gazan? Il est venu la détruire, le fruit de l'arbre. C'est la première chose. Maintenant, retournons dans l'histoire et voyons quelle a été la première chose. C'est un groupe très digne qui s'est introduit parmi les gens ordinaires. Ils ont dit, eh bien, c'est une bonne chose que vous puissiez guérir le malade et que vous puissiez faire ces choses. C'est merveilleux. Alors, vous savez ce que nous devrions faire? Nous devrions amener ça là où se trouvent les gens de la classe supérieure qui sont aptes à comprendre ceux d'une classe plus élevée, le maire, les juges et ainsi de suite, et les dignitaires de la ville. Mais aussi longtemps que vous vous comporterez comme vous le faites, ils ne s'approcheront jamais de vous. Voyez? Ils ont peur de vous. Quelqu'un a dit ça. Ils ont toujours peur. Je pense que c'est assez juste. Alors, c'est vrai, ils ont peur du Saint-Esprit. Excusez-moi. J'avais l'habitude de chanter un petit chant. C'est cette bonne, avez-vous déjà entendu cette bonne vieille religion? Est-ce que quelqu'un a entendu ce chant? C'est cette bonne vieille religion. J'ai l'habitude de chanter un petit chant comme ceci il y a des années. Je disais, oui, ce Saint-Esprit d'autrefois que le diable a en horreur. C'est pourquoi les gens en ont peur. Mais c'est tout ce qu'il me faut. Pour moi, je ne connais rien d'autre qui me remplit d'un tel amour, qui donne la joie chaque jour. Oui, c'est tout ce qu'il me faut. C'est vrai. Il vous fait cesser de mentir. Sa puissance prend le contrôle au point que l'ennemi doit fuir. Oh, c'est tout ce qu'il me faut. C'est vrai. C'est pour ça que les gens ne le veulent pas. Pourtant, c'est Dieu. Ils n'ont pas voulu Jésus. Ils ont dit, cet homme, l'Église, la grande Église très digne, a dit, tu viens nous dire qui nous sommes? Sache que nous sommes docteurs en philosophie, en droit, X, Y, Z, tout ceci. Voyons, je suis le souverain sacrificateur, je suis ceci, cela ou autre chose. Et tu oses me dire ceci? Tu es né dans le péché, tu n'es rien qu'un enfant illégitime. Ta mère devait, tu as eu avant que ton père soit marié. Il a dit, qui peut m'accuser de péché, voyez? Qui peut m'accuser? Bien, le péché, c'est d'être incrédule à l'égard de la parole de Dieu. Autrement dit, montrez-moi où je n'accomplis pas la parole, jusque dans le moindre détail, exactement là où elle est censée être. Montrez-moi dans l'Écriture où mon temps, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Il a dit, bon, vous prétendez être ça, alors j'aimerais vous voir le faire. Oh là là, depuis ce jour, on ne lui demande plus rien. On l'a laissé tranquille. C'est comme quand le diable lui a sauté dessus. J'ai dit qu'il a pensé pouvoir lui rentrer dedans malgré tout, mais il s'est aperçu qu'un million de volts passaient dans ce fil. Il a très vite fait bon en arrière, vous voyez, parce qu'il ne pouvait pas supporter ça, pour sûr. Donc, ce petit gazan m'est arrivé pour ôter les fruits. J'ai 2 pages de fruits, je veux vous en lire seulement une partie. Premièrement, le premier fruit qu'il a ôté, c'était l'amour fraternel. C'est vrai, l'une des choses qui tue tout de suite l'Église, c'est quand l'amour fraternel. Oui, monsieur. Ensuite, le fruit suivant qu'il a ôté de l'arbre, souvenez-vous, l'amour est le premier fruit sur l'arbre. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la douceur, la fidélité, la longanimité, c'est vrai, dans le Saint-Esprit. Alors, 9 dons spirituels avec 9 fruits de l'arbre, et ainsi de suite. Bien, maintenant, pour commencer, il s'est mis à dévorer le fruit de l'arbre. Maintenant, il ont un grand arbre, l'arbre de Dieu. Ils portent un 9 dons spirituels, ils guérissent les malades, ils parlent en langue, ils chassent les démons, ils font de grandes œuvres, ils prêchent la parole de Dieu sans mélange, aucune dénomination pour les retenir, ils sont libres, ils font une grande œuvre. Alors voilà qui est arrivé cette espèce de petit démon avec ses deux cornes devant, comme une sauterelle, vous savez, aux dents voraces. C'est son premier stade, le Gazan. Il est venu dévorer tout l'amour fraternel. Il a dit, tu sais, un tel a fait telle chose et telle chose là-bas dans l'église, un tel. Je ne croirais pas ce genre de gens, groupe de gens, voyez, le voici la première chose. Ensuite, il a voulu manger le fruit de la foi dans la parole. Maintenant, regarde, comment sais-tu que c'est la parole? Elle a été traduite tellement de fois. Le petit démon est toujours en train de dévorer, c'est vrai. Cette parole a été traduite tellement de fois. Il est ceci, cela ou autre chose. Oui, il est tout ceci, voyez. Maintenant, voici un autre fruit qu'il dévore, la joie du salut. Chut! Vous tous, vous avez fait trop de bruit. Oh là là, oh, comment pouvez-vous prêcher, frère Branham? C'est ce qu'une femme m'a dit une fois. Non, ce n'était pas une femme, c'était un homme. Je crois, j'espère qu'il est membre d'une autre église. Mais il m'a dit, l'autre jour, j'étais venu vous écouter, mais je n'ai pas pu vous écouter à cause des gens qui croyaient. J'ai dit, mais comment au monde faites-vous pour prêcher? J'ai dit, s'il n'était pas réjoui, je ne prêcherais pas. C'est vrai, autrefois, j'ai un de mes amis, Jim Paul et moi, autrefois, nous avions un vieux chien. Nous l'appelions Fritz. Donc, ce vieux chien, il saisissait toutes les occasions possibles pour forcer un animal à se réfugier dans un arbre, sauf les moufettes. Il avait peur des moufettes à cause de leur forte odeur. Alors, je lui trouvais une moufette sous un tas de broussailles. Je n'avais qu'à le flatter un peu. Il lui disait, attaque-la. Vas-y, attaque-la. Il allait l'attraper, cette moufette, vous voyez, parce que je la flattais. Je lui disais, attaque-la. Eh bien, c'est comme ça. Celui que je connais qui pue le plus, c'est le diable. Alors, quand j'apporte cette parole et quelqu'un dit amen, vas-y, attaque-la. Et nous allons aller le forcer à se réfugier dans un arbre. Alors, nous voyons qu'il a enlevé la joie. Vous savez, David, une fois, il avait perdu la joie de son salut. Il n'avait pas perdu son salut, mais il en avait perdu la joie. Il s'était alors écrié, « Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. » Voyez, la joie. Alors, ce petit gazam a commencé à dévorer ce fruit de la joie. Maintenant, regardez bien, vous tous, vous faites trop de bruit. Je vous le dis, tout s'écrit, c'est amen, et s'écrit de joie, c'est ridicule. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Voyez, avant longtemps, on se retrouverait dans une grande morgue. Vous savez, on se retrouverait là avec tous ces morts, des liquides pour embaumer, avec une soi-disant doctrine, des credos qu'on injecte dans leurs veines, alors que c'est l'Esprit de Dieu qui devrait circuler. Il y a un credo de l'Église qui est injecté là. Pas étonnant qu'il soit glacé et mort. Le thermomètre spirituel indique moins 90. Oui, que quelqu'un dise amen, tout le monde se retourne en disant le coup, comme on le ferait des oies ou autre chose. Ils veulent savoir qui a dit ça. C'est une honte. Alors que l'Esprit de Dieu, cela devrait être la joie, la paix, l'amour. Mais cette bestiole a commencé à dévorer ça. Elle a dévoré toute la joie. Et alors, le fruit suivant sur l'arbre, c'est la paix de l'Esprit, savoir que vous êtes sauvés. Oh, vous dites, bon, eh bien, si vous récitez notre credo, vous serez sauvés. Si vous devenez membre de mon église, vous serez sauvés. Bon, eh bien, celui-ci, si vous ne serez pas sauvés si vous allez là-bas. Il faut que vous deveniez membre de notre église pour être sauvés. Il faut que vous disiez, je vous salue Marie. Il faut que vous ayez votre nom dans ce registre. Si, il faut que vous ayez là. Cela enlèverait toute la joie. Ça, ce n'est pas l'arbre de Dieu. Vous savez, vous trouvez ça. C'est hybride, vous toujours. Vous connaissez mon histoire pour Claude Dumoulin. C'est un hybride. Il ne sait pas qui était son papa, sa maman ou l'un ou l'autre. Vous voyez, c'est un hybride. Mais un cheval avec un bon pedigree, il sait qui était son papa et sa maman à travers les générations. Et maintenant, un chrétien avec un bon pedigree qui a reçu le Saint-Esprit lui aussi, sait qu'il est descendu le jour de la Pentecôte, il sait où il se trouve, il peut suivre à la trace les générations qui l'ont précédé, sa généalogie jusqu'au tout début. Pierre l'avait tout du long, dans la nation où les races, ils l'ont eu tout au long. Un chrétien qui a un bon pedigree sait d'où il vient. Vous dites, eh bien, je suis luthérien, je suis presbytérien, oh, vous hybride. Pourquoi ne l'êtes-vous pas? Pourquoi ne l'êtes-vous pas? Eh bien, vous dites, qu'êtes-vous? Né de nouveau de quoi? De l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que vous n'êtes pas un hybride, vous êtes né correctement. Pas par un credo d'église, mais par l'Esprit de Dieu. Dieu vit en vous. Maintenant, remarquez, ce petit insecte a commencé à dévorer, et alors il a dévoré toute la paix de l'Esprit, ou encore, tout. J'en ai une page ici de tous les fruits, de ce qu'il a fait. Ensuite, ce petit individu a disparu et il est devenu une sauterelle. C'était le stade suivant, la sauterelle. Maintenant, que fait la sauterelle? La sauterelle mange les feuilles. C'est vrai. La sauterelle s'attaque aux feuilles. C'est que le gazam a laissé, il a laissé les feuilles. Il a dévoré tout le fruit qu'il y avait sur l'arbre. Ensuite, qu'il est intervenu, la sauterelle est venue dévorer ce que le gazam avait laissé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce gazam a fait? Il a détruit les feuilles. À quoi servent les feuilles? Il a détruit la communion divine, c'est vrai. Il est presbytérien. Nous ne voulons rien avoir à faire avec lui. Il est nazaréen. Il est pentecôtiste. Il est ceci, cela ou autre chose. Nous ne voulons rien faire avec lui parce qu'il ne fait pas partie de notre groupe. Avoir une réunion ici pour la guérison des malades. Notre église n'y croit même même pas, vous voyez. Mais voilà, que cette sauterelle a fait? Elle a coupé toute la communion fraternelle, c'est exact. Elle a ôté toute la communion fraternelle. Qu'est-ce que la communion fraternelle? Que font les feuilles? Elle apporte de la fraîcheur quand les oiseaux viennent se mettre sous les feuilles. Ils se rafraîchissent, voilà de nouveau votre arbre, il sera comme un arbre planté, voyez, bien, un endroit où les gens peuvent venir s'asseoir dessous dans la communion du Saint-Esprit, se rafraîchir un peu. Vous êtes complètement frustrés, vous ne savez pas ce qui est arrivé, et si vous allez mourir, si vous êtes sauvés ou pas, vous ne savez pas si cette église-ci a raison, si elle a raison, venez simplement sous l'arbre qui a des feuilles, asseyez-vous là, que le vent du ciel se mette à souffler comme un vent impétueux à travers les feuilles, vous savez, il commence et vous commencez à vous rafraîchir un peu. Vous dites, ouh, je vais aller là-bas, dire à cette bande d'exalter ce que je pense. Asseyez-vous donc un moment et vous allez vous rafraîchir. C'est vrai, vous ne pouvez pas le faire dans le vôtre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La sauterelle a déjà tout dévoré, c'est sûr. Elle a dévoré toutes les feuilles qu'il y avait. Alors, autant s'asseoir au soleil. Donc, il n'y a pas de fraîcheur là-bas. Eh bien, alors, mais vous savez ce que nous sommes censés faire? La Bible dit que l'Église prédestinée, les fils de Dieu prédestinés, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient dans les lieux célestes. Qu'est-ce que c'est? La fraîcheur, le réconfort, se sentir chez soi. Amen. Quand tous portent un smoking et que l'autre homme est comme ceci et d'autres comme ceci, regarde, elle n'a pas fait de permanente. C'est qu'elle n'est pas laide. Elle n'a pas, même pas de robe de Pâques plissée. Bon, peu importe ce que c'est. Oh, des plis de Pâques, c'est à peu près ça, vous voyez. Ils sont assis à l'arrière, ils font vous voyez, même pas de tenue de Pâques. Mais regardez-le donc, c'est le même vieux complet que celui qui portait l'an dernier. Eh bien, tu te rends compte? Alors, vous ne sentez pas bien? J'ai dit à une femme l'autre jour, pauvre femme, elle était membre d'une grande église très digne. Elle a dit, elle se mourait du cancer. Je suis allé prier pour elle. Frère Roy Robinson, ici, l'un des administrateurs, m'a envoyé là-bas. Cette pauvre petite personne était assise là en train de mourir du cancer. Elle a dit, est-ce que vous êtes chrétienne? Elle a dit, monsieur, je ne sais pas que dire. Elle a dit, je fréquentais une certaine église. Elle a dit, elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je voulais pas m'habiller correctement. Elle a dit, on me méprisait. Voilà, c'est ça, voilà. Vous êtes mal à l'aise, voyez. Mais la Bible dit que nous devons nous assembler dans les lieux célestes. Oh là là! Quoi? Tous pareils? Eh bien, je vais vous dire ce que cela produira. Ça fera qu'un paire de salopettes et un smoking se donnent l'accolade et s'appellent mutuellement frères, certainement. Ça fera qu'une vieille robe de calico embrasse une robe de soie, de satin, et dise, sœur, comment vas-tu ce matin? Loué soit le Seigneur, c'est vrai, c'est ce que ça fera. C'est la joie, la paix, l'amour, la foi dans la parole, la patience, la bonté, la longanimité. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, un petit moment de rafraîchissement. Voyez, voilà ce que faisaient les feuilles. Mais ce que la sauterelle a fait, elle est arrivée à dévorer les feuilles, a dit, ou bien vous êtes membre chez nous, ou bien vous n'êtes membre chez personne. Alors, elle a enlevé toute la fraîcheur de l'esprit, vous voyez, elle s'est fait un credo. Bien, maintenant, il faut qu'on continue, on pourrait rester longtemps sur cette sauterelle. Mais au troisième stade, c'était un gélec. Déjà, son nom sonne mal, gélec. Que fait le gélec? Il entre dans l'écorce. C'est là que se trouve la source d'approvisionnement. Oui, monsieur. Il entre dans l'écorce, il détruit la couverture de l'arbre. La couverture. La religion, c'est quoi? La couverture. C'est ce que le mot religion veut dire, une couverture. Alors, le gélec, après s'être introduit dans l'assemblée, les a rendus très dignes. Il leur a enlevé toute la communion fraternelle sous la forme de la sauterelle. Et maintenant, il arrive, il prend leur religion même et en fait des dogmes. C'est exact. Il emploie des mots qui ne sont pas orthodoxes. Il se fabrique une religion. Il réunit un groupe d'hommes et introduit là un credo. Il prend la religion même, l'arrache de l'arbre de Dieu. L'écorce même qui transporte la sève qui monte en lui. Il enlève le gélec. Vous voyez cet insecte? C'est tout à fait ça. Ce gélec, c'était Rome dans cette église primitive. En premier, il y a eu le groupe des pentecôtistes, pas les organisations pentecôtistes. Non, monsieur, tout ce qui s'organise est mort. Je le démontrerai dans un instant par les Écritures, voyez. Mais quand c'est l'expérience pentecôtiste, pour qui est-elle? Elle est pour les catholiques. Qui d'autre? Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, tous ceux qui la veulent. Mais vous devez la vouloir. Vous n'y venez pas par une adhésion. Cela fait 53 ans que je suis dans la famille Branham et je n'ai jamais adhéré à la famille Branham. Pourquoi? J'ai été un Branham dès le départ. Je suis un Branham de naissance. C'est comme ça que nous sommes chrétiens. Pas parce que nous avons adhéré à quelque chose. Ça, c'est une organisation. Nous sommes chrétiens de naissance en étant régénérés par le Saint-Esprit. Remarquez maintenant. Donc, le Gélec a commencé à se creuser un passage dans l'écorce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à lui enlever sa religion, sa couverture, sa doctrine. La religion est une doctrine, une couverture qui recouvre n'importe quoi. C'est pour ça que notre religion est par le sang. Le sang, la vie est dans le sang qui recouvre la parole. Et la vie, elle est dans le sang. Le sang est la religion et la vie dans le sang est ce qui amène les résultats. Alors, vous le voyez? Vous voyez, il n'est pas recouvert par des feuilles de figuier. Adam et Ève ont essayé ça une fois. Caïn a fait la même chose. Avez-vous remarqué ça? Caïn a aussi amené la vie botanique, vous voyez? Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour Adam et Ève. Et ça ne marchera pas aujourd'hui. Quand Dieu l'a refusé au commencement, c'est refusé pour l'éternité. Les credos humains et les pensées humaines ne l'ôteront jamais. C'est la parole de Dieu qui doit le faire. Et la parole le fait par le sang, par le sacrifice de Christ. C'est vrai. Des gens, comme le frère disait ce matin, qui arrachent des esquilles de bois. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, dans les pays, différentes organisations possèdent 19 clous différents. Et alors, elles pourraient prétendre que c'était un clou d'origine qui était dans ses mains. Et alors, si c'était le cas, je ne voudrais rien avoir à faire avec ça, certainement. Dieu n'a jamais rien laissé pour qu'on en fasse des reliques et des souvenirs. Il a envoyé le Saint-Esprit, quelque chose de vivant. Peut-être détruit. Quel bienfait un clou pourrait-il m'apporter? Quel bienfait la croix d'origine sur laquelle a été pendue pourrait-il m'apporter? Aucun. Ce n'est pas de connaître le clou, de connaître la croix, mais de le connaître lui, c'est la vie. Voyez? Alors maintenant, on s'accroche à des clous, on s'accroche à des reliques et on s'accroche à des lieux. Aujourd'hui, les gens parcourent la ville de Jérusalem de long en large et les différents lieux de long en large et ils s'accrochent à des reliques et autres. Cela n'a rien à voir avec ça, rien du tout. La chose est condamnée, pourrie et révolue. Je suis allé dans une église à Rome, c'est là qu'il tous les prêtres qui meurent, ils les enfouissent dans un jardin là-bas dessus et ils les laissent la chair se détacher des os et ensuite ils déterrent les os et en font des lampes et mettent leurs crânes tout autour et les gens entrent là, frottent ses crânes pour recevoir des bénédictions jusqu'à ce que l'écran devienne blanc et soit complètement usé. Quand on entre dans la cathédrale Saint-Pierre, là-bas, il y a une statue de pierre et on prétend qu'un pied a dû être changé 9 ou 10 fois tellement il avait reçu de baisers. On a dû mouler un autre pied par-dessus. Ridicule! Des superstitions! Ce n'est rien d'autre, des credos de doctrine humaine. Dieu a envoyé le Saint-Esprit, la vie de Dieu, pour qu'elle soit en vous, pas dans une statue. Vous êtes le gars en qui Dieu veut vivre, pas dans une statue. Mais en vous. Les gens appellent ça des statues saintes. Il n'existe pas de statue sainte. Vous êtes la statue sainte de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est exact. Tu m'as formé un corps. Donc, ce petit individu a commencé à détruire. Détruire quoi? Le Gélec est entré dans l'écorce. Observez ce que cela a produit. Cela a commencé à détruire l'écorce. Qu'est-ce que cela a produit? Cela a fait d'une église spirituelle une église naturelle. Oui, monsieur. Cela a enlevé le vrai et l'a remplacé par du faux. Maintenant, souvenez-vous, la feuille, le fruit, le gazam l'a dévoré. La feuille, la sauterelle l'a dévoré. Maintenant, l'écorce, la couverture, la religion, la doctrine, le gélec, la prise. D'où est venue cette première doctrine en dehors de la Bible? Vous, les historiens, vous savez d'où elle est venue? De Rome. C'est exactement là qu'elle a commencé. C'est là qu'ils ont commencé à accepter des dogmes. C'est comme ça qu'Irénée, Saint-Martin, Polycarpe, tous, après la mort de Jean, pour avoir traduit la parole de Dieu, il a été sur l'île de Patmos. On l'a fait brûler dans la Grèce pendant 24 heures. On l'en a ressorti. Il a continué à écrire la Bible. Dieu était déterminé à ce que cette Bible soit écrite. C'est la parole de Dieu. On ne peut rien en retrancher ni ajouter. Elle doit rester comme elle est, la parole. Remarquez, quand ils sont revenus, quand ces saints de Dieu essayaient de soutenir cette parole, Rome est arrivée là et a accepté des dogmes à la place. Maintenant, voyons ce qu'elle a fait, certaines de ses fausses doctrines, ce qu'elle a fait. Le baptême d'eau, alors qu'ils avaient reçu la commission, Pierre a prononcé le jour de la Pentecôte, sous l'influence du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Qu'est-ce que Rome a fait avec ça? Elle a inversé ça et a dit, soyez baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. On en faisait un credo, pas une doctrine de la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le gélec qui était en train de dévorer, asperger plutôt qu'immerger. Au nom du Père, Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Ça n'existe pas. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Et Saint-Esprit n'est pas un nom. Quand Jésus a dit, baptisez-le au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce que Pierre et les autres ont fait. Et tous, tout le monde dans la Bible, personne. Je mets quiconque au défi de me fournir un seul élément biblique ou un seul élément historique disant que quelqu'un aurait été baptisé autrement qu'au nom de Jésus-Christ jusqu'à l'Église catholique romaine. Faites-le. Souvenez-vous, cette bande va dans le monde entier. J'ai tenu des assemblées de ministres de plusieurs centaines avec des évêques et tout. J'ai dit, levez-vous ou venez ici avec votre Bible, sinon taisez-vous à jamais. Ils se taisent jusqu'à ce qu'ils se trouvent derrière votre dos et alors ils commencent à parler de vous. Ils n'ont pas l'audace de se tenir en face de vous, la simple décence de se tenir là et de vous le dire en face. Ils ont peur de le faire, ils savent que c'est faux. Mais c'est ce que le gélec a commencé à dévorer. Voyez, à dévorer sans relâche cette chose véritable. Maintenant, vous dites, ce n'est pas essentiel. Oui, peu importe comment je suis baptisé, c'est bon, vraiment? Paul a dit dans Actes 19, quand lui, Paul, a parcouru les hautes provinces d'Éphèse, la Bible dit qu'il a rencontré quelques disciples. C'était des fidèles. Apollos, un prédicateur, baptiste, élève de Jean-Baptiste, leur enseignait la parole. Et ils étaient dans une grande joie, et Paul est passé les voir. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Oh, dis-tu, je suis un croyant, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils ont dit, nous n'avons pas su qu'il y avait un Saint-Esprit. Il a dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Voyez, autrement dit, comment avez-vous été baptisé? Ils nous ont dit, nous avons été baptisés. Il a dit, comment? Selon Jean, il a dit, le même homme qui a baptisé Jean, est-ce que ça ne va pas? Paul a dit, non, pas maintenant. Non. Il a dit, il faut que vous soyez baptisés de nouveau. Et Paul les a baptisés de nouveau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. Et Paul a dit, si un ange du ciel a plus forte raison, un prédicateur, si un ange a plus forte raison, ce gélec, si un ange du ciel vous prêche autre chose que ceci, qu'il soit anathème. C'est vrai. C'est vrai. Alors, vous voyez ce qui s'est passé. Le gélec s'est mis à dévorer. Il a dévoré sans relâche le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Ce que le gélec a fait ensuite, c'est qu'il a enlevé le baptême du Saint-Esprit. En effet, tant que vous avez ce Saint-Esprit, il va répandre de la lumière sur cette parole. Tant que vous ferez ça, alors ils ont dû faire cela autrement. Maintenant, pensez au nombre de luthériens, de protestants, au nombre de catholiques ce matin qui ont été confirmés, comme ils disent, qu'ils ont pris leur première communion. Ils appellent ça la Sainte Eucharistie, ce qui veut dire, c'est un mot latin, le Saint-Esprit. Avez-vous déjà vu un catholique passer près d'une église et faire ce geste sur lui? Pourquoi? C'est Dieu dans cette église. Qu'est-ce que Dieu? Ce petit morceau de pain. Ce petit morceau de pain rond fait pour ressembler au Dieu soleil qu'ils adorent, poser là sur l'autel où les souris, les cafards s'amassent pendant la nuit. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Je vous le dis tout de suite. La première communion, être confirmée dans l'Église, ridicule. Mais c'est ce qu'ils font. C'est ce que le gélec a fait. Il a enlevé l'esprit. Il leur a donné un morceau de pain. Du pain fait par un prêtre ou une religieuse ou quelqu'un d'autre. C'est ce qu'ils ont fait. C'est tout à fait ça. Allez vous renseigner maintenant. Allez regarder dans l'histoire et voyez si ce n'est pas juste. Et vous laissez enfiler ça. Pas seulement les catholiques, mais vous les protestants. Beaucoup d'entre vous, la même chose. Bien, voilà ce qu'ils ont fait. Bien. Et alors les protestants, plutôt que de voir le Saint-Esprit, vous savez ce qu'ils font? Ils viennent adhérer et serrer la main. Personne n'est venu sur la route serrer la main quand le jour de la Pentecôte est arrivé. Mais il est venu du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. C'est vrai, il est descendu à travers les feuilles des arbres. Il s'est répandu sur l'écorce. C'est vrai, c'est exact. Alors, maintenant, à la place de la nouvelle naissance, au sujet de laquelle Jésus a dit que l'homme doit être de nouveau, ils ont adopté l'adhésion à l'Église. Venez adhérer. À la place de la parole, le gélec leur a donné un credo. Ne voyez-vous pas? Regardez un peu ce qu'il est en train de faire. Il donne quelque chose de naturel à la place de quelque chose de spirituel. Pouvez-vous le voir? Maintenant, regardez. Maintenant, nous parlons ici de la manière de faire catholique, mais saviez-vous qu'elle s'est aussi perpétuée jusqu'à ce que chez les protestants? Où avons-nous les démonstrations du Saint-Esprit dans l'Église protestante aujourd'hui? Où avons-nous une réaction pentecôtiste parmi les protestants? Nous n'en avons pas. Vous l'avez chez les luthériens? Si vous l'avez, je veux y aller. Je vais aller là-bas simplement manger et passer un très bon moment. Les presbytériens? Où cela se trouve-t-il, voyez? Vous avez adopté quelque chose de naturel. Je suis sur le point de partir, et vous le savez, voyez? Surtout, ne laissez jamais ceci sortir de votre cœur. Ne prenez pas ce qui est naturel, c'est la mort. Cet homme naturel, c'est la mort. Tout ce qu'il fait, c'est la mort. Il est assujetti à la mort, et ici, pour ça. C'est l'esprit qui vivifie, vous voyez? L'esprit donne la vie, le vivifie. C'est un esprit. Alors, vous voyez, observez ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le baptême d'eau, l'ont fait passer de Jésus-Christ à Père, Fils, Saint-Esprit. Un titre qui n'est pas du tout un nom. Maintenant, vous dites, qu'est-ce que ça change, ça? Très bien. Alors, si quelqu'un vous donne samedi votre chèque de paix, l'homme qui vous paie, plutôt que de mettre son nom là-dessus, qu'il dise simplement émis par le patron, c'est ce que, sur votre chèque de paix, juste, payé à l'ordre de Jean Huttel, $150 pour le travail de cette semaine, émis par le patron. Donnez-le à la banque et voyez s'il n'est pas refusé. Oui, 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 monsieur, certainement, bien sûr. Si ça ne change rien, pourquoi Paul a-t-il ordonné à ses chrétiens qui louaient Dieu, qui étaient dans une grande joie, chez qui se passaient de grandes choses? Pourquoi leur a-t-il dit, il faut que vous reveniez vous faire baptiser de nouveau au nom de Jésus-Christ? Voyez, prenez la parole, dites, tenez-vous-en à ça. Elle ne dit rien d'autre, dites simplement ce qu'elle dit, voyez. C'est par elle que nous allons être jugés. Maintenant, regardez. C'est ce qu'ils ont fait. À la place de la nouvelle naissance, ils ont une adhésion. Au lieu de citer la parole, ils ont écrit d'eau. Montrez-moi dans la Bible où ils ont déjà dit « Je vous salue Marie ». Montrez-moi dans la Bible où vous, les protestants, aviez déjà récité le credo des apôtres. Dites-moi ce qu'est le credo des apôtres dans la Bible. La communion des saints, ils étaient contre. Dites-moi où. Dans la Bible, ils ont déjà eu Père, Fils et Saint-Esprit pour le baptême. Cela n'y est pas. Et pourtant, vous vous emballez pour ça, hein? Bon, alors, au lieu de la communion fraternelle et de la fraternité entre frères, ils leur ont donné une hiérarchie, un pape. Et vous avez un évêque qui vous dit ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et vous, les pentecôtistes, vous avez un surveillant régional qui vous dit qui vous pouvez avoir. Mais l'Église à Christ, voyez? Voilà où vous en êtes arrivé, voyez? À la place. Il vous donne ses dons et ses choses humaines, et il l'enlève. Qu'est-ce que ce gelec a fait? Il a enlevé cela directement de l'arbre et vous a donné ceci. Je vais retirer cela de l'arbre et je vais vous donner cela à la place. Je vais retirer cela et vous donner ceci. Vous voyez, vous en êtes arrivé. Vous êtes frère Branham. D'où chacune des églises protestantes est venue, de l'Église catholique. C'est ce qu'Apocalypse 13 et Apocalypse 17 a dit qu'elle ferait. Il a dit, elle était une prostituée, elle était une mère impudique. La même chose. Le poêle ne peut pas se moquer du chaudron, vous savez. Alors ne faites pas cela. Cela, ne le faites pas. Alors ça, c'est vrai. La fraternité, il a enlevé la fraternité. Alors qu'on devrait être frères, les uns avec les autres. Il nous a séparés, il nous a rendus différents. Bien. Maintenant, observez. En voici une bonne, je prendrai celle-ci, puis j'arrêterai avec les autres. Regardez. La Bible nous dit que lorsque nous avons mal agi, nous devrions purifier nos âmes par le Saint-Esprit, nous mettre à genoux, laisser le Saint-Esprit nous révéler que nous agissons mal et rester là devant lui jusqu'à ce que nous mourions complètement en purifiant nos âmes. Maintenant, ils ont fait volte-face et vous ont donné un purgatoire. Une fois que vous êtes mort, alors le prêtre gagne beaucoup d'argent en priant pour vous faire sortir du purgatoire. Mais c'est ridicule! C'est ce que le gelec a fait! C'est sûr! Priez pour vous faire sortir du purgatoire. Cela coûte tant de centaines de dollars pour faire sortir cette âme du purgatoire par la prière. Je veux que vous essayez de trouver un purgatoire dans la Bible. Quelque chose de semblable. Ça n'existe pas dans la Bible. Non, monsieur. mais il leur donne un purgatoire, vous voyez, ils font une fois qu'ils sont morts. Oui, oui, je sais. Ils disent, bien sûr, vous les entendez dire, eh bien, Saint Boniface a dit telle et telle chose, peu importe ce que Saint Boniface a dit, eh bien, telle personne n'a-t-elle pas dit qu'elle avait prié pour son mari, Saint un tel, cette religieuse bien connue, peu importe ce qu'elle a fait, c'est une parole qui ne fait pas autorité. Elle est en opposition avec les apôtres qui font autorité. Dieu a donné ses apôtres pour mettre l'Église en ordre, et elle est édifiée sur la doctrine des apôtres, pas sur Saint Boniface ou un autre saint. Ça, c'est contraire à la parole. Peu importe ce que Saint Boniface a dit, et ce que d'autres saints, et Sainte Suzie et Sainte Marie, tout ce qu'ils ont dit. C'est ridicule. Ça ne vaut pas mieux que n'importe quel autre mensonge. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est un mensonge. Je ne crois pas les paroles qui ne font pas autorité. C'est pour ça que je ne crois pas ces credos protestants et tout, ces catholiques jusqu'à la moelle. Ce sont des dogmes. Comment pouvez-vous mentionner les catholiques et vous moquer d'eux parce qu'ils ont des dogmes alors que vous en êtes plein vous-même? Pas tellement ici, mais ceci est sur bande, vous comprenez, vous voyez, ça va dans le monde entier. Remarquez, comment pouvez-vous dire qu'ils sont dans l'erreur, alors que vous prenez des credos humains qui sont contraires à la Bible, des dogmes, comme eux l'ont fait? Pourquoi vous êtes dans une organisation qui est une fille de la vieille prostituée? Une prostituée, c'est quoi? Une femme qui est infidèle à son mari, prétendre être une église chrétienne et distribuer la mauvaise doctrine, ces choses à elle, plutôt que de prendre la sainte parole de Dieu. Tout comme Ève a fait, elle a écouté le diable, et cela a tout provoqué, la mort et les chagrins qui ont frappé la terre. C'est venu par Ève parce qu'elle a commis une fornication spirituelle contre Dieu en mettant en doute sa parole. Et c'est exactement ce que les églises font aujourd'hui, elles commettent des fornications spirituelles contre la parole de Dieu, et elles ne veulent pas de vous dans l'église. Si vous n'êtes pas d'accord avec leur doctrine, eh bien, s'ils m'envoient des lettres signées, si vous êtes prêt à croire ceci, et si vous dites que ceci est juste, j'ai dit, je ne viendrai pas, tout simplement. Non, monsieur. Je prêcherai exactement ce que cette Bible dit, sinon pas du tout. Vous voyez, c'est vrai. Tenez-vous-en à cette parole, c'est ce que nous devons faire, frère. Tenez-vous-en à ça, maintenant nous arrivons au dernier jour, et nous le savons, c'est maintenant l'heure. Tout ce que nous pourrions dire, oui, dis ceci, cela, autre chose, mais ce qui ne fait pas autorité, ne le croyez pas. Peu importe qui le dit, qui que ce soit. Tenez, une sœur est venue vers moi, il n'y a pas longtemps, elle a dit, un certain groupe d'hommes auquel j'ai prêché, des ministres à propos du baptême au nom de Jésus-Christ, il y avait 300 et quelques ministres. Beaucoup de gens qui sont assis ici étaient à la réunion, et tout le conseil de l'association pastorale de Chicago était venu me voir. Le Seigneur m'avait donné une vision, il m'avait dit où il serait et ce qui leur est arrivé. Je me suis donc rendu, je l'ai raconté, nous avons la bande ici, vous l'écoutez. Tous les évêques, les docteurs, les cardinaux, tous, ils étaient assis là. J'ai dit, quiconque parmi vous peut condamner ça. Prenez votre Bible et venez ici. J'ai dit, comment se fait-il que vous soyez si tranquille? Personne n'a rien dit. Et pourquoi? Voyez, ils ont peur de cette parole. J'ai dit, alors si vous ne le pouvez pas, pourquoi vous en prenez-vous à moi? Taisez-vous, sortez, faites quelque chose. Si vous ne pouvez pas le soutenir avec la parole, alors restez tranquille. Et alors, ce même groupe d'hommes a envoyé une dame vers moi. Il a dit, « Frère Branham, si l'ange du Seigneur vous l'a dit, l'ange du Seigneur, vous savez, sa photo est là, vous voyez, si l'ange du Seigneur vous a dit cela, eh bien, nous le croirons. » J'ai dit, « Quiconque, qu'un groupe de ministres soit faible à ce point-là, si l'ange du Seigneur l'a dit, si cet ange disait quelque chose de contraire à cette parole, ce ne serait pas l'ange du Seigneur. » L'ange du Seigneur confirme la parole. C'est exactement ce qu'il a toujours fait au cours de chaque âge. Il fait encore la même chose, il s'en tient à la parole. Et tout ministre, loin du Saint-Esprit, s'en tiendra à la même parole, parce que la Bible dit que la Bible entière a été écrite par le Saint-Esprit. Et comment pouvez-vous avoir le Saint-Esprit et nier ce que la Bible dit? L'Esprit lui-même qui est en vous rend témoignage que cela ne vient pas de Dieu. Voyez, le Gélec a dévoré ça tout. Il a dévoré sans relâche les vraies choses de Dieu. Oui, monsieur, une parole qui ne fait pas autorité est contraire à la doctrine des apôtres. Oh là là, ceci c'est la doctrine apostolique, ceci c'est la Bible, ceci c'est le Saint-Esprit, chaque parole qu'elle contient est vraie, croyez-la et acceptez-la simplement, ne baissez pas pavillon, mais observez l'accomplissement de chaque promesse, la manifestation de Dieu qui est présent en ce moment, s'il n'est pas autant Dieu maintenant qu'il était quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, il n'est pas Dieu, s'il n'est pas le même Dieu qui est descendu à la Pentecôte et qui est ici même aujourd'hui, il n'est pas le même Dieu, alors il n'y a pas eu de résurrection. résurrection. S'il ne l'était pas, oh, quel bien un Dieu historique peut-il vous faire s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Voyez, quel bien cela ferait-il d'envoyer des prédicateurs dans les séminaires et de les faire éclore comme des poussins de couveuses et d'aller partout comme ça si Dieu n'existe pas? Qu'est-ce que vous faites à retirer la parole de Dieu? Où est votre autorité? Vous dites l'Église, il y a 669 organisations différentes. Laquelle a raison? Aucune ne saurait ce qu'il faut faire. On serait dans la confusion. C'est vrai, mais Dieu ne va pas juger les gens par l'Église. Il va les juger par Christ. Et Christ est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Il jugera l'Église et les gens par la parole. C'est exact, la parole ressuscitée, vivante. Alors, si cette parole ressuscitée vivante dit quelque chose de contraire à cette parole ici, alors ce n'est pas la parole ressuscitée qui a été ressuscitée, parce que ceci rendra témoignage de cette vérité-ci. Il ne peut pas dire quelque chose ici qui est quelque chose d'autre par ici. Je peux dire quelque chose ici, quelque chose là, parce que je suis un homme. Vous le pouvez aussi. Vous pouvez obtenir plus de connaissances et de compréhension, mais pas Dieu. Il est infini, vous voyez? Il a la première décision, la première chose qu'il a dit. Il doit rester valable éternellement. Ça reste pareil. Il ne peut pas dire une chose ici et quelque chose par ici. Pour être Dieu, il doit dire chaque fois la même chose. Alors, si l'Esprit qui est sur vous est de Dieu, il rendra témoignage que cette parole-ci est la vérité, chaque mot qu'elle contient, et qu'elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que la Bible dit. Oui, monsieur. Bien. Maintenant, dépêchons-nous et prenons le stade suivant de cette bestiole. Premièrement, c'était un gazam. Qu'a-t-il dévoré de l'arbre de Dieu? Le fruit. Le stade suivant de sa venue, il est mort à ce stade-là et est revenu à un autre stade. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il est venu cette fois comme sauterelle. Il a dévoré toutes les feuilles. C'est l'habitude de la sauterelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il est revenu à un autre stade, comme Gélec. Il est entré dans l'écorce. Maintenant, le voici, qui vient comme Azil, son quatrième stade. Maintenant, c'est un asile. Un asile, c'est quoi? C'est un suceur. Il suce la vie, l'esprit, la vie. C'est ce qu'il fait. Il va jusqu'au fond, il tient la pulpe et se met à sucer. Le asile, le voici. Comment allons-nous l'appeler? Dénomination. C'est le nom juste de ce gars-là. Pourquoi? C'est un destructeur. Il suce la vie. Chaque fois que Dieu lance un mouvement parmi son peuple, chaque fois et qu'il forme une dénomination, il meurt sur le champ. Je veux que quelqu'un qui connaît l'histoire de l'Église puisse condamner ça. Montrez-moi une fois où une organisation s'est organisée et qui n'est pas morte sur le champ. Le Gélec s'est saisi d'elle, a ôté sa religion. Et ensuite, le suceur est venu et a pris à sucer toute la vie de l'arbre. Quelle sorte de vie y avait-il en lui? Le Saint-Esprit? Qu'est-ce que cela produit? Elle ne pouvait pas retenir le Saint-Esprit là-dedans et alors avoir tout le même des dogmes. Le Saint-Esprit n'a pas pu supporter cela. Alors il ôte le Saint, la vie de l'arbre, il lui donne un dogme, fait une dénomination. Que nous importe ce que ceci, notre dénomination dit ceci. Voilà, c'est ça. Souvenez-vous, d'après avoir été formé, une dénomination meurt toujours et ne se relève plus jamais. La première organisation, c'était les catholiques. Elle est morte immédiatement, et bien sûr, dès le départ, c'était des dogmes. De là est sortie la première réforme, c'était Luther. Elle s'est organisée et est morte. Ensuite est venue Wesley, elle s'est organisée et est morte. Ensuite est venue la Pentecôte, elle s'est organisée et est morte. Les presbytériens, les luthériens, tous les autres, et les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et toutes les organisations qui ont suivi comme cela, toutes sont mortes. Regardez-les. Pourquoi? Ils s'organisent et cela les tue. Qu'ont-ils fait? Ils ont fait entrer ces dogmes. Vous, nazaréens, la merveilleuse Église qui est venue ensuite avant l'arrivée de la Pentecôte, qu'était-ce? Vous croyez à la sanctification, mais quand c'est arrivé au don de l'Esprit, au parler en langue et aux grandes manifestations de la puissance de Dieu, vous les avez appelés les démons, et alors vous êtes morts. C'est vrai. Où en est-elle aujourd'hui? Morte! Oh, elle a plus de membres, mais où en est-elle? À l'état de cadavre. Je l'ai vu l'autre nuit, c'est vrai, toute la chose. Leur pasteur couché dessus, en train d'embrasser un cadavre, de faire l'amour avec lui. Il disait, de toute manière, ils n'ont plus de temps, tout est là. Donc, je vous donnerai ça un jour sur bande, voyez? Bien. Dieu a planté son arbre pour porter un fruit spirituel, les fruits de l'esprit, pas vrai? Mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a toujours essayé de lui donner une forme artificielle. Il l'a fait autrefois, il l'a fait maintenant. Bon, ceci maintenant, tirons à boulet rouge et vite. L'homme a toujours essayé de prendre l'Église spirituelle et de lui donner une forme artificielle. Luther avait une église spirituelle. Qu'est-il arrivé? Dès que Luther est mort, ils lui ont donné une forme artificielle. Qu'a fait Wesley? John Wesley, un grand homme de Dieu. Qui pourrait dire que John Wesley n'était pas un homme de Dieu? Qu'a-t-il fait? Dès que lui et que John et Charles sont morts, ils ont organisé. Quand elle s'est organisée, elle est morte. C'est exact. La même chose au cours de l'âge, chaque fois pour chacun. Ils ajoutent quelque chose d'artificiel, de bonnes œuvres, la plus grande assemblée, les gens les plus intelligents, les célébrités de la ville veulent se joindre à nous. C'est exactement ce qui vous est arrivé à vous, bande de pentecôtistes. C'est exact. Vous avez levé les barrières, vous êtes éloigné de l'esprit, vous avez voulu de grands bâtiments, de belles choses, et tout comme ça, ils ont des pasteurs très dignes. Qu'avez-vous fait, vous les mères? Vous avez envoyé vos fils au séminaire pour devenir pasteurs. Que leur ont-ils enseigné? La théologie et toutes sortes de choses humaines. Et où en est-on aujourd'hui? Quand ils reviennent, c'est un tas de Ricky et d'Elvis. C'est tout à fait exact. Qu'a-t-on fait aujourd'hui? Qu'a-t-on aujourd'hui? Un tas de bêtises, une apparence de piété. La Bible dit que dans les derniers jours, ils auraient une apparence de piété, mais renieraient ce qui en fait la force, la vie. Pourquoi? L'asile l'a complètement sucé. C'est vrai, l'organisation l'a ôté. 1 Timothée 3, Paul dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, hautains, fanfarons, blasphémateurs, rebelles, ingrats, irreligieux, insensibles, intempérants, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, ayant l'apparence de la piété et reniant ce qui en fait la force. » L'asile l'a complètement sucé. Le Gélexie attaqué il y a longtemps. Nous allons en finir avec cet arbre et nous arrêter là dans un petit moment, si le Seigneur le veut. L'endroit le plus grand, oh, bien sûr, eh bien, vous savez, l'année dernière, notre Église a reçu tellement d'argent, oh, bien sûr. L'Église catholique vous a battu 2 millions de kilomètres, certainement. Elle a même tellement récolté en Russie qu'ils l'ont chassé et ont établi le communisme. Ils ont fait la même chose au Mexique. Ils devraient le faire dans le monde entier, partout où elle est. C'est vrai. Surtout, ne craignez jamais le communisme. Le communisme est un mouvement impie, mais on entend certains prédicateurs se tenir à la chair et condamné. Le communiste, je n'y crois pas non plus. Mais ils disent à leur église, oh, nous allons tous être engloutis. Le monde entier va devenir communiste. C'est tout à fait contraire à la parole de Dieu. Il est dit nulle part dans la Bible qu'il en serait ainsi. Mais la Bible dit que le romanisme, l'église catholique, va l'engloutir le monde. Prenez Daniel et vérifiez. La tête d'or, le roi Nebuchadnezzar, le royaume babylonien, les Mèdes et les Perses lui ont succédé. L'Empire grec a succédé à ça. Et Rome est allée jusqu'à la fin. Ces 10 orteils se retrouvent dans chaque royaume sur la terre. Surtout, il y a un rideau de fer. Il y a un rideau de bambou. Il y a un rideau de pourpre. Frères, surtout, ne craignez pas les autres, mais surveillez ce rideau de pourpre. Elle est assise ici sur le trône aujourd'hui dans ce pays, souvenez-vous, tout comme Achab, la fée Jézabel était derrière lui. C'est la Bible, appelle l'Église catholique Jézabel une prostituée, et Achab n'était pas un mauvais type. Je ne dis pas que M. Kennedy n'est pas quelqu'un de bien, je ne sais rien de lui, c'est un homme, c'est tout ce que je sais, c'est le président. Je crois qu'il fera un bon président, ce n'est pas lui, c'est ce système derrière lui. Attendez qu'elle ait pu s'infiltrer jusque dans le cabinet et partout où elle pourra absorber alors ce qui va. Regardez ce que cela a produit dans les autres nations. Regardez ce que cela a toujours produit. Et la Bible ne dit-elle pas dans Apocalypse 13, le nombre de cette nation, c'est 13. Elle a 13 bandes et 13 étoiles sur le drapeau. 13 bandes sur le drapeau, 13 tout en elle va par 13. 13 colonies, 13 de tout. Et on trouve cela au chapitre 13 de l'Apocalypse. Et la Bible dit qu'elle est montée comme un petit agneau, la liberté de religion, deux petites cornes, civile et ecclésiastique. Après un certain temps, elles se sont unies et il a parlé comme le dragon l'avait fait. Et il a fait tout ce que le dragon l'avait fait avant lui. Et la Bible dit qu'ils ont fait une image à la bête, la Confédération des Églises, exactement ce qu'ils ont ici, maintenant à New York, et cette grande morgue se trouve là-bas. Et vous tous, méthodistes, baptistes et pentecôtistes, et vous tous, gens du monde, de l'économie, de l'écoméniste ici, qui essayez de faire des choses comme ça et qui vendez vos droits d'aînesse pour rejoindre ce groupe de Babylone, qu'est-ce qui se passe avec vous? Certainement, vous vendez vos droits d'aînesse, comme Ésaü l'a fait, pour un plat de lentilles. C'est tout ce que vous allez recevoir, c'est tout. Ils ont formé une image à la bête. C'est exact. Surtout, ne craignez pas le communisme, craignez le catholicisme. Oh, il est dit qu'il s'introduisait par des flatteries comme un agneau. Mais il est dit, surveillez-le, derrière lui, c'est un loup. Il est sournois. Surveillez-le, oui, monsieur, parce que c'est contraire à la parole. Ce que la parole dit s'accomplir. Le communiste ne fait rien d'autre que de faire le jeu de Dieu, c'est exact. Et pourquoi doivent-ils faire ça? Il fallait que Dieu permette le communisme afin que ses choses, sa parole, s'accomplissent. Certainement. C'est... Vous en êtes-vous rendu compte? Y avez-vous déjà pensé? Dieu doit faire en sorte que sa parole s'accomplisse. Regardez, un jour, 400 prophètes se sont tenus là devant Achab. Et Josaphat, un homme juste, il a dit, « Mais avant que nous montions à Ramoth en Galiade, il a dit, ne devrions-nous pas consulter l'Éternel? » Achab a dit, « Oui, bien sûr, vous voyez, Jézabel derrière tout ça, vous savez. » Il a dit, « Nous, j'ai ici 400 prophètes, nous allons les faire venir. » Tous des braves gens, on les a fait venir, ils ont tous prophétisé, ils ont dit, « Monte, l'Éternel est avec toi. » Ça ne sonnait pas juste pour cet homme pieux, le roi d'Israël ou le roi d'Israël là-bas. Ça ne sonnait pas très juste pour lui. Il a dit, n'y en a-t-il pas un autre? 400 prédicateurs, déjà tous d'un même accord, qui disaient, monte, l'Éternel nous a dit, déjà parlé, il a dit, monte. Il a dit, mais il devrait y en avoir encore un quelque part. Il a dit, j'en ai un, mais je l'ai. Bien sûr, absolument, oui. Il a dit, il crie toujours après moi. Il dit toujours du mal de moi. Comment pouvait-il faire autrement alors que la parole de Dieu était contre lui? Alors, ils ont envoyé chercher Michée. Michée a dit, monte. Oui, c'est vrai, mais j'ai vu Israël dispersé comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il est bien, ce grand prédicateur s'est avancé, l'évêque, et il a frappé sur la bouche. Il a dit, où est l'Esprit de Dieu est-il allé quand il est sorti de moi? Alors, il a dit, pour commencer, il n'était pas en toi. Et donc, tu verras un de ces jours. Il a dit, Achab a dit, remettez-le dans la prison intérieure, nourrissez-le du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. Il a dit, quand je reviendrai en paix, je traiterai avec cet individu. Il a dit, si jamais tu reviens, alors la parole de Dieu n'a pas été adressée. Pourquoi? Pourquoi? Il était en parfaite harmonie avec la parole, en parfaite harmonie avec la parole. Toute prophétie qui ne s'en tient pas à cette parole, c'est exact. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que peu importe que cela fasse bonne impression, combien de prédicateurs disent ceci, cela ou autre chose, le communisme va s'emparer du monde et le précipitateur. N'essayez jamais de combattre le communisme, combattez le romanisme, car ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur a dit que c'est le romanisme qui va diriger, pas le communisme. Il n'est qu'une marionnette. Mais voyez, il devait faire cela. Le Seigneur avait dit à Michée, il faut que j'envoie Achab là-bas. Il faut que ces prédicateurs disent ça pour envoyer Achab là-bas afin que les paroles d'Élie s'accomplissent. Dieu devait laisser apparaître le communisme. Qu'est-ce que cela a produit? Ils ont réuni toutes ces morgues ici et formé une confédération d'églises à laquelle se rattacher pour faire une image à la bête. Exactement ce que sa parole avait annoncé. Ne vous inquiétez pas de cela. Observez ce qui va chapeauter cette chose en cours de formation. Je pense que je vous fatigue avec ça. Mais c'est vrai, je ne sais pas quand je pourrai de nouveau vous parler, peut-être jamais. Nous ne savons pas, il se peut que nous ne nous rencontrions plus jamais. Mais je veux que vous sachiez que c'est la vérité. Observez cette parole, c'est la vérité, pas moi, cette parole, c'est ça. Si ma parole est contraire à ceci, alors ne croyez pas, croyez cela. Alors si vous dites, eh bien, nous avons cela, et vous prêchez contrairement à cela, alors c'est votre devoir de venir vers moi. C'est vrai, c'est votre devoir de venir vers moi, voyez. Venez tout simplement et voyons ce qu'est la parole, bon. Maintenant, nous voyons donc ce qu'il en est. C'est le communiste qui se rassemble. Dieu a dit, Gog et Magog, là, vont se rassembler certainement pour la guerre. C'est tout à fait vrai, parce que ça va réunir ses forces. Cela doit arriver. La Bible l'a annoncé. Dieu a planté cet arbre pour porter son fruit spirituel. Et l'homme a toujours essayé de lui donner une forme artificielle, ayant l'apparence de la piété. Les plus grands bâtiments de la ville, bien sûr, des millions de dollars. Oh, miséricorde, et des gens qui prêchent que Jésus revient. Ils dépensent 6 à 8 millions de dollars pour un bâtiment quelque part. Et des missionnaires, je connais des missionnaires sur le champ de mission, qui prêchent l'Évangile sans chaussures, aux pieds, qui mangent 2 repas par semaine. Pouvez-vous voir pourquoi, frère? Qu'est-ce qui se passe avec les gens? En fait, je ne crois pas qu'ils croient qu'il revient. Vos paroles parlent, eh bien, votre vie parle plus fort que vos paroles, voyez. Ces petits missionnaires, quand j'arrive comme ça à mes réunions, pas de chaussures aux pieds, son pantalon attaché comme ça autour de la taille, il vit là-bas avec des puces, des amibes, des bestioles et toutes sortes de maladies et tout le reste là-bas, des mains tout abîmées, il est rongé par les amibes et tout le reste, il se tient là et dit, vous, frère Branham, j'ai dit oui. Il a dit, oh, soyez bénis, je prie toujours pour vous. Je me dis, oh Dieu, que cet homme prie pour moi. Oui, ça, c'est le gars qu'il faut, c'est celui-là. Je les lis, vos articles, frère Branham, vous êtes vraiment la vérité. Nous sommes entièrement avec vous. Oh, frère Branham, c'est le garçon qu'il faut, c'est bien lui, pauvre petit gars. J'entends quelqu'un dire, vous savez qui c'est? Oh, il dit, il n'est pas membre de notre organisation. Ah oui, qui est-ce? Mais il n'est pas avec nous. Eh bien, qu'est-ce? Oh, c'est un indépendant. Oh, vraiment? Hein? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a une petite œuvre là-bas et il ne veut pas se joindre à nous. Eh bien, j'aimerais savoir quelque chose à son sujet. Vous savez, quand j'étais un jeune garçon, que j'allais chercher des pommes au verger, je trouvais toujours l'arbre sous lequel il y avait tous les bâtons, vous savez. On l'avait secoué bien fort, c'est là qu'étaient les bonnes pommes. Il disait, eh bien, ce n'est qu'un illuminé. Vous savez, on place toujours un épouvantail à l'endroit où se trouve le bon arbre. Le diable fait la même chose pour vous épouvanter, vous en éloigner. Ne vous en faites pas. Entrez là et passez derrière cet épouvantail. Un jour, j'observais une marmotte qui mangeait des haricots blancs que j'étais en train de planter. Et chaque fois que je plantais une rangée de haricots blancs, ce petit animal sortait et les mangeait tous. Je me suis dit, je vais lui faire une peur bleue. Alors, je me suis procuré un sac en papier. Je me suis vraiment un artiste, vous devriez me voir. J'ai dessiné ce que je pensais être une image effrayante. Oui, elle était effrayante. Et comme pour moi, qu'il avait dessiné, je l'ai mis sur un sac et j'ai mis un haricot blanc dedans et je l'ai suspendu à une perche. Et quand le vent soufflait, il s'agitait comme ça. Du trou est sortie une petite marmotte, vous savez. Elle a couru par ici et par là tout en mangeant ses haricots blancs. Et elle a couru en plein contre ce sac. Elle a reculé, elle l'a regardé, elle a inspecté comme ça. Elle lui a sauté contre. Elle l'a regardé de nouveau, vous savez. Elle l'a inspecté encore une fois. Elle l'a regardé derrière. Elle a vu toute cette rangée de haricots blancs. Ils étaient bons, vous savez. Alors elle a regardé. Cet épouvantail était en travers de son chemin. Alors elle s'est approchée toujours plus comme ça. J'essayais de l'effrayer. Elle ne bougeait pas. Elle ne vous inquiétait pas. Il est mort. C'est comme ça que sont tous ces épouvantails. Ce qu'elle a fait, elle a pris sa petite patte. Elle a frappé le sac. Ça a fait du bruit. Elle a bondi en arrière. Elle l'a regardé comme ça. Elle l'a frappé de nouveau. Et ça l'a encore fait du bruit. Ça n'a rien fait d'autre que du bruit. C'est comme la chouette irlandaise, beaucoup de bruit. Elle forme, elle l'a frappé comme ça et elle a fait du bruit 4 ou 5 fois. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a contourné sa sac, elle continue à manger les haricots. Il ne connaissait plus. Pourquoi? Vous voyez, elle ne s'est pas laissée arrêter par l'éventail. Avez-vous quelque chose de bon derrière l'éventail? Quand ils disent, oh, ce sont des exaltés, contournez ce qui fait peur et allez-y, entrez, allez-y. Vous voyez, il se peut qu'il y ait aussi un peu de Saint-Esprit là, vous voyez? Vous ne pouvez pas savoir. Eh bien, oh, ça, regardons l'asile dénominationnel à l'œuvre, église naturelle, église spirituelle. Observez maintenant ce asile. Quand il en fait une dénomination, il en a déjà dévoré l'écorce et dévoré les fruits. Les frères, tout a disparu. Tous les dons de l'esprit ont disparu. Pas de guérison divine, pas de parler en langue, pas de prophétie, rien. Ils ne croient pas au fait qu'il y a des prophètes. Ils ne croient pas à ces choses. Ils ne savent pas tout. Tout de fabrication humaine. Tout ce qu'ils font est de fabrication humaine artificielle, vous voyez? Bien. L'église naturelle. Il y a une église naturelle. Ça, c'est qui est fabriquée par l'homme. L'église spirituelle. Vous savez ce que la Bible dit de ça? Oui, monsieur. L'église naturelle et l'église spirituelle. Et la Bible dit, chasse l'esclave et son enfant, Hagar, car elle n'héritera pas avec la femme libre et son enfant. Vous voyez? Alors, l'église naturelle qui va hériter, quoi? La ligature des gerbes. Les gerbes seront liées pour être brûlées. Et elle n'héritera pas, ne sera pas héritière avec la femme libre. Si l'esclave est en esclavage avec ses enfants de l'organisation, elle n'héritera pas avec la femme libre, parce que les enfants de la femme libre partent dans l'enlèvement. Et les enfants de l'esclave vont subir le jugement. Vous voyez, ils vont être jetés dehors, oui. C'est elle qui est spirituelle. Oui, monsieur. L'asile, Ésaü, dénominationnel. Donc, Ésaü, il y a Ésaü et Jacob, tous deux, des jumeaux, tous deux religieux. Ésaü était un homme charnel, c'était un homme bon. Il n'a pas dit, eh bien, il ne sortait pas pour voler, boire ou autre. C'était un homme religieux, mais il pensait, eh bien, tant que je suis religieux, qu'est-ce que ça change? Mais le jeune Jacob, peu lui importait comment il allait l'obtenir, ce droit d'aimer, s'il le voulait, peu importait comment il l'obtiendrait, pourvu qu'il l'obtienne. S'il lui fallait s'agenouiller à l'hôtel, crier, pleurer, pleurnicher, il était être tout morveux, excusez-moi. Vous savez, on avoir jusqu'aux yeux, je ne voulais pas dire ça. Excusez-moi, alors s'agenouiller à l'hôtel et pleurer jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Mais il l'a obtenu, vous voyez. Peu lui importait comment il l'obtiendrait, pourvu qu'il l'obtienne. Certains disent, oh, frère Branham, ces gens là-bas, qui se chialent à l'hôtel et qui pleurent, je ne le veux pas comme ça. Eh bien, vous ne le recevrez pas. Ce vieux noir, ce frère de couleur là-bas dans le sud, il était toujours heureux. Une fois, son patron lui a dit, dis donc, qu'est-ce qui te rend comme ça heureux tout le temps, mon garçon? Il a dit, j'ai une religion qui vient du cœur. Ça n'existe pas. Vous avez commis une erreur. Pour autant que vous le sachiez, ça n'existe pas. Lui savait mieux que ça. Il a dit, pour autant que vous le sachiez, c'est comme ça que vous auriez dû le dire. Un jour, il a dit, je veux être un peu de cette religion qui vient du cœur. Quand la voulez-vous? Maintenant, eh bien, allons la chercher. Ils sont sortis. Il a dit, voici un grenier à foin. C'est bien ici. Il est encore ici. Ici, ma femme ne m'entendra pas. Ni autre chose, il a dit, c'est comme ça que les gens le veulent, vous savez, qu'on leur donne sur un plateau, il a dit, on va s'agenouiller ici, le vieux frère a dit, ce n'est pas ici qu'on le reçoit, il dit, alors, allez dans la stalle, il a dit, est-ce que je devrais le recevoir ici, il dit, non, nous irons au séchoir à maïs, non, est-ce qu'on la reçoit, suivez-moi, il a retrouvé ses pantalons, il est entré d'un pas résolu dans l'enclos à cochon, dans la boue, il a dit, venez par ici, c'est ici qu'on le reçoit, je ne veux pas revenir ici. Patron, c'est ce que vous ne voulez pas encore. Vous ne le voulez pas. Vous savez, c'est aussi que Naaman a pensé. Naaman a dit, maintenant, je veux me débarrasser de ma lèpre. Élie a dit, va là-bas au Jourdain boué, là où s'habite dans la Méditerranée. Il a dit, il est vraiment boué, plonge-toi là-bas 7 fois. Oh, Naaman a dit, oh, miséricorde, est-ce que les eaux ne sont pas meilleures dans les environs de Damas et par là où? Oh, là-bas, elles sont belles, claires. On l'a vu l'autre soir ici sur le film, vous savez. Oh, il a dit, mais nous ne voulons pas aller là-bas, en bas. Je ne veux pas aller là-bas. Et tu sais que je suis le capitaine de la garde, je suis le général de l'armée. Eh bien, si tu veux te débarrasser de ta lèpre, descends là-bas, en bas. Mais si tu veux la garder, vas-y, monte là-haut. Il a dit, plonge-toi. Je peux le voir s'avancer dans cette eau. Pouvez-vous imaginer? Oh, son prestige en a pris un coup. Je peux le voir, vous savez, avancer sur la pointe des pieds comme ceci, en se pinçant le nez, vous savez. C'est comme ça que certaines personnes essaient de venir à Christ. J'aimerais bien être guéri, vous savez, j'aimerais bien aller au ciel. Mais oh là là, qu'arriverait-il si les autres me regardent? Ah, hypocrite. De toute manière, vous ne le recevrez jamais. C'est exact, vous voyez. De toute manière, vous ne le recevrez jamais. Ne vous en faites pas. Vous ne le voulez pas encore suffisamment. C'est exact, vous ne le voulez pas suffisamment. C'est tout à fait ça. Mais quand vous serez prêt à le recevoir, vous le recevrez pour sûr. Dieu vous le donnera quand vous serez prêt. Bien. Maintenant, tous les asiles dénominationnels ont dévoré le tout. Remarquez chaque insecte. Chacun de ces insectes, quand il s'attaquait à l'arbre, il a préparé le chemin pour celui qui allait le suivre. Oh, il est intelligent. Oui, monsieur. Voyez, il a ôté les fruits. Voyez, l'esprit. Pourquoi faire? Ôter la communion fraternelle. Voyez, les feuilles. Alors, le suivant est arrivé, il a pourvu à ses propres besoins en ôtant les feuilles. Pourquoi a-t-il fait ça? Il a ôté les feuilles pour que d'autres personnes ne puissent plus y trouver d'ombre ni de fraîcheur et qu'ils puissent entrer dans l'écorce. Voyez, il est entré dans l'écorce en perçant la surface de celle-ci. Il leur a enlevé la doctrine. Voyez, la chose même qui soutient la vie. Et alors, après avoir percé des trous là-dedans, il a fait venir l'individu suivant, le asile suceur qui a pris la dénomination, l'a sucé et l'a organisé de telle manière qu'on ne puisse pas le recevoir. Et qu'est-ce que la vie a fait? Elle est descendue jusque dans les racines. C'est tout à fait ça. Ça a fait descendre directement dans les racines. Bien. Maintenant, le même insecte a percé jusqu'au cœur, jusqu'à ce qu'il arrive à la vie. Il a acheminé à travers le fruit, à travers les feuilles, à travers l'écorce, jusqu'à ce qu'il arrive droit au cœur, à la source d'approvisionnement. Bien. Maintenant, regardons ce destructeur au travail. Le tout premier, je vais devoir sauter une partie de ceci ici. Je crois, non, je ne vais pas le faire. La première chose que cet individu est faite, dès qu'il est arrivé au cœur de l'arbre, observons-le à son premier stade, avant qu'il ait été trop loin. Observons-le. Maintenant, observons-le au travail. La première chose qu'il est condamné, cela a été de détruire le premier précieux et véritable arbre fruitier que Dieu ait eu sur la terre. Maintenant, si vous pouvez me supporter encore quelques instants, je veux que vous saisissiez ceci maintenant. Voici votre message de part qui arrive à présent. Ah oui. La première chose qu'il a faite, il a détruit le précieux premier arbre fruitier de Dieu, Christ. Il était cet arbre du Jardin d'Éden. C'est exact. Le premier arbre fruitier, il l'a détruit. Le premier que Dieu ait planté ici sur la terre, c'était Christ. Il a détruit cet arbre qui portait son fruit. Bon, il avait toutes sortes d'organisations et il tenait ça entre ses mains. Mais quand il est arrivé à un arbre qui portait le fruit véritable, cette bestiole romaine est entrée là-dedans, vous voyez, et a détruit l'arbre. L'arbre, oui, Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père ou n'ai pas les fruits de mon Père, ne me croyez pas. Il portait le fruit de Dieu. Quelle sorte de fruit a-t-il porté? Quelle sorte de fruit? Observons-le quelques instants. Nous en avons parlé bien des fois. Prenons ça en guise de petit préambule pour les gens qui sont assis ici, qui attendent qu'on prie pour eux dans un instant. Quelle est la première chose qu'il ait su quand ils l'ont reconnu comme étant le Messie? Quand Pierre est arrivé vers lui la première fois, c'est André qui l'avait amené là, et il a regardé Pierre et a dit, « Tu t'appelles Simon, et tu es le fils de Jonas. » Il a su immédiatement, d'après l'Écriture, que c'était le Messie. Il y avait eu, savez-vous qu'il en avait eu beaucoup qui s'étaient levés avant ça, d'après l'histoire, qui se faisaient appeler le Messie? Mais aucun d'entre eux n'avait pu faire ceci. Ah oui, parce que le Messie, Moïse avait dit, la parole de Dieu qui ne peut faillir avait dit, était prononcée par Moïse, il avait dit, « Votre Messie sera un prophète comme moi. » Alors, quand cet étranger s'est approché de Jésus et que Jésus a dit, « Voici, tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas », alors Pierre a su immédiatement qui il était. Il a su que c'était lui. Quand Nathanaël est allé chercher Philippe, ou plutôt Philippe est allé chercher Nathanaël et l'a amené là. Nathanaël était un homme important. Vous voyez, un homme important, un homme religieux. Et en faisant, Philippe lui a parlé de ce qu'il avait fait à Simon. Et quand Nathanaël s'est approché, est arrivé en présence de Jésus, qu'est-ce que j'ai déjà dit? Il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a dit, Rabbi, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Voyez? Pourquoi? C'était le fruit. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, il connaissait les pensées mêmes qui étaient dans le cœur. Une fois, une femme a touché son vêtement, puis est partie s'asseoir dans l'assemblée. Jésus a regardé autour de lui et a dit, « Qui m'a touché? » Tous ont nié l'avoir fait. Il a regardé autour de lui et l'a vu. Et elle avait une paire de seins. Il a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Oh là là, cette petite Samaritaine. Maintenant, souvenez-vous, il n'est jamais allé vers les gens des nations comme cela. Non, monsieur, il a dit à ses disciples de ne pas aller vers eux, c'est nous. Ceci est notre jour. Il est allé vers nous sous la forme du Saint-Esprit, comme il a dit qu'il serait. Mais quand il est allé vers eux, qu'est-il arrivé? Quand il est allé vers la Samaritaine, la femme a dit, « Apporte-moi à boire. » Et elle a dit, « Il n'est pas de mise que toi, un Juif, tu me demandes une telle chose à moi, une Samaritaine. » Il avait de la ségrégation en fonction de leur couleur et tout le reste. Il leur a fait savoir immédiatement qu'il n'y avait aucune différence, que tous venaient du même arbre. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Nous le sommes tous, voyez. Il a dit, « Bien, nous adorons notre père Jacob. » Vous voyez, c'était aussi le père des Juifs, voyez. Notre père Jacob a creusé ce puits. Et tu dis que tu es plus grand que lui? Il a dit, « L'eau que je te donne, c'est la vie éternelle, voyez. » Il a dit, « Nous, eh bien, nous adorons sur cette montagne, et toi, à Jérusalem. » Il a dit, « Va chercher ton mari et viens ici, ça réglera la question. » Elle a dit, « Je n'ai point de mari. » Il a dit, « Tu as dit vrai. » Il a dit, « Tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Elle a dit, « Seigneur, tu sais, cela fait 400 ans que nous n'avons pas eu de prophète, mais tu dois être un prophète. Comment savais-tu que j'avais eu cinq maris? » Elle a dit, « Bon, nous savons que c'est le temps pour le Messie d'être ici, celui qu'on appelle le Christ. Et quand il viendra, il nous annoncera ce genre de choses. Oh, voilà ses fruits. » Il a dit, « Je le suis. » Elle a laissé la cruche, la vieille cruche de l'organisation. Elle est allée dans la ville, peu importe combien de puits Jacob avait. Elle avait trouvé une nouvelle source. Elle est allée dans la ville. Elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie lui-même? Ceci n'en serait-il pas le fruit? Ceci ne serait pas la preuve que c'est le Messie? » Les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela. Ils ont dit, « C'est un diseur de bonne aventure, Belzébul. » J'ai déjà dit, « Je vous pardonne à vous, mais un jour, le Saint-Esprit va venir faire la même chose. Et si vous parlez contre cela, cela ne vous sera jamais pardonné, voyez? Alors, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, croyez, ne me croyez pas. Mais cet arbre fruitier portait les fruits. » Alors quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, quelle sorte d'église a-t-il établi? Maintenant, vous les catholiques qui voulez dire que Jésus a établi une église, quelle sorte d'église a-t-il établi? A-t-il mentionné une foi, une dénomination, un credo? Il a toujours été contre cela. Il a dit, vous, murailles blanchies, vous, ossements de mort, il les a appelés de tous les noms dont il pouvait les appeler. C'est vrai. Il était contre cela. C'était le fruit de Dieu. Maintenant, vous pouvez faire en sorte que deux et deux fassent quatre, si vous voulez, bien. Il était contre la chose, l'organisation, contre leur théorie. Il les a appelés hypocrites, serpents dans l'herbe. Il a dit qu'il était des démons. Il a dit, vous avez pour père le diable et vous ferez ses œuvres. Lequel de vos pères n'a pas persécuté les prophètes que j'ai envoyés avant moi? Voyez? Il a dit ensuite, vous construisez leur tombe, et il a dit, vous êtes ceux qui les y ont mis. Oh frère, il n'a pas marché ses mots avec eux. C'est vrai. C'était le fruit de Dieu. Qu'était-ce? Tenez-vous-en à la parole de Dieu. Rendez la parole manifeste. À part ça, il a dit, qu'est-ce que les Écritures ont dit que moi, le Messie, je ferai quand je viendrai? Maintenant, si je ne porte pas le fruit de cette parole, alors je ne suis pas le Messie. Mais si je porte le fruit de cette parole que le Messie était censé porter, alors c'est que je le suis. Amen. Alors, qui de vous peut me convaincre de péché? Il a dit, voilà, c'est ça. Laquelle de vos organisations fait la même chose? Voilà, c'est ça. Le Messie était censé faire ceci. Le Messie était censé être un prophète. Maintenant, voyons certains de vous tous. Il a dit, à vous, toutes vos idées prétentieuses, j'aimerais vous voir le faire. Eh bien, ils sont restés silencieux. Bien, qu'était-ce? Et ils portaient le fruit de Dieu. Le Saint-Esprit était en lui. Il portait le fruit de Dieu. Qu'était-il? Maintenant, écoutez attentivement. Je vais me dépêcher autant que possible pour ne pas retarder votre dîner de Pâques. Regardez, mais votre dîner de Pâques devrait être la résurrection, voyez? Mais quoi? Il était l'arbre prophète parfait de Dieu. L'arbre exemplaire. L'arbre époux. Amen. Gloire. Je vais dire quelque chose à l'instant. S'il est l'arbre époux, le croyez-vous, du jardin d'Éden? Alors, l'arbre époux sans la femelle ne porte pas de fruits. C'est pour ça qu'il lui faut un arbre épouse. Elle doit naître du même matériau. La parole faite chair dans l'arbre. J'espère que vous saisissez. C'est la même vie dans cet arbre femelle, dans l'époux, que dans l'épouse. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Pas vrai? Il était l'époux, souvenez-vous. Vous dites, ce n'est pas scripturaire. Aussi, j'ai saisi ça maintenant. Vous voyez, nous allons avoir un service de guérison dans un instant. J'ai saisi ça. Il l'était. Vous en voulez la preuve? Il a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Jean l'a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Vous portez le fruit, vous voyez? Et l'arbre mâle et l'arbre femelle se transmettent le pollen l'un à l'autre et cela produit le fruit. Le sarment et le cep font la même chose. Vous voyez? C'est tout à fait ça. C'est ce qu'il y a de bon, dit de bon. Bon, sa première arbre était un arbre prophète. Un arbre parfait, le Dieu des prophètes. Il était l'arbre majeur. Il était l'arbre prophète parfait, approprié de Dieu. Pourquoi? Il était la parole. Maintenant, les autres étaient des prophètes mineurs. La parole est venue au prophète. Mais lui-même, il était la parole sous la forme d'un prophète. Amen. Maintenant, nous arrivons quelque part. Maintenant, écoutez vraiment attentivement. Ne manquez pas ceci. Maintenant, c'était tellement bon que je l'ai noté ici. Amen. Quelqu'un crie de joie, fait crier son klaxon de joie là-bas, dehors. Ah oui, oh, j'espère que vous passez de bons moments là-bas, dehors. C'est le cas pour nous, ici, à l'intérieur. Bien. Donc, il était l'arbre prophète de Dieu. Pourquoi? Il a prêché toute la parole de Dieu parfaite. Car il était la parole de Dieu manifestée. Il était l'arbre prophète parfait qui a prêché la parole prophète parfaite, qui a produit le fruit prophète parfait par la parole de Dieu parfaite. Oh frère, vous parlez d'un arbre. Un arbre. Il était cet arbre de vie dont l'ange tenait Adam et Ève éloignés avec des chérubins qui montaient la garde pour les tenir éloignés de cet arbre. Maintenant, les mêmes chérubins essaient de les faire accourir auprès de lui parce qu'un chemin a été préparé pour eux. Voyez, maintenant, ils se retirent. Oh, les êtres humains. Donc, il a prêché toute la parole. Il n'a pas retranché ici ou là. Quand Satan est venu vers lui, ce grand théologien qui l'a dit, il est écrit. Jésus a dit, oui, il est ici. Il est aussi écrit. Ah, mais il est écrit. Il a dit, il est aussi écrit. L'arbre prophète parfait, prêchant la parole parfaite du prophète, accompagné des signes parfaits du prophète, des résultats parfaits du prophète, des fruits parfaits de l'esprit. Et par dérision, maintenant, je vais parler assez rapidement, en effet, par dérision, ils l'ont pendu à, il était la parole, vous savez, ils l'ont pendu, l'arbre parole, ils l'ont pendu à un arbre romain fabriqué par l'homme. Frère, j'espère avoir touché juste. Lui, le parfait arbre spirituel de Dieu, ils l'ont pendu à un arbre romain fabriqué par l'homme. Amen. C'est pareil maintenant. Il essaie de prendre l'arbre parfait de Dieu, la parole, et la mélange et la suspende là-haut à un credo quelconque. La mort et la vie ne se mélangent pas. Jésus n'a jamais assisté à un service funèbre. Il ressuscitait les morts. Pourquoi? La mort et la vie ne peuvent pas cohabiter. Elles sont opposées l'une à l'autre. Il n'a pas prêché de funérailles, il les a simplement ressuscités. Amen. Oui. Pourquoi? La vie et la mort. Maintenant, regardez, ils l'ont pendu à un arbre, pas vrai? Maudit est quiconque est pendu au bois, pas vrai? La Bible dit, maudit est quiconque est pendu à n'importe quel bois fabriqué par l'homme. Alors, si aujourd'hui, vous essayez de vous suspendre à une espèce d'arbre fabriqué par l'homme, libérez-vous-en. Ne laissez pas non plus vous pendre là, parce que c'est l'endroit pour les morts. Une organisation fabriquée par l'homme, luthérienne, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste, c'est exact, un arbre fabriqué par l'homme. Ne restez pas pendu là, ne le laissez pas non plus vous pendre là. Ils vous pendront là, s'ils peuvent, jusqu'à ce que toute la vie soit sortie de vous, jusqu'à ce que vous reconnaissiez leur doctrine. C'est exact. Mais c'est là qu'ils ont pendu cet arbre parfait, l'arbre fruitier parfait de Dieu, pendu à un arbre romain fabriqué par l'homme. C'est ça. C'était une malédiction d'être pendu à un arbre fabriqué par l'homme. Pourquoi? Pour se débarrasser de lui et ne plus le voir après qu'il eut porté tous les fruits. Après que Marie-Madeleine dit l'histoire, eut couru au-devant d'eux et dit, « Qu'a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? » Elle a arrêté la procession. Elle a dit, qu'a-t-il fait de mal? A-t-il fait autre chose que de prêcher l'Évangile aux pauvres? A-t-il fait autre chose que de guérir les malades, ressusciter les morts? Et les signes même du Dieu vivant sont en lui. Comment pouvez-vous le condamner? Et ils l'ont frappé sur la bouche et ont dit, allez-vous écouter cette femme de mauvaise vie plutôt que votre sacrificateur, voilà, votre évêque? Voilà, c'est pareil aujourd'hui, c'est vrai. Oui. Maintenant, après avoir fait tout cela et démontré ce qu'il était, après le leur avoir présenté, il a dit, « Si ce n'est pas moi, alors vous, qui êtes-vous? Si vous pouvez me condamner de péché, si quelque part dans la parole, j'ai tort, montrez-le-moi. Maintenant, laissez-moi vous montrer où vous avez tort. » Voyez, le péché, c'est l'incrédulité, nous le savons. Alors, pour se débarrasser de lui, ne plus le voir, il le haïssait tellement parce qu'il démolissait toute leur organisation. Pour se débarrasser de lui, ne plus le voir, ils l'ont enterré et ont roulé une énorme pierre dénominationnelle devant la porte pour s'assurer qu'il n'allait pas ressusciter, voyez? Oh là là! Pensez à cet arbre parfait. David y a repensé et l'a vu. Il a dit, il est debout près des courants d'eau. Il donne son feuillage en sa saison, et son fruit ne sera pas perdu. Il ne se flétrira pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il était le fils de la prospérité. Joseph était un type de lui. Il était l'antitype de Joseph. Oh, que Joseph aille, cela prospérait. C'est pareil pour Jésus, sa parole. Ma parole prospérait. Elle ne retournera point à moi sans effet. Elle accomplira ce que j'ai résolu pour elle. Vous voyez, il était la parole. La parole a été envoyée à la terre par Dieu, et elle accomplira exactement ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Mais bon, alors, écoute attentivement. Cela devient riche avec de la crème par-dessus. Maintenant, remarquez, le voici qui vient. Maintenant, il, pour ce qui est des œuvres de Dieu, justement, quand il s'est tenu là, il leur a posé la question, il a dit, si je ne fais pas les œuvres que Dieu a dit que je ferais, alors je ne suis pas lui, ne me croyez pas, mais si je les fais, alors croyez les œuvres. Et si vous ne pouvez pas me croire en tant qu'homme qui fait ceci, alors croyez les œuvres que je fais. Elle rend témoignage de moi, elle parle plus fort que ce que ma voix pourrait faire, c'est vrai. Et la même chose peut s'appliquer chaque fois. Oui, monsieur, certainement. Maintenant, remarquez, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Par contre, si je fais les œuvres, croyez-moi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce précieux arbre, ils l'ont coupé, ils l'ont pendu à un arbre fabriqué par l'homme. C'est vrai, ils l'ont coupé, ils en ont retranché la vie, ils l'ont pendu à un arbre fabriqué par l'homme pour le tourner en dérision. Ensuite, ils n'ont pas aimé ça. Il y avait trop de personnes qui s'étaient là à crier à ce sujet, alors ils l'ont enlevé de là. Ils ont dit, nous allons surveiller notre dénomination de très près pour qu'ils ne fassent jamais venir s'exalter ici. Alors, ils l'ont mis en vitesse dans un trou appartenant à Joseph d'Arimathée, et ils ont roulé une énorme pierre. Il a fallu une centaine d'hommes pour la rouler là. L'autre soir, avez-vous vu sous l'image de large passage où ils ont roulé la pierre? Elle pesait des tonnes. Ils ont roulé là-bas la grosse pierre de leur organisation pour qu'ils ne puissent pas ressusciter. Mais est-ce que cela l'a retenu? Non. Mais je rétablirai, dit l'Éternel. Mettons ce texte et faisons-le pénétrer. Je rétablirai, dit l'Éternel. Je le rétablirai en 3 jours, je le ressusciterai. Ils n'ont pas pu le cacher dans ce rocher. Ils n'ont pas pu le cacher loin de leur regard. Ils n'ont pas pu se débarrasser de lui. Je le rétablirai, dit l'Éternel, et en 3 jours. Il est ressuscité. Il a été rétabli. Après Pâques, après sa résurrection, il a dit, « Allez par tout le monde et je vais aller avec vous. Comme le Père vivant m'a envoyé et qu'il est en moi, moi aussi je vous envoie et je serai en vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les œuvres, la même chose que j'ai faite pour prouver ce que j'étais, vous ferez les mêmes choses pour prouver ce que vous êtes. » J'aime ça. Voici les signes qui accompagneront ceux qui sont des croyants. Pas des soi-disant croyants, mais des croyants, voyez. Vous ferez les choses que je fais et cela confirmera que vous êtes un croyant, tout comme les œuvres que j'ai faites parce que le Père vivant vit en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père. Et ce ne sera pas vous qui ferez les œuvres, ce sera moi en vous qui ferez les œuvres, voyez. Maintenant, allez par tout le monde. Autrement dit, vous allez former ce que moi je connais comme épouse, voyez. Bien, j'irai avec vous. Et vous serez une partie de moi, vous serez mon épouse, ma vie sera dans votre corps, tout comme un mari et sa femme sont une seule personne. Vous et moi allons être un. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et que je suis en vous et que vous êtes en moi. Oh, comme j'aime ça. Cela racle tellement Satan. Voyez-vous l'unité de Dieu? Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ, et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Voilà, c'est ça, ça l'a fait qu'ils sont tous un. Maintenant, regardez, bon, l'épouse, ils sont un arbre de vie. Autrement dit, comme mari et femme sont un, Christ et son épouse sont un. C'est la même chose, le même esprit, les mêmes œuvres, les mêmes signes, tout le reste. Car vous ferez aussi les œuvres que je fais. Combien de temps? Tout le monde. Jusqu'à quel point? À toute la création. Pas vrai? Oh, maintenant, écoutez attentivement. On va tirer une cartouche magnum. Le asile romain s'est mis à dévorer cet arbre épouse jusqu'à ce qu'ils atteignent les racines. Le même arbre romain, quelle sorte d'arbre a abattu Christ? Quelle sorte d'arbre a abattu l'épouse de Christ? Comment? En substituant quelque chose à la parole. Alors, vous voyez, l'Église protestante qui n'accepte pas la parole de Dieu est une fille de l'Église romaine. Dieu n'a jamais organisé l'Église à aucun moment. L'Église catholique romaine a été la première organisation et toutes celles qui s'organisent sont ses filles. Elle meurt avec elle. La Bible dit qu'il consumerait ses enfants par le feu. Combien savent ça? La Bible le dit. Eh bien, la Bible dit que le blé et l'ivraie croîtraient ensemble jusqu'au dernier jour et qu'alors il lirait l'ivraie. Pas vrai? Premièrement, il la brûlerait. Et le blé irait dans le grenier, pas vrai? L'ivraie se lie elle-même dans une organisation, la Confédération des Églises, pour l'embrasement atomique. C'est tout à fait exact. Mais l'Église se prépare pour aller dans le grenier, aussi sûr que 2 et 2 font 4, dans l'enlèvement, car la femme libre n'héritera pas avec l'esclave. Ouh, frère Anthony. Oh, nous attendons le venu du millénium, jour béni, où notre Seigneur viendra chercher son épouse qui l'attend. Oh, mon âme est remplie d'allégresse alors que je travaille, veille et prie, car notre Seigneur revient bientôt sur terre. Alléluia. Oui, monsieur. Oh, il brûlera l'ivraie et le blé, il le prendra dans le grenier. Le asile romain a commencé à dévorer cet arbre à l'époque de Paul. Il a dit, je suis persuadé. L'Écriture ici, qu'après mon départ, il s'élèvera du milieu de vous des hommes, frères, avec des vêtements comme des peaux de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups, et ils entraîneront beaucoup de gens après eux. Car l'esprit de l'Antichrist dont vous avez appris la venue dans le monde est déjà dans le monde. Maintenant, il agit dans les enfants de quoi? La rébellion. La rébellion à l'égard de quoi? La parole. Voilà, c'est ça. C'est le début de l'organisation. Voyez ce que je veux dire, mes amis? Que tous ceux qui voient ça disent « Amen ». Il a commencé à dévorer. Qu'est-ce que cela a fait? Ce asile s'est mis au travail, ce Gélec, ce Joël l'a vu. Maintenant, écoutez, nous approchons vraiment de la fin. Joël l'a vu. Il a dit, ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce que la sauterelle a mangé, alors le Gélec l'a pris. Ce que le Gélec a laissé, eh bien, le asile l'a pris. C'est ce qu'il a dit. Et c'est tout à fait ça, c'est l'arbre de Dieu. L'arbre, il l'a abattu. ce gelec. Bien, l'asile romain s'est mis à dévorer cet arbre épouse et est allé jusqu'aux racines. Il l'a coupé jusqu'à la base et tout. Il a coupé l'arbre entièrement, comme il l'a fait pour Jésus-Christ, l'époux. Il a coupé l'épouse jusqu'en bas. Il a commencé à introduire des credos et des dénominations. La même bestiole. Mais quoi? Oh, gloire! Mais dans ses racines se trouvait la semence prédestinée, la semence royale d'Abraham. Elle ne peut pas mourir. La parole était dans les racines de la promesse. Je remplacerai, dit l'Éternel. Quoi? Toutes les années que le asile a coupé, tout ce que la sauterelle a dévoré, tout ce que les autres bestioles ont dévoré, je le restaurerai, dit l'Éternel. Maintenant, comparez ceci avec dimanche dernier et le dimanche d'avant, ce message-là. Maintenant, écoutez attentivement, tandis qu'on arrive à la fin. Regardez bien. Je restaurerai, dit l'Éternel, tout ce que les bestioles ont dévoré. J'en ramènerai là chaque partie. Maintenant, restez tranquille quelques instants, si vous pouvez, et écoutez attentivement. Préparez-vous et priez de tout votre cœur que Dieu vous le révèle. Alors, la promesse de Dieu a commencé à restaurer, car Dieu a dit qu'il restaurerait cela de la même manière qu'il a révélé cet arbre épouse. L'arbre époux, il relèvera l'arbre épouse parce qu'il y en aura un là-bas, aussi sûr que deux et deux font quatre. Maintenant quoi? Bien, alors la promesse de Dieu commence ainsi. « Je remplacerai, dit l'Éternel, tout ce que la sauterelle a dévoré, l'asile. » Comme au début, quand il a construit cette première église. Maintenant, je vais aborder quelques doctrines. Si vous ne voulez pas les croire, libre à vous. Mais vous, vous feriez mieux d'abord de sonder cela. Voyez, remarquez. Comment a-t-il fait pousser cet arbre au départ? Oh là là, cela me fait tellement de bien. Je sais quand je parle que je n'ai pas vraiment l'air de ministre qui se tient ici comme ceci, mais j'aime ce dont je parle. Voyez ce que je veux dire. Et maintenant, remarquez, comme au début, quand il a commencé cette première église que le asile romain a dévoré et le gélec et les autres, il a commencé avec la justification par la foi. Jean-Baptiste, dans Jean 13, ou le chapitre 17, le verset 17, Jésus a dit, « Sanctifie-les, Père, par la vérité, ta parole est la vérité. » La seconde œuvre, c'était la sanctification pour l'Église. Après la justification, c'était la sanctification. Et après qu'ils eurent été sanctifiés, il leur a demandé de rester dans la ville de Jérusalem, Luc 24, 49, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et là, il a donné naissance à l'arbre, le Saint-Esprit, la Pentecôte, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et alors, Christ est venu pour habiter en lui, pour qu'il produise les fruits. Amen. Pas vrai? Jean a prêché la justification. Maintenant, regardez. Dans, cela constitue la naissance naturelle. Quand une femme donne naissance à un bébé, écoutez ceci, quelle est la première chose qui arrive à une femme? Qu'est-ce que, qui jaillit? En premier, c'est l'eau. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, la justification. Quelle est la seconde chose qui arrive à la femme? Le sang, pas vrai? Le sang, la sanctification. Ensuite, quelle est la chose suivante? La vie, l'eau. Le sang, l'esprit, Jean ou 1 Jean 5, 7, 7, 5, plutôt, je crois, dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole, qui est le Fils, et le Saint-Esprit, ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'esprit. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit, mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Et puis ça, frère Nazaréen, ils avaient été sanctifiés par Jésus-Christ 1 an et 6 mois avant que le Saint-Esprit vienne. Pas vrai? Ils ont été sanctifiés par Jésus-Christ. Maintenant, comme il a fait pousser le premier arbre épouse que la sauterelle et le gazan ont dévoré, il restaure aussi le second arbre. Il le fait sortir des racines prédestinées qui ne peuvent pas mourir. Il se trouve près des eaux. Il vit dans ses eaux, il n'a pas pu se montrer, mais il est quand même là. Maintenant, cela commence à remarquer le même insecte, comme il restaure la même chose de la même manière. Le premier, quand cet arbre a commencé à sortir du catholicisme, c'était Martin Luther qui a prêché la justification. Le second ange, c'était John Wesley qui a prêché la sanctification. Luther a prêché la justification. Le juste vivra par la foi. Wesley a prêché la sanctification, la seconde œuvre bien précise de la grâce. Et ensuite est venu le Saint-Esprit. Comme il a fait grandir l'arbre la première fois ici, il le restaure de la même manière la seconde fois. Vous voyez ça? Remarquez, le même insecte, ce petit vaurien, le même insecte qui a commencé et a tué l'arbre au commencement, a recommencé tout de suite avec ses branches luthériennes. Mais quoi? Il ne peut pas le tuer. Il ne peut pas le tuer parce que Dieu a dit, « Je restaurerai ». Cet insecte a commencé avec Luther pour tuer toutes les branches luthériennes. De là, il est allé directement vers Wesley et a tué toutes les branches wesleyennes. Mais la partie principale de l'arbre continue à se développer. Maintenant, remarquez, dans le temps, quand l'arbre a été tué, il a été tué. Cela est allé jusqu'aux racines quand il l'a tué à cette époque-là. Mais cette fois-ci, parce que la parole est prédestinée, rien ne va l'arrêter. Dieu a dit, je restaurerai. Peu importe combien ils s'organisent, combien ils font ceci, cela ou autre chose, je vais le restaurer. Ça règle la question. Tous les rires, les moqueries, les railleries, les appellations d'exaltés, de ridicule, tout ce que vous voulez, Dieu a quand même dit, je restaurerai, dit l'Éternel, aussi sûr qu'il a ressuscité Jésus de la tombe en 3 jours, en 3 dispensations ou 3 sections, il va élever de nouveau l'Église jusqu'à sa plénitude et sa puissance. Je restaurerai, dit l'Éternel. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce asile a commencé à dévorer et à avoir la même sorte d'effet qu'il avait eu, mais qu'a-t-il fait? Il a seulement eu les branches luthériennes. Il n'a jamais eu l'esprit là derrière que Luther avait, car il a continué à vivre. Ensuite est venu Wesley. Et après la mort de Wesley, ce grand prophète, après la mort de Wesley, qu'ont-ils fait? Ils se sont organisés et toutes les branches sont mortes. Mais qu'a-t-il fait? L'Église a continué à vivre, à progresser jusqu'à la Pentecôte. Quand ils se sont organisés, qu'est-il arrivé? Les branches sont mortes. Mais quoi? L'Église continue à avancer. Quoi? La même chose que les pentecôtistes ont fait. La même vieille tactique, le credo dénominationnel, qui a pris cela au départ pour détruire l'arbre. L'arbre épouse, au départ, c'est la même vieille tactique que le diable a utilisée pour ce second arbre. Mais quoi? Dieu l'avait prédestiné. Elle doit continuer à avancer sans regarder à ça. Si tout ça, si ça n'était pas arrivé quand Luther s'est organisé, alors réglé la question. Tout serait retourné au point de départ comme une autre. Cela aurait été une seconde église catholique, une église catholique romaine, voyez. Mais Dieu était déterminé à le faire. Il avait déjà prononcé sa parole. Sa loi va faire en sorte qu'elle s'accomplisse. Peu importe combien de gelées tardives, il connaît, il va vivre quoi qu'il arrive. Il se peut que nous ayons des périodes de refroidissement et des divergences dénominationnelles et tout, mais cet arbre va vivre aussi sûrement qu'il a un Dieu vivant pour le faire vivre. Oui, monsieur, il a dit, je restaurerai. Je sais que nous avons un printemps tardif, que la saison de Pâques arrive tard. Le Seigneur tarde à venir, dit-il. Comme ça, et les vents froids ont tué beaucoup de ces branches dénominationnelles, mais ils ne peuvent pas tuer cette vie qui est prédestinée. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Alléluia, c'est écrit dans le livre de vie de l'agneau, et ça ne peut pas mourir. Toutes les bestioles que l'enfer peut lâcher contre elle ne l'arrêteront jamais. Aucune communiste, catholiciste, ni rien d'autre ne l'arrêteront. Je restaurerai, dit l'Éternel, jamais aucun arbre romain de fabrication humaine ne la pendra là. Jamais aucune tombe ne le gardera là. Jamais aucune grande pierre dénominationnelle posée devant la porte ne le gardera à l'intérieur. Je restaurerai, dit l'Éternel. Il y aura un Pâques. Je ramènerai cette même Église avec sa même puissance. Je referai de cette épouse exactement ce qu'elle était à cette époque-là, avec les mêmes signes, le même fruit, la même chose qu'ils avaient. Je la ramènerai. Je restaurerai, dit l'Éternel. Quoi? Je resterai tout ce que les dénominationnels ont dévoré. Je resterai tout ce que l'organisation a dévoré. Je restaurerai, dit l'Éternel, tout cela. Maintenant, vous dites,
I will restore, saith the Lord. All of it.
Qu'en est-il des choses qui sont parties dans la mauvaise direction, dans la dénomination? Dieu est le bon vigneron. Il a émondé l'arbre, c'est tout. Il a coupé toutes les branches mortes. qu'est-ce qu'il va faire? Les brûler là-haut. Exactement. Dieu est le vigneron de cet arbre. Il en prend soin. Il veille sur son héritage. Quel est son héritage? Sa propre parole. Il veille sur sa parole pour la confirmer, pour la surveiller, voir où il peut l'amener. Il va la restaurer. Alors, quand ces églises commencent à s'organiser, des choses comme ça, il les émonte simplement et l'église continue à avancer. Quand les luthériens ont dit « Nous allons devenir une organisation, nous serons aussi grands que les catholiques », bien, il a simplement émondé cette branche, et Wesley l'a conduite plus loin. Il a suscité un autre prophète. Alors, dès que Wesley a fait cela, eh bien, Wesley est mort, ce grand prophète. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé cela. La Pentecôte est arrivée. Dès qu'elle est morte, il a émondé ça. Cela continue à monter. Vous voyez, il va restaurer. Où qu'est-ce que les fruits poussent? Cela ne commence pas ici, en bas au pied. Cela commence au sommet. Où est-ce que le soleil touche l'arbre en premier? Ah, gloire à la lumière du soir au sommet de l'arbre! Pas en bas sur les branches du bas, mais là-haut, au sommet de l'arbre. C'est là que le fruit mûrit. Amen. L'aimez-vous? Amen. Allez-vous le servir? Amen. Croyez-vous en lui? Amen. Certainement, je crois en lui de tout mon cœur. Maintenant quoi? Il va émonder ses vieux cèpes morts alors qu'elle monte tous ses cèpes des organisations jusqu'à ce qu'elle arrive tout au sommet de l'arbre. C'est là qu'il va récolter son fruit. Maintenant remarquez, Dieu les monte. Ils sont morts et n'entreront pas dans la présence de Dieu. Ils ne viendront pas dans la première résurrection, mais ils seront avec le fruit du cèpe originel de Dieu. Ils iront dans le groupe des organisations, mais ils ne viendront pas avec le fruit du cèpe. Maintenant, regardez. Dieu n'a jamais produit d'organisation. C'est l'Église qui met le greffon, une organisation, et Dieu le retranche. Coupe sa source d'approvisionnement. Il porte le fruit de l'organisation. Mais si ce cèpe produit un sarment qui sort du cèpe, il portera la même chose que celui-là. Alors, vous voyez ce qu'était le premier, et Rome a envoyé là-bas ces bestioles qui l'ont dévoré, mais Dieu va en faire pousser un si haut qu'elle ne pourra pas l'atteindre. Il va continuer à monter toujours plus haut. Amen. Allons-y. L'arbre va d'un endroit à un autre, d'une dispensation à une autre dispensation. De Luther, il est allé à Wesley, de Wesley à la Pentecôte. De la Pentecôte, il va à la parole. C'est de nouveau Pâques pour les véritables croyants de sa parole qui ne faillit jamais. C'est Pâques. C'est une résurrection. Dieu a des gens partout. C'est Pâques pour eux. Pourquoi? Ils sont ressuscités. Amen. Ressuscités de ces credos et dénominations. Ils sont montés directement en les traversant. C'est de nouveau Pâques. La semence royale a été cachée dans les racines. La parole a été cachée ici, dans cette parole, pendant des années. Et maintenant, elle a commencé à être révélée. C'est le temps de Pâques prédestiné depuis la fondation du monde. Cette Église commence à se tenir debout. Remarquez comment Dieu a prédestiné au commencement. Eh bien, je vais quand même le dire. Remarquez ici que pour rétablir le premier arbre parfait en 3 jours après sa mort, après la mort du premier arbre, il l'a rétabli en 3 jours. Pas vrai? Il l'a rétabli maintenant. L'arbre épouse va aussi être rétabli en 3 âges. 3 stades, plutôt. 3 stades, il sera rétabli. Maintenant, regardez. Quoi? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Maintenant, remarquez. Après 3 jours, le premier arbre a été restauré comme au commencement en ayant les mêmes signes, les mêmes prodiges. Jésus est revenu, le même Jésus faisant la même chose. À la fin du 3e jour, les signes sont apparus, pas à la fin du premier jour. Oh, frère, j'espère que vous saisissez. Le 3e jour, c'est quand la véritable manifestation de Christ se fait connaître. À la fin du 3e jour, voyez, remarquez, est-ce que vous saisissez? Pas le premier jour, une forme morte. Le 2e jour, il y a eu une rumeur. Vous voyez, pour le deuxième jour, il était toujours mort, Luther, Wesley. Au commencement du troisième jour, une rumeur s'est répandue. Rien le premier jour, Luther. Rien le deuxième jour. Et le troisième jour, la dispensation du Saint-Esprit, une rumeur s'est répandue qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais à la fin du troisième jour, c'est là qu'il s'est fait connaître. Il est venu parmi eux. Il est venu parmi son peuple et a dit, « Regardez-moi, je suis le même. » Ces formes mortes ont continué jusqu'à ce qu'elles arrivent à la Pentecôte. Alors, une rumeur a commencé à se répandre qu'il était maintenant ici au dernier jour. Il est ici avec nous, agissant là parmi nous. À la fin du troisième jour, il est apparu et leur a montré à tous son signe de la résurrection, qu'il était vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement, les fruits vivants de sa présence. Les fruits vivants de sa présence, est-ce que vous saisissez? Ils ont été manifestés tout à la fin du jour, quand il leur est apparu à tous, son Église. Amen. Pourquoi? Ils se sont tous réunis. Oh, amen. À la fin du troisième jour. Les lumières du soir, dit la Bible, brilleraient dans les derniers jours. La lumière du soir est la même lumière à l'ouest que la lumière qui était à l'est. Et la même lumière qui a brillé à l'est, qui a produit la première église que les Romains ont abattue par leur adoration païenne et tout, au temps du soir, c'est la même lumière. Maintenant, remarquez, la même lumière. La lumière du soir, dans quel but est-elle venue? Quel est le but de la lumière du soir? Restaurer! Vous saisissez? La lumière du soir est là dans le même but que la lumière du matin. Restaurer ce qui a été abattu par l'âge des ténèbres, par Rome, Dieu va restaurer en faisant briller la lumière du soir. Quoi? Restaurer de nouveau toute la parole de Dieu. La pleine manifestation de Christ dans son Église. Tout ce qu'il a fait, exactement qu'il l'a fait, cela existerait de nouveau dans la lumière du soir. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et de savoir que nous vivons ici même, pour la voir maintenant, la lumière du soir, exactement selon la prophétie. La lumière du soir est venue pour restaurer quoi? Pour restaurer ce que les bestioles avaient dévoré. Il s'est mis à grandir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont formé une dénomination. Alors, Dieu les a émondés. Il les a liés, les a mis de côté, les a laissés s'organiser. Et puis, les suivants sont arrivés. Il les a liés, mis de côté. L'arbre a continué. Puis, les a liés, mis de côté. Il a dit, bon, un de ces jours, ils seront brûlés. Il les a liés dans leur organisation. Mais alors quoi? Juste au sommet de l'arbre? C'est là que le fruit mûrit en premier, c'est vrai? Juste au sommet de l'arbre? Alors, c'est le sommet de l'arbre, ici, qui voit la lumière du soir. Maintenant, Noé avait trois chambres dans son arche. Une chambre était pour les choses rampantes, vous voyez? La deuxième chambre était pour les oiseaux. Mais la chambre du haut, c'est là qu'il y avait la lumière qui a brillé premièrement. N'est pas du tout venu au premier étage, deuxième étage, mais à l'étage supérieur. L'arbre ne porte pas son fruit premièrement au pied, au deuxième, comme ça. Tout cela a été émondé dans les organisations, mais c'est dans la partie supérieure que je restaurerai, a dit l'Éternel. J'enverrai la lumière du soir. Elle ramènera la parole, la manifestera. Je restaurerai tout ce que j'ai promis. Tout ce que j'ai promis, le même Saint-Esprit ramènera, portera les mêmes signes. J'aurai un Pâques, une résurrection pour l'épouse, la même que j'ai eue pour l'époux. Vous voyez, les lumières du soir viennent pour briller de la même façon que le matin, le même signe, les mêmes choses. La même lumière produira le même fruit qu'ils avaient là si elle brille sur le même arbre. Amen. Cela prouve que sa parole est maintenant accomplie. Je restaurerai, dit l'Éternel. Maintenant, écoutez attentivement. Moi, il y avait, écoutez maintenant. Ne manquez pas ceci. Maintenant, il y avait quatre messagers de mort. Ou préféreriez-vous qu'on termine? Préféreriez-vous qu'on parte tout tôt maintenant? Écoutez vraiment attentivement. Regardez, il y avait quatre messagers de mort qui ont tué cet arbre. Pas vrai? Qu'est-ce que c'était? Le gazam, la sauterelle, le gelec, le asil. Pas vrai? Quatre messagers de démons romains, de dogmes, ont tué cet arbre. L'un a pris son fruit, l'un a pris son écorce, ou a pris ses feuilles, l'un a pris son écorce, l'un a pris la vie. Pas vrai? Quatre messagers de dogmes ont tué l'arbre, tout sauf les racines. Et si quatre messagers de mort ont tué l'arbre, quatre messagers de vie restaurent l'arbre. Est-ce que vous saisissez? Amen. Car Dieu a dit, je le restaurerai. Il va le restaurer comment? Par quatre messagers de mort, ils l'ont tué, alors quatre messagers de vie le restaureront. Qui a été le premier? Martin Luther, la justification. Qui a été le deuxième? John Wesley, par la sanctification. Qui a été le troisième? La Pentecôte, avec la restauration des dons. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Qui a été le quatrième? La parole. Quoi? La parole! Il y a eu quatre grands prophètes. L'un d'entre eux, Martin Luther, il a commencé à faire briller une lumière. Il y a eu une petite lumière avec très peu de force de la justification. Ensuite est venu Wesley plus fort, la sanctification. Après Wesley, sont venus encore plus forts que lui, les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit, dans un autre grand prophète, vous voyez? Mais dans les derniers jours de Malachi 4, Élie doit venir avec la parole elle-même. La parole du Seigneur est venue au prophète. Dans la lumière du soir, il doit venir pour restaurer et ramener quoi? Ramener le cœur des enfants à la foi de Dieu. La quatrième lumière. Quatre tueurs l'ont pris. Quatre messagers l'ont détruit. Quatre messagers de mort l'ont ôté dans des dogmes. Quatre messagers de justice la restaurent de nouveau. Prophétise, fils de l'homme. Ces offres peuvent-ils revivre? Je souhaiterais que nous ayons le temps. Je l'ai noté ici, mais je dois la laisser. Prophétise, ces eaux peuvent-ils revivre? Quels sont les quatre stades par lesquels passe cette église? Quels sont les quatre stades par lesquels passent les ossements desséchés d'Ézéchiel? Mais la vie est venue seulement quand les nerfs ont été sur eux, mais quand le vent a soufflé sur eux. C'est à ce moment-là qu'est revenu ce quatrième message de vie. « Je restaurerai, dit l'Éternel. » Alléluia! Gloire, que Dieu soit loué. La quatrième lumière doit venir, celle qui produira les mêmes signes. Observez, la justification a ramené la partie charnue. La sanctification a ramené l'écorce, la doctrine de la sainteté. Qu'est-ce qui a ramené les feuilles? Les pentecôtistes. Qu'est-ce que c'est? Les pentecôtistes, les feuilles, taper des mains, la joie, se réjouir. Pentecôtistes, quoi? La quatrième était la parole elle-même. La parole faite chair, les fruits de la preuve du signe de la résurrection que Christ a finalement, après que la justification a été plantée, que la sanctification a été plantée, le baptême du Saint-Esprit, les organisations sont mortes et Christ s'est de nouveau placé au centre comme cette coiffe de la pyramide, la première ligne, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, ensuite vient la coiffe. Qu'est-ce que c'est? Ce groupe du Saint-Esprit qui est poli pour pouvoir correspondre à la même sorte de ministère que celui qu'il avait quand il est parti, afin qu'à son retour, cela emmène le tout dans l'enlèvement. Ceux qui ont été justifiés, sanctifiés, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Cette pyramide sera de nouveau debout. La maison de Dieu vivra de nouveau. L'arbre de vie grandit de nouveau. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Signe annoncé par les prophètes. Les jours des nations sont comptés, ils sont remplis d'effroi, retournés aux dispersés vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'Esprit, vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent. Ils nient la vérité de Dieu. Quand Jésus-Christ est notre Dieu. Amen! Mais nous suivrons les traces des apôtres. Car le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes, les bombes atomiques et tout le reste. Mais soyez remplis de l'Esprit, vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Amen. Rétablir tous les signes, le signe de Lot au temps de la fin. Nous avons parlé que Lot, cet ange de Jéhovah, fait chair parmi les gens, était assis le dos tourné à la tente et qu'il a dit, « Où est Sarah, ta femme? » Dans la tente derrière toi. Il a dit, « Je vous visiterai. » Et Sarah a ri. Il a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? » Elle était dans la tente. Amen. Jésus a dit que ce serait pareil à la venue. Oh, alors, la lumière du soir de Malachie 4 vient briller dans les ténèbres. Amen. Pour amener la lumière du soir sur la parole prédestinée. Alléluia! Que doit être ce quatrième message? Que doit faire ce quatrième messager? Il doit faire briller la lumière sur la parole. La parole est prédestinée. Elle doit sortir. Quelque chose doit le faire, car Dieu a dit, « Je restaurerai, dit l'Éternel. Je restaurerai. » C'est exact. La lumière du soir pénètre et brille sur cette parole prédestinée. Oui, monsieur. Au temps du soir, la lumière paraîtra, le sentier de la gloire, là tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés, le Saint-Esprit entrera certainement en vous, car les lumières du soir sont venues. C'est un fait que Dieu et Christ sont un. Les voilà, un ensemble, un en nous. Les mêmes signes que les êtres humains ne peuvent pas faire se manifestent, sortent la parole pour produire la parole de Dieu prédestinée à partir des racines de l'arbre là-bas que toutes les dénominations ont refusé. Mais une lumière viendra, elle apparaîtra. Où ça, là-bas, à Jérusalem? Non, monsieur, les lumières du soir ne vont pas apparaître à Jérusalem. Les lumières du soir vont où? À l'ouest. Ils ont eu leur jour et ils l'ont refusé. Mais la lumière du soir apparaîtra à l'ouest. Dans quel but? Pour briller sur la parole. Quoi? Pour faire mûrir le fruit. Pour produire l'arbre épouse. Avec les mêmes signes, produits et fruits qu'il avait au commencement. Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est exact. Oh! Alors la parole donnera son fruit en sa saison. Il ne se flétrira point, mais il donnera son fruit, a dit David en ses saisons. Amen. Le même fruit qu'il avait au commencement. Maintenant, avec sa parole à son stade prédestiné, comme il l'a maintenant, et nous voyons que toutes ces paroles sont manifestées. Qu'est-ce que c'est? C'est une confirmation parfaite que la venue du Seigneur est proche. Et le temps où il a dit, « Je restaurerai, dit l'Éternel, tout ce que ces Gélecs, tout ce que les méthodistes ont laissé, tout ce que le asile a dévoré, tout ce que ceci a fait après l'avoir dépouillé, mais je restaurerai au temps du soir. » Oh là là! Je crois honnêtement que je pourrais presque prêcher maintenant. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Parce qu'il m'aima le premier. Je ne puis l'abandonner. Je ne puis l'abandonner. Je ne puis l'abandonner. parce qu'il m'aima le premier. Amen. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Je l'aime de tout mon cœur. Allons-nous avoir une ligne de prière? Dieu notre Père, entre tes mains, je remets ce message. Bien qu'il ait été haché, je prie que d'une façon ou d'une autre, le Saint-Esprit l'accompagne sur ses bandes et dans toutes les nations. Si je suis retiré de la terre, fais que ceci vive, Seigneur. C'est ta parole. Fais que la lumière du soir brille. Seigneur, qu'elle produise cette glorieuse épouse de Christ. Bénis-la, Seigneur. Fais qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Fais qu'elle accomplisse ce à quoi elle a été destinée. Accorde-le, Père. Toutes les louanges te reviendront. Maintenant, nous savons, Père, peu importe ce que nous pourrions dire, c'est toujours la parole et nous la croyons, mais nous désirerions que toi, Seigneur, en ce matin de Pâques, que tu prouves à cette assemblée, peut-être que certains sont ici pour la première fois, que tu es toujours Jésus, que tu n'es pas une forme morte, que tu es un Dieu vivant, ressuscité, que tu vis parmi nous aujourd'hui. Accorde-le, Père, et nous te louerons par le nom de Jésus. Amen. Combien ici sont malades? Faites voir votre main. Levez simplement la main. Ou est-ce que Billy Paul, est-ce qu'il y a... Je crois qu'il a distribué des cartes de prière, n'est-ce pas? Lesquelles étaient-ce? 1 à 100? Nous ne pouvons pas les prendre toutes, mais prenons-en quelques-unes. Mettez-vous par ici, si vous le voulez bien. Qui a le numéro 1? Voyons, le numéro 1. Et numéro 1, levez la main. La carte de prière. Regardez sur votre carte, si vous pouvez lever la main. C'est bien, numéro 1. Eh bien, êtes-vous sûr d'avoir la bonne? Bien, allons-y, commençons quelque part. Ou bien, d'accord, si vous l'avez, nous l'avons, alors commencez par là. D'accord, numéro 1, frayez-vous un chemin jusqu'ici, si vous pouvez marcher. Si vous ne le faites pas, eh bien, on vous portera, voyez. Numéro 1, 2, levez la main très rapidement maintenant. Numéro 3, par ici, monsieur. Numéro 4, numéro 5, maintenant que tout le monde reste assis quelques minutes. Numéro 5, numéro 6, levez la main rapidement. Numéro 6, faites voir, s'il vous plaît. Quelqu'un montre du doigt. Il est là, dans la pièce. Bien, numéro 6. Bien, maintenant, un instant. 7. Bien, la dame là derrière. 8. Que chacun garde, s'il vous plaît, juste un instant maintenant. Restez bien tranquille maintenant. Maintenant, ceci va être la preuve. Ceci est la preuve. 6, 7. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Continuez à aller là-bas. Bien, sept. Bien, monsieur, c'est bien. Huit. 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 Bien faire. Huit, neuf, dix. Dix. Onze. Douze. Bien, on dirait que vous avez arrêté de venir. Eh bien, nous commencerons là. C'est bien, peut-être dans quelques minutes. Maintenant, prions. Dieu, notre Père, rien qu'un mot de toi aura tellement d'importance. Fais que les gens voient, Seigneur. J'ai essayé d'être honnête. J'ai essayé de leur apporter ta parole. Seigneur, pardonne les fautes de ton serviteur. J'en fais tellement, Seigneur. Je te prie de ne pas regarder aux fautes de ton serviteur, mais de regarder à ta parole que j'essaie de prêcher. Seigneur, je te remercie pour elle. Je suis content de tout mon cœur, Seigneur. Elle est pour moi plus que la vie. Je donnerai ma vie pour elle n'importe quand. Je sais qu'elle est vraie, c'est ta parole. Et s'il te plaît, pardonne mes manières de faire stupides, Seigneur. Souvent, je charrie et plaisante ce que je ne devrais pas faire. J'en ai honte, Seigneur, ce que je viens d'une famille comme ça. Ferme les yeux là-dessus, s'il te plaît, Père, si tu le veux bien. Couvre cela de ton sang, c'est ce que je te demande de faire. Simplement, je le confesse. Tu ne peux pas fermer les yeux là-dessus, mais tu peux me pardonner quand je le confesse. Maintenant, j'ai confessé mes péchés, je confesse les péchés de ces gens. Je t'ai prié, ô Dieu, de leur pardonner à chacun. Et les gens, puissent-ils comprendre que nous n'essayons pas de faire du cinéma? C'est le Saint-Esprit, dans les derniers jours, qui rend témoignage de sa parole, comme je viens de le dire. Mais Père, peu importe, je suis seulement un homme. Et si c'est moi qui le dis, ils diront, c'est son interprétation, c'est ce qu'il en pense. Mais Père, si tu parles et prouves que c'est vrai, alors ils devront passer par-dessus toi pour la contourner alors, Seigneur. Alors, ce ne sera pas mon interprétation, ce sera la tienne. Accorde-le, Seigneur. Si je suis ton serviteur et que mon péché est pardonné et que tu m'as appelé à ce travail, alors parle, Seigneur. Je te prie de l'accorder, guéris partout les malades et les affligés. Au nom de Jésus, je prie. Et si tu veux bien te faire connaître à nous maintenant, comme tu l'as fait là-bas au puits, avec cette femme, quand tu as parlé avec elle, tu lui as dit quelque chose qui n'allait pas chez elle. Elle avait eu 5 maris. Maintenant, tu as promis de le faire au temps du soir. Tu as promis de le faire dans les derniers jours. Tu as dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Dieu vivant dans la chair humaine, agissant parmi nous, sous la forme de son Église, par le Saint-Esprit, accomplissant les mêmes signes. Accorde-le, Seigneur. Juste aujourd'hui, ne veux-tu pas, Père? Et puis, je te prie de permettre aux gens de le voir, que chacun soit guéri et sauvé pour la gloire de Dieu. Amen. Bon. Maintenant, je vais attirer votre attention, si vous restez vraiment respectueux quelques instants, donc que maintenant, chacun soit aussi tranquille que possible. Êtes-vous sûr de bien comprendre dans quelle position je me trouve ici maintenant? J'ai prêché la parole ici, la parole de Dieu. J'ai dit qu'elle est entièrement vraie. Jésus a dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Maintenant, je veux vous poser une question. Faites attention avant de dire « Amen » ou pas maintenant. Jésus lui-même n'a jamais prétendu guérir qui que ce soit. C'est vrai. Il a dit « Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. » Pas vrai? Et Jésus a dit dans Jean 5, 19, « en vérité, absolument, je vous l'ai dit, le Fils lui-même, comme homme, il était simplement un tabernacle où Dieu vivait. » Voyez, il a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le faire au Père. Le Fils le fait pareillement. Autrement dit, le Père me donne une vision de ce qu'il faut faire et je fais exactement comme il me le dit. » Alors un jour, nous voyons qu'il y a eu, dirions-nous, une femme qui ne pouvait pas entrer dans la ligne de prière. Elle avait une perte de sang et elle avait depuis de nombreuses années. Alors elle a simplement touché son vêtement tout en se disant « C'était une personne insignifiante, c'était une pauvre femme sans argent. Elle ne pouvait pas aller auprès de ses sacrificateurs et de tous ceux qui se trouvaient là, qui avaient le droit de se tenir là et tout. Comme elle ne pouvait pas se tenir là, elle s'effrayait avec peine un chemin jusque-là et a touché son vêtement. Elle a dit « Je crois qu'il a tout fait. » Tout à fait raison. Lui, il a apporté la vérité, la lumière. Je crois qu'il a la parole de Dieu. Je peux juste le toucher, je serai guéri. Est-ce que vous croyez, pourriez-vous croire la même chose que cette femme a cru, qu'il a la parole de Dieu? Maintenant, la Bible dit aujourd'hui qu'il est le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur en ce moment même. Le croyez-vous? Après sa résurrection et son ascension, il est monté dans les hauteurs et a fait des dons aux hommes. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu, la majesté de Dieu dans les lieux très hauts pour intercéder sur la base de ce que nous confessons, pas vrai? Il est un souverain sacrificateur qui peut, quoi? Compatir à quoi? Notre faiblesse. Maintenant, si vous croyez qu'il est le même? Maintenant, regardez, si vous venez ici, que vous me touchiez toute la journée, cela ne changerait rien du tout. Si vous touchiez n'importe quel autre frère ou sœur, cela ne changerait pas grand-chose. Cela ne serait que l'ordre donné d'imposer les mains, c'est tout. Mais si vous le touchez, lui, c'est tout ce que vous avez à faire. Et regardez, si vous le touchez par une sorte de rituel comme eux, ils disaient, « Oh, nous croyons ce grand docteur, c'est un prophète. » Eh bien, il ne disait rien. Mais cette femme avait une certaine chose qui l'a touché, sa foi. Elle a touché son vêtement. Il a dit, « Qui m'a touché? » Ne croyez-vous pas que la Bible dit qu'il est le même souverain sacrificateur aujourd'hui qu'il était alors, qu'il peut compatir à notre faiblesse? Vous pouvez le toucher là-bas, que vous soyez dans cette ligne de prière ou pas? Si vous êtes malade, ou si vous avez un bien-aimé qui est malade, si vous avez quelque chose sur le cœur, venez respectueusement devant Dieu et dites, « Oh Dieu, je ne sais rien de cet homme qui se tient là. C'est un petit homme chauve. Lui, il n'est rien. Mais je crois que ce qu'il a prêché est la vérité. » Et je crois qu'il a dit la chose juste, que tu es le souverain sacrificateur. Maintenant, je veux te toucher. Et s'il m'a dit la vérité, alors utilise ses lèvres pour me répondre et me parler comme tu l'as fait avec la femme en ce temps-là. Voyez, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faites ça. Cela n'est-il pas suffisant pour faire de lui-même le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'est-ce pas? Maintenant que chacun garde sa position et prie respectueusement. Que dites-vous? J'en ai là 10 maintenant. 10, 11, 12, 13, 14, 15, la carte de prière, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça devrait faire une assez bonne ligne.
21,
j'espère que nous n'aurons pas à vous garder ici très longtemps, mais maintenant... Occupez-vous-en, c'est bien. Laissez bien. Fredonnons. Doucement maintenant, tous ensemble, pendant qu'il prépare, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Croire quoi? Sa parole, ce qu'il a promis, car quoi? Tout est possible. Crois seulement. Lorsqu'ils sont descendus de la montagne, les disciples se tenaient là. Ils étaient tenus en échec par un cas d'épilepsie. Le père pleurait en regardant son enfant. Les disciples agissaient machinalement, mais ça ne marchait pas. Jésus s'est approché. Certains ont dit, le voilà. Quelqu'un leur a indiqué la présence de Jésus pour qu'il ne regarde pas au clergé, mais à Jésus. Voilà ce que je veux indiquer aux gens. Pas moi ou une église, mais Jésus. Il a dit, lui est capable. Alors le père a couru. Est tombé à ses pieds et a dit, « Seigneur, aie pitié de mon enfant. Il est tourmenté de différentes manières par un démon. Il devient tout raide, il écume, il a des convulsions, de l'épilepsie. » Il a dit, « Je l'ai amené partout et même tes disciples n'ont rien pu faire pour lui. » Jésus a dit, « Moi, je peux, si tu crois, car tout est possible à celui qui croit. » Juste crois. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, ils sont tous là. Restez tous tranquilles. Crois seulement. Tout est... Quel moment? Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Juste crois seulement. Ô Seigneur, maintenant la parole repose ici tout autour. Que la lumière du soir brille, Seigneur. Qu'elle la fasse vivre. Par le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle pour sa gloire. Je parcours cette ligne de prière du regard. Je ne connais pas une seule personne dans cette ligne de prière. Toutes ces personnes me sont inconnues, vous tous dans cette ligne de prière, qui m'est inconnue et dont je ne sais rien, de vos ennuis ou autres. Levez la main, vous tous qui êtes dans la ligne de prière. Combien dans l'auditoire m'est inconnue et je ne sais rien de vous? Vous avez la même autorité là-bas que ceux qui sont ici. Seulement, j'identifie une personne à la fois. Tenez, laissez-moi tourner ceci ici un instant. Pouvez-vous entendre maintenant avec ceci? Cette dame ici. Voici de nouveau un homme et une femme qui se rencontrent. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, elle m'est inconnue, une parfaite inconnue. Je ne fais qu'agir sur la base de cette parole. Cette parole dit, Vous ferez aussi les œuvres que je fais si vous croyez en moi. L'autre matin, quand cette vision est revenue après des milliers d'entre elles et qu'elle a dit « La présence infaillible de Jésus-Christ est avec toi où que tu ailles », je crois cela solennellement de tout mon cœur. Si je ne vous revois plus jamais, vous croyez que cela est la vérité? Voici une femme que je n'ai jamais vue de ma vie. C'est juste une femme qui a reçu une carte de prière. La manière dont le jeune homme le fait habituellement, il vient ici, prend les cartes de prière, il les bat tout ensemble devant vous. Il donne une carte de prière à tous ceux qui en veulent une, et quoi que ce soit. Personne ne sait où la ligne va commencer, mais rien sur ce sujet. C'est pourquoi le jeune homme ne pourrait pas dire, « Oh, alors écoutez, si vous me donnez telle somme, je vous mettrai tout devant pour être sûr que vous y soyez. » Ne le sait pas, personne ne sait. Nous commençons simplement, quand le Saint-Esprit dit appel, nous appelons à partir de là. Et je veux croire que parfois, quand je suis ici, je peux contacter spécialement quelqu'un qui n'a jamais un inconnu, vous voyez, que je ne connais pas. Maintenant, si cette femme qui se tient ici, si quelque chose ne va pas, elle est peut-être malade, elle a peut-être quelqu'un qui est malade, et elle se tient peut-être juste là, peut-être qu'elle fait semblant d'être malade, et peut-être qu'elle se tient juste là pour essayer d'exposer quelque chose. Si c'est le cas, observez ce qui va arriver. Vous voyez, d'ailleurs, vous avez déjà vu quelqu'un essayer de faire ça, n'est-ce pas? Oui, monsieur, observez-le, l'emporter dehors, mort. Vous voyez? Alors maintenant, constatez simplement, vous voyez, si c'est vrai ou pas, vous voyez? Essayez pour voir. Maintenant, nous ne sommes pas en train de jouer à l'église, mes amis. Nous sommes au temps de la fin. Le fruit est au sommet de l'arbre et il mûrit. C'est vrai, le Seigneur vient. Je ne la connais pas. Dieu la connaît. Il la connaissait avant que le monde existe. Il la connaissait. Il savait qu'elle se tiendrait là. Il savait que je me tiendrais ici, car il est infini. Pas vrai? Maintenant, s'il est infini et qu'il le savait, il sait pourquoi la femme se tient là. Alors, le même Dieu, Jésus, quand il était ici sur terre avec Dieu, avec lui, il a parlé à la femme au puits, il lui a dit que quelque chose n'allait pas chez elle. Nous savons tous ce que c'était, n'est-ce pas? Elle a dit, Seigneur, tu dois être prophète. C'est la première chose qu'elle a dite. Bon, nous savons que c'est le moment pour le Messie d'être ici, celui qu'on appelle le Christ. Et quand il viendra, c'est ça qu'il va faire. Alors, s'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il a promis par cette parole que je viens de prêcher, qu'au temps du soir, il serait ici et ferait la même chose, alors nous attendons ça. Pas vrai, n'est-ce pas? Nous attendons la résurrection de cette Église. Maintenant, s'il accomplit envers cette femme la même chose qu'à cette époque-là, cela confirmera la parole, qu'elle est vraie. Maintenant, cette dame a levé la main, et moi aussi, que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, elle est juste une inconnue debout. Et vous aussi là-bas, beaucoup d'entre vous, je connais certaines personnes qui sont assises ici le long, il y en a beaucoup que je ne connais pas, je connais Mme Collins ici, ça, j'en suis sûr, la sœur, la femme de Frère Ben, et j'ai vu Frère et sœur Dart, ici Frère Wright, Frère et sœur Dart, le frère là au bout. Je connais certains d'entre vous par ici, mais il y en a beaucoup d'entre vous que je ne connais pas parce que je ne suis pas souvent ici pour arriver à faire connaissance. Nous avons ici des inconnus, alors priez simplement. Et si je suis un inconnu pour vous et que je professe que les lumières du soir sont arrivées, et la lumière du soir serait la même que la lumière du matin, elle révélerait les mêmes fruits mystérieux de Dieu spirituellement parlant. C'est vrai. Bon, je ne fais que vous parler comme lui l'a fait à cette femme au puits. Il a dit, donne-moi à boire, vous voyez. Je dis la même chose, ce n'est pas moi, c'est lui. Et s'il me révélait pourquoi vous vous tenez là, vous voyez, s'il me révèle pourquoi vous êtes là, alors vous saurez qu'il sait effectivement tout de votre vie. Si vous dites quelque chose qui a été, vous voyez, vous saurez si c'est vrai ou pas. Alors, s'il connaît ce qui a été, qu'il peut vous le dire, il peut certainement qu'alors vous le croirez pour ce qui sera. S'il peut déjà vous dire ce que vous avez fait précédemment, révélant certainement ainsi le devant de la chose ou le derrière de la chose, les antécédents et tout cela, ça le rend. L'Assemblée croirait-elle en lui de tout votre cœur s'il le fait? Je crois que vous croyez qu'il le fasse ou pas, vous le croyez quand même, mais cela ne fait que renforcer la chose. Maintenant, je regarde simplement cette femme et elle commence à être ointe. Elle en est consciente alors qu'elle est inconnue, mais laissez-moi simplement vous montrer maintenant. Beaucoup parmi vous voient la photo suspendue là. Or, ce n'est pas de cette lumière, c'est exactement ce qui est suspendu ici même entre moi et cette femme en ce moment. Ne la voyez-vous pas, une lumière un peu crème, jaune, verte, comme une émeraude, comme on pourrait dire, qui tournoie? C'est ce qui fait qu'elle ressent. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous avez ressenti quelque chose de très doux et humble. Si c'est vrai, madame, levez la main afin que les gens puissent voir. Voyez, elle ne peut pas s'empêcher de ressentir cela. C'est bien là. Bon, maintenant, si cela va montrer quelque chose à son sujet, je ne sais pas. Cela dépend. C'est Dieu qui doit le faire. Moi, je ne peux pas. Je ne le peux pas. C'est Dieu qui doit le faire. Oui. En fait, cette dame, sur le plan naturel, devrait subir une opération. Pour ce qu'elle a, un médecin lui dirait, c'est quelque chose qu'il faut opérer, mais elle ne va pas chez le médecin. C'est vrai. Et c'est une grosseur. Cette grosseur est sur le côté droit, près de la colonne. C'est vrai. Si c'est vrai, levez la main afin que les gens voient. Maintenant, vous croyez? Maintenant, vous ne le voyez pas, voyez? Mais maintenant, vous le croyez de tout votre cœur que c'est vrai, bien. Maintenant, vous dites peut-être que vous avez deviné ça, frère Branham. On ne peut pas deviner ça un million de fois, parfait. Eh bien, qu'elle se tienne simplement là. Cela m'a quitté à l'instant. Bon, voyons un instant, voyez? Elle a l'air d'aller bien, une chrétienne. Maintenant, voyons. Maintenant, s'il voulait nous dire autre chose qu'il y aurait, oui, la voici qui réapparaît. Oui, elle, oui, c'est une grosseur que les médecins voudraient enlever. Et ce serait problématique pour elle, mais elle va faire confiance à Christ pour ça. Ce n'est pas tout. Elle n'est pas d'ici. Elle a quelqu'un avec elle. C'est son mari, lui aussi est souffrant. C'est vrai. Vous croyez que Dieu peut me dire, pendant que je suis en train de regarder cet homme ici dans une vision, ce qui ne va pas chez lui? Eh bien, dites-lui d'aller manger son dîner, son problème d'estomac l'a quitté. Vous croyez que c'est Christ qui fait ça? Voyez, vous venez du Tennessee. Nashville. C'est vrai. Madame Binkley. Bien, vous pouvez maintenant rentrer chez vous et être en bonne santé. Vous et votre mail. Que Dieu vous bénisse. Vous croyez le Seigneur Jésus? Si ce n'est pas le même Seigneur Jésus qui était ici autrefois dans l'église de la lumière du soir, examinez cette femme, parlez-lui, demandez-lui si les choses qui ont été dites sont vraies. Il vous suffit de croire. Maintenant, êtes-vous satisfait qu'il est le même Christ? Ah, vous savez que moi, je ne pourrais pas faire ça. Je suis un homme. Je suis votre frère. Mais lui, il est Dieu. Bon, voyons. Est-ce que c'est la personne suivante? C'est vous qui étiez dans la ligne de prière? Bien. Bien sûr, sur cette onction, vous en êtes conscient, me rend faible comme je ne sais pas pourquoi. Alors Jésus, quand cette femme a touché son vêtement, il a dit, je sens que de la vertu est sortie de moi, pas vrai? Cela veut dire de la force. Il est devenu faible. Et si c'est arrivé à la parole elle-même, qu'est-ce que ça pourrait faire à une simple personne à qui la parole est venue? Qu'est-ce que ça pourrait faire? Si cela a fait ça au Fils de Dieu, qu'est-ce qui pourrait m'arriver à moi, un pécheur sauvé par sa grâce? Voyez, ça me donne le tournis, voyez. Mais pourtant, je suis ici pour le représenter. Je suis un piètre représentant, je me repens de tous mes péchés, afin que vous ne regardiez pas à ce que je suis, mais que vous regardiez à qui il est. Que vous regardez dans cette direction-là. Bon, madame, je vous suis inconnu. Je ne connais pas non plus cette femme. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. C'est vrai. Maintenant, si le Seigneur Jésus, moi, je ne vous connais pas et que vous ne me connaissez pas, si le Seigneur Jésus me révèle quelque chose sur la raison de votre présence ici, quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous n'auriez pas dû faire ou quelque chose que vous saurez que ce serait un miracle extraordinaire, c'est quelque chose qui ne peut être expliqué. Un miracle, c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Tout le monde sait ça. Ce serait un miracle extraordinaire. Ce serait un miracle plus grand que s'il y avait une dame assise ici dans un fauteuil roulant, atteinte d'arthrite, qui soit invalide. Si je lui disais, levez-vous et marchez, et qu'elle se mette à marcher, cela ferait pousser des cris à tout le monde. Mais vous voyez, là, de sa foi, pourquoi pourrait la faire se lever et marcher? Mais il faut plus que ça pour sonder les profondeurs d'une vie passée. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire pour que vous puissiez le dire. Vous voyez, vous saurez si c'est vrai. Maintenant, quelque chose est arrivé ailleurs. Maintenant, attendez. C'est parti d'ici, c'est parti dans l'autre histoire. Quelque part. C'est parti. Parti maintenant. Un instant, laissez-moi parler de nouveau à cette femme. Soyez vraiment respectueux, faites attention maintenant, priez, soyez là en prière, je veux que vous priez. Seigneur, fais que ce soit moi, certains parmi vous là qui ne seraient pas dans la ligne de prière, priez. De nouveau, je vous parle pour votre foi, voyez. Si cela a pu se passer pour cette autre femme, cela peut se passer pour vous. C'est votre foi, voyez, c'est vous qui le faites, ce n'est pas moi. C'est votre foi en Dieu, voyez. Jésus n'a jamais dit, « Oh, je savais que j'allais rencontrer cette femme là-bas », non. Mais quand la résurrection de Lazare s'est produite, alors c'est ce que Dieu lui a montré de faire, voyez. Part, il a prouvé exactement ce qu'il était, il est parti, et alors quand il est revenu, il a dit, « Lazare, dors ». Il est revenu, il est allé là-bas, il a ressuscité Lazare et la tombe. Il a rappelé son âme 4 jours après son décès. Là, il n'a jamais dit qu'il était devenu faible, c'était Dieu qui utilisait le nom. Mais là, quand cette femme l'a touché, c'était la femme qui utilisait le don de Dieu. C'est la même chose ici, c'est vous qui le faites. Maintenant, par rapport à ça, pendant les parties de chasse, quand j'ai vu l'ours et quand les différentes choses et toutes ces différentes choses qui avaient été annoncées ici à l'avance, qui avaient été dites, pourquoi elle arriverait mot pour mot, c'est ça, cela ne m'affecte pas. Mais quand les gens commencent à utiliser le don de Dieu, vous voyez, vous devenez le serviteur de Dieu au service des gens, ce qui vous permet de vous brancher sur la ligne. Vous voyez, alors vous le touchez par ce moyen et il répond, vous voyez. Bon, oui, maintenant cette femme entre dans la vision. Elle entre où la vision est en train d'apparaître. On pourrait penser que vous pourriez voir ça autour d'elle. Cette femme est malade. Elle est vraiment malade. Une chose, elle souffre de l'estomac énormément. Levez la main si c'est vrai. Et vous avez des complications, c'est vrai. Vous avez quelqu'un avec vous, c'est votre mari, il est malade. Si Dieu me révèle à propos de votre mari, ce qui ne va pas chez lui, allez-vous croire que je suis son prophète? Cet homme a des problèmes avec ses yeux et ses oreilles, et son état est très grave. Oui, c'est ça. Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Croyez-vous que je suis son prophète, son voyant, si je vous dis qui vous êtes? Vous le croyez, Madame Robertson? Et vous venez de Huntsville, c'est dans l'Alabama. Retournez-y avec votre mari, soyez rétablis. Vous croyez? Tout est possible à ceux qui croient. Si vous pouvez croire, si vous prenez simplement votre position et croyez que Dieu le fait. Maintenant, ne doutez pas, mais croyez de tout votre cœur que Dieu vous accordera cette guérison et que vous pouvez avoir ce que vous demandez. Bien, monsieur, veuillez vous avancer maintenant. Voyons, êtes-vous la personne suivante ici? Bien, monsieur, je suppose, monsieur, que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Si Jésus est venu vers un homme appelé Simon, il lui a parlé de son état, et cela a amené Simon à croire de tout son cœur, est-ce que ça vous amènerait à faire la même chose? Vous le feriez? Bien, nous sommes des inconnus. Maintenant, Dieu n'est pas autrement. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, il est pareil, il est Dieu. Et vous allez-vous croire que ce sentiment vous entoure maintenant, que Dieu pourra vous révéler par moi, son serviteur, ce quelque chose pour lequel vous êtes ici, c'est quelque chose qui ne va pas chez vous, peu importe ce que c'est, eh bien, vous saurez si c'est la vérité ou pas. Bien, puisse-t-il accorder? Cet homme entre dans une vision, ou la vision entre dans cet homme. Il n'est pas ici pour une maladie. Il est ici à la recherche du baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'il recherche. C'est vrai, monsieur. Oui, monsieur. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez de plus loin sur la route, ici, d'un endroit qui s'appelle Seymour, dans l'Indiana. Eh bien, c'est de là que vous venez. On vous appelle Bill. Retournez là-bas. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Croyez. Venez, madame. Croyez-vous que je suis son prophète? Croyez-vous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vit? Et vous croyez que c'est lui qui permet que ceci arrive comme ceci? Vous le croyez? Combien en avons-nous eu? Quoi? Vous voyez, je ne veux pas trop m'affaiblir, oui. Non, ce n'est rien. Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre n'est pas ici. Si je vous dis ce qu'il y a avec ce quelqu'un d'autre, accepterez-vous sa guérison? Prendrez-vous cela et le croyez-vous? C'est un cancer. Croyez-vous qu'ils seront guéris? Alors, allez au nom du Seigneur Jésus et croyez. Croyez-vous tous? Croyez-vous à cette onction du Saint-Esprit? N'est-il pas merveilleux? Est-ce que vous croyez? Bien. Maintenant, combien en avons-nous eu? Généralement, deux ou trois, c'est une confirmation. Que dites-vous? Quatre. Est-ce que le cinquième se tient ici? Bien. Croyons de tout notre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous êtes ici pour ce bébé. Si Dieu me révèle ce qui ne va pas avec votre bébé, croirez-vous que Dieu le guérira? Ce petit enfant a un grave problème cardiaque. C'est vrai. Le bébé n'est pas d'ici. Il ne vient pas de cette ville. Il est d'un autre état. Vous croyez que Dieu peut me dire d'où vient le bébé? Allez-vous croire et croire qu'il va alors se rétablir? Ramenez-le à Franklin, dans le Kentucky. Oui, madame, et croyez de tout votre cœur. Si vous croyez, c'est tout ce que vous avez à faire. Venez ici un instant. Je condamne cette chose mauvaise au nom de Jésus-Christ, que la mort s'en aille et que la vie vienne. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Vous voulez aller manger? Pensez-vous qu'il vous fera vous sentir mieux? Allez-y, cela vous a quitté maintenant. Amen. Vous voyez que ce problème gynécologique va vous quitter? Bien, retournez à votre place et dites merci Seigneur. Bonjour, monsieur. Oh, ce démon d'asthme. Un instant. Maintenant, un instant. Quelque chose a mal tourné. Quelque chose n'a pas mal tourné. Cela a bien tourné. Maintenant, il y a quelque chose ici de similaire qui a saisi cet homme. À ce moment-là, laissez-moi voir de nouveau ce que c'était. Maintenant, regardez-moi, simplement. Ne dites rien, un instant. C'est un homme de couleur, assis ici au fond, qui est en train de me regarder. Il y a quelqu'un qui est malade. C'est vrai. Il est asthmatique et il a un problème de sinus. C'est vrai. Vous l'avez touché. Vous n'êtes pas d'ici, monsieur. Venez de l'est, du nord-est, de cette direction. Venez de New York. Oui, monsieur, c'est vrai. Vous êtes monsieur Hunt. Croyez maintenant. Très bien. Monsieur, c'est bon. C'est votre ami qui est assis près de vous ici. Monsieur, vous croyez que je suis le prophète de Dieu? Vous êtes venu ici avec lui. Vous vous appelez Coleman. Vous priez pour un père. Il a fait une attaque. C'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Croyez, allez, croyez maintenant. Cela vous quittera. Vous avez un estomac nerveux qui vous crée des ennuis, pas vrai? Allez manger. Au nom du Seigneur Jésus, vous croyez qu'il vous guérit? Retournez et dites, merci Seigneur Jésus. Croyez de tout votre cœur. Vous êtes dérangé par un problème de nervosité. Vous êtes contrarié et tout. Croyez de tout votre cœur. Retournez et soyez rétabli. La nervosité, croyez simplement de tout votre cœur. Croyez que Dieu va vous rétablir et il le fera. Ne doutez pas du tout. Nerveux et un problème cardiaque. Vous croyez que Jésus-Christ va vous rétablir? Allez, soyez rétabli au nom de Jésus. Nerveux, tout chaviré, un problème d'estomac, c'est un ennui gastrique dans votre estomac qui fait que la nourriture devient aigre. Allez, ne doutez pas dans votre cœur et cela s'accomplira. Vous n'aurez plus ça. Votre dos vous a dérangé. Vous croyez de tout votre cœur? Alors allez, que Jésus-Christ vous rétablisse de cela. Un instant, restez tranquille un instant. Maintenant, quelque chose est arrivé. Cette femme ici, c'est étrange. Cette lumière a tournoyé autour d'elle très vite, puis s'en est allée pour revenir aussitôt. Quelque chose est arrivé, un instant. C'était un homme de couleur. Je suis sûr que ce n'était pas le frère de couleur là, parce que ça venait un instant. Le voici. Recule-toi, Billy. Le voici. C'est cet homme assis ici, un homme de couleur. Vous êtes aussi dérangé par des ennuis de dos, c'est vrai. Vous êtes un inconnu pour moi. J'en suis un pour vous. Mais il y a quelque chose dont vous avez plus besoin que cet ennui de dos, c'est de donner votre cœur à Christ, de devenir chrétien. Vous n'êtes pas, vous voulez l'accepter comme votre sauveur? Vous venez de l'Ohio, c'est vrai, de l'Ohio. Retournez, soyez rétablis. Jésus-Christ pardonne vos péchés. Vous pouvez rentrer chez vous et être guéri. Maintenant, c'est complètement fini. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Croyez de tout votre cœur. Très bien, sœur, venez. Des complications, de la nervosité, de l'épuisement. Vous croyez de tout votre cœur que Dieu va vous rétablir. Retournez à votre siège et dites, merci Seigneur, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Vous croyez que le Dieu Tout-Puissant va vous rétablir et guérir votre dos, vous rétablir et guérir votre problème de rein. Continuez votre chemin, réjouissez-vous et dites merci Seigneur Jésus. Tu crois, fils-fils, qu'il te rétablit? Dis merci Dieu, bien-aimé, va tout simplement Dieu. Maintenant, vous croyez de votre cœur, ça? Alors allez, que Jésus-Christ vous rétablisse. Un instant, non, ce n'était pas elle, un instant. Ce n'était pas la dame là, une seconde, un instant. Je vois de l'eau qui gicle contre quelque chose. Je vois de l'eau qui gicle contre quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui a traversé la mer en venant de quelque part. C'est une femme et elle vient de la Hollande. Où est-elle? La voilà. Très bien, ça. Vous avez parcouru une longue distance pour recevoir la guérison. Vous croyez que je suis son prophète? Vous souffrez de rhumatisme, d'arthrite, de raideur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et amenez le message à votre peuple. Que Dieu vous bénisse. Cela vous quittera et vous pourrez repartir guéri. Amen. Croyez-vous? Tenez, ici, tout à l'arrière. Il y a une femme assise ici derrière. Elle souffre de la vésicule biliaire. Oh, elle va manquer ça. Oh, Dieu, aide-moi. Elle vient d'Indianapolis. Elle s'appelle Gilbert. Madame, levez-vous où vous êtes. Voilà, c'est ça. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Croyez-vous tous de tout votre cœur? Imposez-vous. Jésus est-il ressuscité des morts? Est-il le même hier, aujourd'hui, éternellement? Imposez-vous les mains les uns aux autres et prions pendant que je prie pour sœur Kelly. Seigneur Jésus, fais entrer ta sainte puissance dans l'Église maintenant et qu'elle se répande dans et à travers notre sœur ici pour épargner sa vie. Seigneur, donne-lui cette glorieuse guérison qu'elle réclame, Seigneur. Guéris ton peuple ici. Reçois-en la gloire. Accorde-le, Seigneur. Et que ces gens ici qui ont maintenant posé leurs mains les uns sur les autres, Satan, nous en venons maintenant à ces mouchoirs. Au nom de Jésus-Christ, que chaque personne soit guérie. Seigneur, confirme ta parole par les signes qui l'accompagnent. Et maintenant, Satan, ignoble démon, tu es vaincu. Dieu a dit qu'il restaurerait le Fils de Dieu, que tu as trahi par tes credos. Il a promis de restaurer l'Église dans son état antérieur quand la lumière du soir brillerait. Et nous vivons en elle. Et par cette restauration, nous avons des droits. Nous avons notre avocat. Nous avons notre juriste, notre souverain sacrificateur. Et nous allons faire valoir nos droits. Tu les as retenus assez longtemps. Tu ne peux plus faire ça. Nous t'ordonnons au nom de Jésus-Christ, par la puissance de sa résurrection et par le Saint-Esprit qui est présent maintenant, sors de cet auditoire!